When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Studio 404.
Studio 404.
L'émission de société numérique.
Studio 404, présenté par l'AM UA.
Salut, c'est Studio 404. Et déjà, joyeux Noël. Vous vous réveillez dans votre lit d'enfance chez vos parents. Vous venez d'arriver en retard chez vos parents. Vos parents sont chez vous. Ou alors vous êtes carrément les parents. En tout cas, on vous souhaite un joyeux Noël et un bon repas en famille. On est là avec vous pour ce dernier numéro de l'année. On espère que vous avez bien mangé, bien déballé des cadeaux, regardé Astérix chez M6, tout ça. Et j'accueille avec moi mes quatre chroniqueurs habituels. Comment ça va les amis? Comment ça va Mélissa?
Salut, ça va? Joyeux Noël.
Toi aussi t'es
en famille? J'avais des super cadeaux.
C'est vrai?
Ouais.
Bah, tu nous en parleras tout à l'heure. Daz, comment ça va?
Ça va super.
C'est vrai?
Ouais, c'est la teuf.
Ça fait quoi d'acheter des cadeaux pour ta fille, de te ruiner?
Ça fait chier, c'est voilà, génial. Voilà.
Et toi, Fibre, comment ça va?
Eh bien, Noël avec Star Wars, c'est quand même l'un des plus beaux Noëls du monde.
Ah, j'y spoil pas.
J'ai pas spoilé. Je peux dire qu'il est bien, ce film.
Star Wars.
Voilà.
Et toi, Sylvain, ça va bien?
Ça va très bien. Je suis dans ma Haute-Loire natale. Il neige. Il y a des étoiles dans le ciel. Je suis très, très heureux.
C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et comme c'est Noël, on a décidé, chers auditeurs, de vous faire un petit cadeau, enfin, beaucoup de petits cadeaux, puisque, sous le sapin, ouvrez vos chaussettes, regardez bien, il y a plein de podcasts amis français qui sont là avec nous. Salut les amis, comment ça va? Et oui, on a fait un Avengers du MP3. On a réuni plein d'amis podcasts qu'on aime écouter. Certains qui se connaissent, certains qui se connaissent pas. On va les accueillir tout au long de cette émission spéciale. Et en fait, on va revenir sur toute une année. Chacun va prendre la parole, ça va rigoler. Vous allez découvrir, j'espère en tout cas, certains podcasts que vous ne connaissiez pas. Et on va les présenter. Ils vont se présenter rapidement, un par un. Et on va commencer par l'ordre alphabétique. C'est qui? C'est cool? C'est quoi?
Salut, c'est moi.
On peut l'applaudir, ça va Ben?
Ouais. Merci. Oui,
alors,
ça va.
Alors Ben, c'est cool, c'est quoi?
Eh bien, c'est cool. Non, alors, on peut faire cette vanne une seule fois de toute la soirée ou pas?
C'est bon,
ok,
ouais, c'est bon.
En fait, c'est un podcast qui permet de faire la lumière sur des passions cheloues.
Chelou.
Que le commun des mortels trouve bizarre. Genre tu dis, ah moi je me déguise en chevalier dans la forêt et tes potes ils font quoi? Et bah du coup si les gens font quoi, et bah moi je fais un sujet dessus.
Tu fais un c'est cool c'est quoi?
Exactement, ouais. Avec des invités toujours passionnants et ça fonctionne bien.
Très bien, très bien. Avec toi il y aura aussi un podcast. Ah il savait déjà que c'était lui, il connaît bien son ordre alphabétique. C'est Comics Outcast, on peut l'applaudir. Ça va Eric? Ike?
Bonsoir.
Alors, Comics Outcast, ça parle de comics et du groupe Outcast?
Pas du tout.
Ah, elle était fastoche celle-là aussi. Ouais. Hein. Je pense qu'on va faire que des blagues faciles sur tous les podcasts. Préparez les
premières parties étaient correctes. Deuxième, on fait pas trop de musique. Donc, on parle de comics, effectivement, en bande. On discute des nouveautés, des anciens titres, des films, des dessins animés qui sont dérivés. Et tout ça dans la bonne humeur, avec beaucoup de mauvaise foi, comme d'habitude.
Ouais, vous avez du boulot en ce moment, ça.
Oui, pour l'année 2016, il y a plein de films et plein de sorties qui sont intéressantes. Et on va traiter tout ça.
Très bien, j'espère qu'on parlera de Fantastic Four.
Jamais, allez. Jamais.
avec nous aussi ce soir, elle nous fait l'honneur d'être là, c'est La Flasque et la Fume, c'est peut-être le meilleur nom de podcast en France. On l'applaudit très fort, salut Caroline.
Bah, feu, La Flasque et la Fume.
Oui, en fait. Tu nous en parleras pendant l'émission. Ouais. Feu, La Flasque et la Fume. Mais dis donc, c'est Feu, La Flasque et la Fume. Tu devrais appeler pour ton prochain podcast Panier Piano là, ou Pruno Cru.
C'est ça.
Et ça parlait de quoi avant que ce soit feu?
C'était une version amateur de du Masque et la Plume. Donc,
amateur
et alcoolisé et enfumé.
C'est un prétexte.
Donc ouais, c'était à moitié fumeux. C'est peut-être pour ça que c'est fini.
C'est un bien beau concept. On en parlera en tout cas tout à l'heure. C'est vrai, très intéressant. Avec toi, juste derrière toi, de Lascar qui représente un groupe de 4 ou 5, c'est l'Agapar. On peut les applaudir. Salut. Tiens, prenez le micro. Hop. Alors, vous représentez la bande. C'est Nico et Nio. Ça va bien?
Tout à fait.
Bon, alors, qui nous présente l'Agapar? L'Agapar, on n'a même pas de l'Agapar parce que.
Vas-y.
On est 4. Ouais. Et on a 4 chroniques. Et on parle de jeux vidéo en essayant de ne pas se baser sur l'actualité.
Ah, vous essayez de sortir de...
De faire un format court, ouais, qui ne parle pas trop d'actu, histoire de proposer une alternative à ce qui...
Ils attaquent Megaman 2, là.
Donc vraiment hors de l'actu.
On en a encore un, je ne l'ai pas fini, moi.
Très bien. Eh ben, on a hâte de vous écouter tout à l'heure. Avec nous aussi, ce soir, le Romcast. On peut l'applaudir aussi. C'est un podcast qui parle de Rome. Wouhou! Voilà, on a fait le gag.
C'est un podcast qui parle de Rome et de musique, en tout cas. Chaque semaine, ouais, on a un thème. Ce thème est traité de manière un peu loufoque. Il y a des interviews, il y a aussi des créations rap.
Des créations pendant le podcast.
Des créations podcastées où il y a un rap qui est en lien avec le thème de la semaine, où on, ouais, va faire des petites scénettes, des petits sketchs en lien avec ça. Et on crée aussi des jingles uniques chaque semaine. Donc c'est un petit peu comme si c'était le 25 décembre, chaque jeudi.
Ah, vous faites des jingles en plus?
On fait des jingles new. Each week, every week.
Putain, la prochaine fois, on demandera aux auditeurs des jingles à la, ou des messages de répondeurs à la demande. Là, comme ça, ça sera
grave.
Ça fera des beaux cadeaux. Très bien, très bien.
Yep.
Avec toi, Romain, et avec nous, il y a Marché Parler. On peut l'applaudir. Il se réveille parce qu'il a travaillé très dur aujourd'hui. C'est Bruno.
Salut, Studio 404.
Salut, Bruno tout seul. Ça va bien?
Ça va. C'est Hugo tout seul.
Hugo tout seul. Bon, Marché Parler.
C'est Bruno Solo, j'en avais deux, donc choisis ta blague.
Ah, bah, c'est très bien. Bah oui, Bruno Solo, parce que du coup, tu as lancé plusieurs podcasts, mais ton dernier en date s'appelle Marché Parler.
Ouais.
Bah, il annonce tout.
Exactement. Comme ça, je peux pas faire de blague dessus. Ouais. Alors, c'est un podcast où on marche et on parle. Exactement.
Ouais. Exactement. Et c'est un système, c'est extrêmement novateur. Et on a hâte que tu nous en parles plus en détail. Et qui a été, ce qui est intéressant, qui a été repris par des auditeurs qui ont fait leur propre Marché Parler.
Et ouais.
Tu leur as demandé des droits?
Je suis un homme de concept.
Oh là là, c'est beau, c'est beau. D'ailleurs, bah, tu nous en parles tout à l'heure, du coup.
Avec un plaisir non dissimulé.
T'as une voix très...
Ça respire la joie de vivre.
Non, je trouve que c'était assez sensuel. J'ai l'impression qu'il voulait me baiser, mais bon, après, c'est mon sentiment personnel.
C'est pas une impression, là.
Je sens ton souffle chaud dans ma nuque. Allez, on passe à la suite. En parlant de stick turgescent, passe le stick. On les accueille, on les applaudit. Bonsoir, messieurs.
Bonjour, bonjour.
Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez débarqué en force, c'est le crew tout entier.
Non, ah bah, on nous a dit qu'il y avait des bières.
Voilà, exactement.
Des bières, des pizzas, c'est bon. La bière de Noël, bien sûr. En même temps, c'est une grande famille, hein.
Ah, bah oui,
très grande.
Ah bah vous êtes quatre.
Oui, et contrairement à la Gapard, du coup, on se base sur l'actualité pour faire notre podcast.
D'accord, donc vous êtes
on a la flemme de vraiment jouer au jeu. Exactement, c'est chiant, nous on préfère lire les sites sur les jeux vidéo puisque c'est plus rapide.
Le buzz, le podcast.
Une bonne ambiance chaque semaine pour décortiquer l'actualité de la semaine avec nos points de vue, et c'est aussi ça, je pense, qui fait que c'est aussi effervescent, les émissions de Passe le Stick. Voilà.
Très bien, ben on a hâte de vous écouter sur les prochains débats,
messieurs. En mode autopromo.
Exactement. Et retrouvez-nous.
Il y a Fibrotti qui a fait un, mes petits bébés, mes enfants.
On a pris notre travail.
Ouais. Ouais, c'est bien. Et après, parce aussi qu'on accueille un invité spécial qui, un peu comme Céline Dion quand elle reçoit un prix au Energy Music Awards, reste depuis Los Angeles pour dire « Ah, j'ai pas pu venir ce soir, mais je suis vraiment très, très ému ». On l'applaudit bien fort, Henri Michel, pour y venir à détente.
Bonsoir Paris.
Bonsoir Paris, ça va?
Bonsoir, merci.
On prendra une photo quand même parce que Henri en fait est réduit à un iPhone avec Skype coincé entre deux bacs à glaçons scotché sur la table de réalisation.
C'est parfait.
Donc tu nous parles directement de la Riviera en fait, là t'es vraiment là.
Complètement, avec le décalage horaire, il est 11h du matin.
En 1988.
Ça lag bien. Alors Riviera Détente, c'est un de tes tout derniers projets, ça va? On est bien sur Riviera Détente, j'ai l'impression que c'est de l'impro, c'est du burlesque, c'est du bon délire, c'est cool.
Non, c'est avant tout l'actualité culturelle de la Côte d'Azur.
on parle aussi de
loisirs échangistes. Je suis un peu étonné d'être invité dans cette émission, mais vous êtes tous sympathiques.
Bon, on pensait que t'allais venir déguisé comme en randonnée, mais du coup, on est un peu déçu, Henri.
Ah non, la saison est finie là, ça reprend en mars.
Bon, on fera des podcasts nuit bientôt. Et enfin, le dernier podcast invité qui nous fait l'honneur de venir ici, c'est l'un des plus connus et qu'on aime aussi beaucoup, c'est ZQSD. On peut les applaudir. Enfin, l'applaudir en attendant que tes compères arrivent. Ça va bien?
Bonjour, ça va très bien et toi?
Bah écoute, ça va bien. On est vraiment heureux de t'accueillir. Je crois que les compères vont débarquer plus tard dans la soirée.
Non, pas du tout. Finalement, très mal informé. Non, ils viendront pas.
Ah d'accord. On m'a dit oui, et puis non.
Ils sont morts.
Et puis non.
Non, ils ont eu des empêchements divers et variés, mais complètement justifiés.
D'accord, ok. Ils ont intérêt à avoir un mot d'excuse costaud.
Je peux pas dire ce que je fais, moi?
Bah si, bien sûr.
Non, parce que les gens expliquent beaucoup. Donc nous, on fait un podcast très long. C'est la principale caractéristique. On fait un podcast de 4 heures.
4 heures?
Voilà.
Non.
Sur n'importe... Enfin, non. En fait, on parle principalement de jeux vidéo. On prépare rien et on boit des coups. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour avant de venir ici.
Ah d'accord, 4 heures de podcast.
Ça dépend, ça peut être 5 ou 6 ou 3, enfin vraiment on est assez free quoi.
Bon, eh bien, écoutez chers auditeurs, vous avez 5 jours entre
d'ailleurs, j'ai l'impression
le
que
jour
ici
de l'an,
ça va à peu près durer la même durée, ça me fait vraiment très plaisir.
Non, vous allez
on
voir,
est parti pour 5-6 heures aussi.
On va tenir avec un rythme d'enfoiré, vraiment d'accord. Ça va être en mode DJ EDM toutes les 2 minutes paf.
Okay.
Ça va aller très très vite. Allez, on commence tout de suite avec le mois de janvier.
Janvier, comment vivre et assumer son tout premier fail.
Allez, on débute du coup ce mois de janvier et pour ce mois de janvier, on va commencer par un thème qui donne le sourire, qui donne la patate. Ce sont les ratés, les échecs et les fails. Hein. On commence bien l'émission et pour en parler avec nous, nous avons donc Eric de Comics Outcast.
C'est moi.
Nous avons Bruno de Marché Parler. Nous avons Nio et Nico de Lagapar et plus 2-3 snipers qui sont déjà chaud bouillant après avoir pris leur pizza. Qui attendent au chaud. Évidemment, Henri, tu es avec nous. Henri ou Henri Michel?
Ah, je suis là.
T'es Henri ou Henri Michel?
Oh, tu peux faire les deux, c'est suivant ton mood.
Ça fait bizarre de t'appeler Henri, je te jure. C'est... Allez, on dirait Henri Michel. En tout cas, on va discuter de ce premier sujet. Et donc, Eric, pourquoi tu nous parles de ce raté?
Parce que, fort de nos 5 mois d'expérience, en fait, on a commencé à l'été 2014, on s'était un peu reposé sur nos lauriers, sur notre popularité, sur le fait qu'on recevait vraiment pas mal de compliments, franchement, hein, sur le formule.
Ah, c'était déjà au top du game.
Chose. Et on s'est dit qu'on allait attaquer quelque chose, un gros morceau, faire un débat sur un sujet qui nous tenait à cœur, c'était les comics français,
ouais.
Publiés en France. Et en fait, on a vraiment très, 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 très mal préparé le truc et c'est sorti n'importe comment. On s'en est rendu compte à la fin de l'émission. Évidemment, on l'a quand même publié et derrière, ça n'a pas raté. Les éditeurs français sont venus nous voir.
Ah oui, carrément.
Mais de façon gentille et constructive pour dire, au fait, le podcast est un peu faux. Cette information n'est pas tout à fait juste. Et en fin de compte, donc, quand ces deux compagnies, on va dire, se sont adressées à nous, ce sont ensuite les auditeurs qui nous ont dit, ah, en fait, vous avez dit de la merde de façon un peu plus agressive et un peu plus réaliste,
internet,
on va dire. Voilà,
hein,
plus internet.
Ouais.
Je te parle pas, je ne sais pas qui je suis. Et ça nous a... franchement, ça m'a vraiment touché personnellement. Je me suis dit, comment est-ce que j'ai pu organiser une émission si mal organisée, avec un si mauvais rendu. Et je me suis dit, bon, à partir de là, il va falloir qu'on change les choses. Non, j'ai pas pensé à arrêter parce que je suis très fier.
C'est ce que le peuple demandait.
Pas forcément arrêter, mais en tout cas, changer les choses. Et du coup, s'en est suivi un très, très sentimental mea culpa dans l'émission qui a suivi. Et entre nous, dans le côté éditorial, donc avec Ben qui est à côté de moi, un changement d'édition, dans le côté éditorial de la chose, pour avoir quelque chose de mieux construit. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que nous sommes des amateurs.
Oui, alors,
pas du
parce
tout
que
des journalistes.
Là, depuis tout à l'heure, tu dis, on est au sommet du game, on a les éditeurs à nos pieds. D'un coup, le net, vous êtes tombé dessus. Je me suis dit, mais c'est JJ Abrams, le mec.
Un petit podcast
amateur. C'est important de dire pour les gens qui vous connaissent pas, quand même. C'est que vous êtes quand même un podcast amateur de fans de comics.
Voilà, c'est ça. On vient d'univers différents. Bon, dans le cast, il y a quand même des personnes qui viennent d'un milieu, journalistique professionnel, où ils ont l'habitude de tresser ce genre de sujet, mais c'est moi l'animateur, c'est moi le producteur, c'est moi qui organise tout ça. Et du coup, derrière, s'il y a des décisions à prendre, au final, ça me retombe dessus. Donc, s'il y a un échec, c'est moi qui le vis, mal en tout cas.
Ouais.
Et du coup, les décisions, pareil, s'il faut améliorer, changer les choses, on en parle tous ensemble, bien sûr, mais c'est
toi qui décides.
C'est moi qui décide. Voilà.
Comment ça se fait que ça te touche autant si tu dis on est des amateurs, c'est un podcast amateur à la cool?
Parce que je me dis que même si
c'est
on est amateur,
boulot,
il faut quand même qu'on...
Alors,
c'est beaucoup de travail finalement,
ouais.
Mais il faut quand même qu'on rende quelque chose d'intéressant. On fait ça par plaisir, d'accord, on gagne pas d'argent, d'accord, mais moi j'écoute déjà beaucoup de podcasts et je me dis que si quelqu'un fait quelque chose de bâclé, d'inintéressant, bon je vais pas forcément les insulter à 3000 km de distance sur internet, mais je vais arrêter de les écouter.
Ouais.
Et ça je pense que c'est le pire des messages en fait.
Ouais.
Genre les audiences baissent ou on a moins de reconnaissance entre guillemets.
Tu as senti ce soir des regards méprisants de la part de tes collègues, dit, ah c'est le mec de Comics Podcast.
Non parce que je pense que même si je disais que c'était moi qui prenais le tort, je pense qu'on
les chines en même temps. Hein.
Ouais. Je pense qu'on était tous d'accord pour dire que l'émission était, enfin cette émission là était pas terrible et que sa préparation, son organisation n'était pas à la hauteur de ce qu'on avait pu montrer jusque là.
Et question d'ailleurs, est-ce que du coup vous jouez la transparence là-dessus? Parce que vous êtes aussi vous êtes des personnalités, comme tu dis, diverses, de raisons diverses, qui ont chacun leur réseau, qui, je suppose, donnent un peu leur crédibilité ou leur audience, etc. Comment ça se passe quand vous faites une grosse foirade des familles? Derrière, vous dites, OK, on s'est chié dessus, vous dites rien, vous continuez à publier, vous faites, qu'est-ce qui se passe?
Dieu merci, ça ne nous est arrivé qu'une fois, ouais. J'y vois. Mais cette émission-là, dès qu'on avait coupé les micros, pour moi, c'était de la merde.
Ah, donc vous le saviez déjà quand même.
J'en étais persuadé.
Alors, Ben, qui était un de tes chroniqueurs.
Ouais. Les petites boulettes, enfin les micro-boulettes, genre par exemple, juste on dit une connerie ou on se trompe d'un auteur dans une référence. En général, soit sur les réseaux sociaux, on le dit, soit l'émission d'après, on dit ah, on s'est planté ou quoi, mais on est un peu sur le tour de la rigolade, on n'est pas, enfin on prend pas ça, on n'est pas en train de chialer quoi, tu vois. On dit juste ouais, voilà, on s'est planté. De toute façon, ils savent qu'on n'est pas des pros.
Et donc, juste pour finir là-dessus, même si les gens sont sympas avec vous, vous êtes quand même obligé de faire mea culpa. Internet n'est pas très.
Alors, j'étais pas du tout obligé de le faire.
D'accord.
Tu parlais de transparence. Ouais. Pour moi, c'était normal. Tu fais de la merde. Tu passes d'une formule à l'autre sans expliquer quoi que ce soit. C'est normal que tu dises. Au fait, la raison pour laquelle la formule a changé, c'est parce que la dernière fois, on a fait de la merde. Je pense que c'est normal de l'expliquer. Tu peux pas dire comme à la télévision, on a viré un tel parce qu'il a dit de la connerie, de la merde.
Mais qu'est-ce qui a changé alors dans le...
Oui, alors voilà. La question c'est
au niveau de l'orga ou...
Voilà, au niveau de l'organisation, on préparait vraiment mieux les sujets. On en avait moins. C'était moins random. C'est-à-dire qu'on décidait. Alors déjà, il y avait ça aussi. C'est moi qui décidais des sujets avant tout.
Je trouve que tu
nous ont libérés.
Tu mets beaucoup d'importance à dire. Je prenais les décisions.
Non, mais c'est ça. Mais je pense que c'est une des raisons de l'échec.
D'accord.
C'est que il a fallu. C'est important. On est un grand groupe. On est, il me semble, 9 aujourd'hui. De répartir des tâches que je ne peux pas prendre tout seul au bout d'un moment. Au bout de 6 mois, bah, c'était trop pour moi, clairement.
Ouais.
Ça s'est soldé par cette émission horrible. Et, de répartir les tâches de façon un peu plus égalitaire, pour que, bah, que l'émission ressemble plus à tout le monde. Et pas qu'à moi.
Ouais.
Et que, que ce soit intéressant pour tout le monde, qu'on ait vraiment le point de vue de personnes différentes.
On est passé d'une dictature à une démocratie complète et.
Mon éducation était un peu comme ça.
Voilà, c'est ça. Ok.
Très bien. Et,
j'assume.
Et alors, du coup, pour finir, où est-ce qu'on peut retrouver cette émission? C'est un peu comme un comics maudit qui est devenu collector, non? C'est un truc genre, est-ce qu'elle est toujours disponible?
Elle est toujours disponible. C'est alors, l'émission 12.
Je vais dire aux gens, l'émission 12.
C'est Comics Outcast numéro 12. Elle s'appelle Jacques Kirby. Alors Kirby Q-U-E-R-B-I-2-L-E, pas comme Kirby, Jack Kirby.
D'accord.
Et l'atroce.
D'accord.
Atroce de A à Z.
Bon, voilà. On vous conseille en tout cas d'écouter. Alors Bruno de Marché Parler, t'avais envie de réagir sur ce que
je voulais juste poser une question. C'est l'émission, elle est en direct?
Non, enregistrée dans les conditions du direct.
D'accord. Alors, parce qu'en fait, tu dis l'émission. Dès que j'ai coupé les micros, je sais qu'il y a plus la merde. Après, on l'a publié, les gens ont pas aimé. Et alors, je comprends pas pourquoi vous l'avez publié si...
Est-ce que c'est un choix de la publier ou pas?
C'est... Alors, on a tous des emplois du temps relativement stricts, on va dire, et se voir, c'était déjà quelque chose de compliqué. Et du coup, une fois que c'est fini, c'est fini. Parce qu'on sait qu'on va se revoir...
Je peux pas entendre ça.
Vas-y.
Qu'est-ce qui se passe?
Mais non, mais on peut pas... Tu peux pas... Si tu sais pertinemment que ce que tu fais, c'est de la merde, et si en plus, t'as pas la pression du direct, t'as aucune raison de publier de la merde.
Il y a un premier clash significatif.
Ouais. Et en plus, je peux te dire que c'est Navo et Daz en même temps. On ne va pas te lâcher, mon gars.
Ce qui est bien, c'est qu'Henri est un peu juge de paix depuis son Olympe du Sud, comme ça. Il regarde les mortels s'agiter comme ça sous le nuage.
Moi, ma question, elle était pas aussi frontale que celle de Daz. C'était plus, qu'est-ce qu'il y a à ce moment-là, psychologiquement?
Mais tu penses pareil?
Je demande qu'à comprendre ce qui fait que là où moi, j'aurais dit pas d'émission cette semaine.
Ouais.
Toi, tu t'es dit, il faut quand même la publier. C'est quoi ce truc, sachant qu'on est sur Internet et que l'idée, c'est qu'on est libre, on n'est pas payé,
ouais.
Et que si on saute une semaine, on a sauté une semaine.
C'est vrai, ce que dit Bruno. Est-ce que finalement l'erreur, c'était pas d'avoir fait une mauvaise émission, mais c'était d'avoir publié?
Ça permet de revenir plus fort.
Alors,
là, t'es plus dans le comic, c'est dans le shonen.
Si je te dis, on remonte dans le temps et tu la publies pas, juste, bon, bah, il y a une semaine où il y a pas d'émission. Est-ce que c'est moins grave ou plus grave, tu vois?
Je pense que aujourd'hui, le résultat, tu parles du shonen, est meilleur pour nous. Parce qu'on a trouvé une formule qui maintenant tient depuis plus de 9 mois, qui marche bien pour tout le monde, qui n'est pas, qui est vraiment populaire, dans notre groupe et qui fonctionne aussi avec les auditeurs. Je pense qu'il nous fallait cet accident pour nous rendre compte déjà de ce qu'on voulait vraiment et, de comment construire une véritable émission. Parce que au début, c'était vraiment un projet un peu personnel avec des gens qui m'entouraient. Et ça s'est transformé vraiment en émission collective, avec vraiment plusieurs voix et...
Moi, je salue la remise en question, quand même.
Non, mais c'est cool. En fait, c'est... en fait, ça rejoint un truc, c'est que l'amateurisme, le podcast amateur, c'est aussi l'école. Donc là, c'est comme si
on a grave appris.
Tu savais que t'as raté ton devoir. Pourquoi tu t'es pas pris la correction? Mais c'est bien, en fait.
Du côté de
donc,
la GAPA,
fait la meilleure réponse.
Vous êtes aussi une bande. Incroyable. Du coup,
bravo.
Est-ce que vous avez reconnu des choses là-dedans? Est-ce que vous, ça se passe? Vous avez déjà une sorte de ou de discipline ou de méthodologie? Comment ça s'est passé? Ça s'est construit aussi petit à petit comme ça, dans la douleur ou...
Dans la douleur un peu, c'est-à-dire qu'en fait on a jamais eu nous le cas de l'émission dont on se rend compte qu'elle est pourrie et qu'on publie pas, ou alors qu'on publie et c'est pourri, en le sachant à l'avance. Par contre, non, justement, on a commencé, quand on s'est lancé, on a fait un épisode pilote qu'on a dû enregistrer quoi 4 fois et qui a jamais été publié.
Et non, mais en fait, on a fait un épisode test qu'on a envoyé à une dizaine de personnes
qu'on connaissait
proches.
Pour leur faire écouter.
C'est intéressant, mais que vous n'avez pas publié du coup.
On n'était pas satisfait assez pour le publier. On s'est dit, bon, ça naissait nos bases. Et on a beaucoup appris, hein. On l'a fait, je sais pas, 3-4 fois. On a beaucoup appris comme ça. Et du coup, quand on a fait l'épisode 1, le vrai, on était quand même content de ce qu'on avait sorti. Ça, on s'est amélioré depuis, mais.
On a commencé en juillet et on a publié le premier en décembre. Donc on a bossé un petit peu en autarcie et ensuite on a publié. Mais il y a un truc qui est très différent, c'est qu'on voulait un podcast qui nous ressemble à tous les quatre. Du coup, on prenait les décisions un peu toujours collégialement.
D'accord. Est-ce que ça pose aussi des problèmes, des fois, de toujours prendre des décisions collégiales?
Oui, parce qu'il faut se mettre à la majorité.
Oui.
Donc, évidemment, il n'y a pas d'ego qui prime. C'est forcément tout le monde. Mais en même temps, c'est plus sain pour une équipe. On sait pourquoi on prend une décision et on est tous d'accord. Mais
à quatre, des fois, tu peux ne pas avoir de majorité, du coup.
Oui, mais c'est pas arrivé. Okay. Donc on a eu du bol jusque-là. C'est pas...
On a toujours su faire les concessions qu'il fallait pour pas se prendre la tête en disant, bon, tu préfères faire comme ça, on va faire comme ça. En général, ça n'a jamais été un problème de ne pas être d'accord sur une décision ou quoi.
Toi, Bruno, du coup, toi, c'est l'inverse, que tu as un podcast où tu gères seul, mais avant, tu avais un projet où c'était un peu comme Mickey, j'ai l'impression, je voyais des analogies. Tu avais un projet que tu voulais porter et inviter des gens autour de toi à le faire. C'était Radio Navo.
Ouais.
Est-ce que tu as reconnu certaines expériences d'Ike là-dedans?
T'apprends en faisant. Après, moi, dans le cas, dans Radio Navo, il y a une émission qui s'appelle Les Autres. J'en ai fait une sur le féminisme. Et en fait, je me suis mis vraiment à la place du crétin.
Ouais.
Beaucoup plus, j'étais beaucoup moins féministe que je le suis dans la vraie vie.
Ouais.
Parce que j'allais troller les féministes pour avoir leur réponse. Sauf qu'en fait, il y a eu un effet un peu, mais en même temps, j'en suis pas forcément mécontent parce que c'était ce que je voulais faire. Je voulais poser des questions cons pour entendre les réponses intelligentes. Et le truc, c'est que j'étais tellement con, tu vois, j'ai tellement cherché tout le temps qu'au bout d'un moment, ça a été pris pour, c'est un enculé, en fait, c'est un con, ce gars.
Ouais.
Et donc c'est pas grave parce que c'était une blessure d'orgueil plus qu'un problème dans l'émission.
C'est une émission que t'as publiée aussi.
Oui, bien sûr, j'ai publié parce que pour moi, la mission, c'était que des gens qui s'en foutent complètement du féminisme entendent les questions qui se posent, qui sont un peu de base, et entendent la réponse que des gens plus enclins à connaître le sujet vont donner.
Sauf que t'avais pas prévenu des gens que t'allais faire le con.
Voilà, c'est ça. En fait, je me suis rendu compte qu'il faut tout le temps dire, alors que moi je trouve ça très relou.
Ouais.
Faut tout le temps dire, bon, je pose une question con, mais parce qu'en fait, si tu poses juste une question con sans dire que c'est une question con, les gens pensent que t'es con.
Donc, si un jour vous croisez Bruno, déjà préparez-vous. Et ensuite, si vous voyez qu'il commence à faire le con avec vous, préparez-vous aussi. En fait,
voilà. En fait, ça m'a pas trop embêté dans le sens où ça m'arrive dans la vie tout le temps, en fait. J'aime bien me faire l'avocat du diable.
D'un point de vue projet, t'avais pas d'autres personnes qui prenaient des décisions, par contre, du coup.
Non, j'ai toujours été tout seul.
D'accord.
Sur ce projet-là.
Ouais. Et donc toi, Ike, t'es vraiment entre les deux. Tu restes quand même le pilier central. Tu penses que c'est important pour un projet comme ça d'avoir quand même un meneur?
Alors, on a des voix distendues dans l'équipe à cet égard-là.
C'est bien parce que pour les auditeurs qui voient pas, Eric, quand il a fait, alors on a des voix distendues. C'est un peu dur.
Je peux franchement pas définir clairement quel est notre fonctionnement aujourd'hui.
Ouais.
On va dire que je prends les décisions finales, que j'écoute vraiment toutes les voix, c'est-à-dire que pour moi, elles ont toutes le même poids. Sauf qu'encore une fois, et ça, c'est à faute de personne, on a tous des responsabilités à droite à gauche, paternité, travail, distance, peu importe, et qui font que certaines réponses qui arrivent tard, et du coup, on est obligé de prendre des décisions avant que certaines personnes interviennent. Et donc voilà, pour moi aujourd'hui, c'est collégial. Je suis la réponse finale.
Ouais.
En écoutant tout le monde et en mettant tout le monde sur le même pied d'égalité. Mais bon, s'il y a un conflit, je décide. Non. et voilà. Donc, mais pour moi, ça marche bien pour l'instant.
Et vous, du côté de la Gapart, vous gardez votre organisation 100% horizontale. Tout le monde est une unité.
C'est en fait, il y a juste, je manage pas, je coordonne. C'est-à-dire que je m'occupe de toute la partie administrative chiante, organiser les réunions.
Tu t'es fait avoir. S'assurer.
Non, c'est bah, c'est
si
moi
tu fais
qui
la partie
chiante,
mais t'as pas plus de voix, tu t'es fait avoir. Non
c'est moi qui veux porter le projet, donc c'est aussi cool que ça marche, quoi. Mais c'est vrai que c'est très très horizontal.
Et toute dernière question, vous êtes quatre, donc un peu comme 404 sur un line-up fixe avec les mêmes chroniqueurs. Ike, toi, vous êtes neuf, vous me dites que vous êtes neuf.
On est neuf,
c'est
oui.
plus glissant. Les neuf sont pas toujours dix là en même temps.
C'est ça. On essaie de faire tourner déjà pour que tout le monde apparaisse à peu près de la même façon.
Ouais.
Encore une fois, les disponibilités font que tout le monde n'est pas là au même moment. Et surtout, on essaie d'avoir des enfin, sur des sujets donnés, d'avoir des points de vue qu'on n'attendrait pas.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on sait que le fan de DC Comics, eh ben, il va dire la même chose. Eh ben, on le met pas dans cette émission. Justement, pour avoir quelque chose d'un peu plus honnête,
t'es dur.
Frais.
T'es très dur.
Non, mais enfin, je pense que ça même pour un auditeur, c'est plus intéressant.
Ça dépend aussi vachement de la sélection des comics, vu que c'est les chroniqueurs qui choisissent.
D'accord.
Titre.
Donc l'actualité fait
voilà,
un peu de choix.
Fait aussi le...
Dernière question du coup. Ouais. Alors,
juste
Chloé,
une
dis-moi.
Rectification. Bien en sûr. Fait, on est quatre chroniqueurs, mais on est cinq parce qu'on a un ingé son. Et pour la nouvelle saison à partir de 2016, il va y avoir des nouveaux trucs avec lui qui va être plus intégré. Donc on est cinq.
Il va rentrer en scène.
Il va rentrer en scène, notamment au travers de bonus. On est encore en train de travailler sur le truc, mais ouais.
La dernière fois qu'un réel est rentré en scène, c'était Pat Le Guen dans le club de Roté quand même. Je tiens à vous le dire.
Mais ça va être notre Pat Le Guen
dans Pat Fitty pour les croissants. Ouais, c'était cool. On vous souhaite une bonne chance. En tout cas, merci beaucoup, les amis, pour ce premier témoignage.
Merci à toi de nous avoir invités.
Et puis, Comics Outcast, le 12.
Oui, non, mais j'assume, le 12.
Voilà, allez, j'accorde. Écoutez la 12 et s'il vous plaît, écoutez le reste. Allez, on commence et on attaque le mois de février.
Février. Jouer au bureau, mais sans se cacher.
Avec certains de nos intervenants du mois de janvier qui sont restés, on va parler de jeux vidéo au boulot, c'est-à-dire l'art de jouer en secret en open space peut-être. Et pour nous en parler, c'était une des chroniques marquantes de l'Agapart. Donc de retour avec Chloé et Nico, ça va ? Toujours ?
Toujours.
Oui.
Oui. Et vous serez accompagné de Ben de C'est cool, c'est quoi, qui squattait déjà le mois de janvier.
C'est faux.
Qui sera là au mois de mars. Et de Daz qui squattait aussi le mois de janvier, qui sera là toute l'année.
On a vu de la lumière.
Non mais Daz,
moi je rentre, hein, normal.
On l'a dit, joue aux jeux vidéo dans le bureau et tout. Il a dit tiens, ça, j'ai des choses à apporter. Alors, c'était quoi ce fameux sujet?
C'était une chronique que j'avais préparée. Je me demande si c'était pas février justement.
Eh ben, attends, mais.
Je me demande.
Qu'est-ce que tu crois?
C'est cosmique à ce niveau-là.
Et en fait, ouais, j'avais voulu parler de ça parce que j'avais remarqué que dans nos entourages, il y avait beaucoup de pratiques du jeu vidéo social au travail. Donc que ce soit Street Fighter, que ce soit Dota ou que ce soit
CS. Ah, ça c'est le jeu vidéo social. Moi, je pensais que c'était plus le jeu vidéo social au sens sur
Mais
Facebook.
Ça pouvait être aussi Ruzzle en partie entre collègues autour de la pause d'âge, quoi. Donc on voulait parler de ça.
Mais là, quand tu joues à Street Fighter au bureau, là, c'est pas du jeu vidéo caché au boulot, c'est apporter le jeu vidéo au boulot.
C'est pas caché, c'est vraiment le côté est-ce qu'on joue au travail et est-ce que ça se démocratise aussi par ce biais.
D'accord.
Il y a une skin Excel hein, pour Street Fighter.
Ça dépend, mais Street Fighter, en fait, on l'avait fait, moi je sais que dans les bureaux, Nico, on avait un open space. Et tous les midis, à un moment donné, il y a quelques années, on faisait du Street Fighter tous les midis au boulot. Et je me rappelle que la directrice était venue nous voir pour nous dire. Faites trop de bruit, faut arrêter ça, machin. Je dis, mais si on est en pause, on s'en fout de faire du bruit. Enfin, c'est un peu l'idée, quoi.
Ouais.
Et non, il a fallu qu'on arrête. Hein. Enfin, ou pas qu'on arrête, mais qu'on calme un peu sur le bruit. On jouait moins longtemps, moins fort, etc.
C'est sûr que si c'est aussi bruyant que certaines soirées Street Fighter avec des sticks.
C'est du boulot.
Et j'imagine que ça dure. Du coup, quelle était la logique derrière cette chronique et comment ça a déroulé? Quelles ont été tes conclusions, du coup?
Alors, c'est des chroniques assez courtes, puisqu'on tape sur du 10-15 minutes, donc on peut pas tout voir. Mais l'axe que j'avais choisi au final, c'était de savoir est-ce que ça pouvait améliorer les conditions de taf et les rapports entre collègues, ou au contraire, quelqu'un qui est mauvais aux jeux vidéo et qui est toujours un petit peu la brebis galeuse, est-ce qu'il va pas aussi être mis de côté
dans le
travail au niveau de ses compétences, par analogie, quoi?
Ouais.
Donc c'était un peu c'était l'angle qui avait été choisi.
Et sur ton expérience personnelle au bureau, ça joue aux jeux vidéo? T'as vu ça justement, une sorte de hiérarchisation, un côté genre on va jouer aux jeux vidéo pour fédérer des gens et créer un lieu de vie, et finalement il y a aussi des mauvais côtés.
C'était pas fait en mode team building.
D'accord.
C'était plus en revanche, j'ai vu toujours là où ça joue pas à des jeux genre Street Fighter ou Dota par exemple, ça jouait à du Ruzzle ou à des jeux de quiz musicaux, donc il y avait toujours cette pratique du jeu. Maintenant, je suis dans un milieu qui est quand même assez jeune et assez porté sur l'innovation, donc l'idée c'est de voir aussi si ça se voyait
aller dans le web.
Dans les dans,
Grave.
Je traduis, hein.
Ah, ça va.
Et pour le mec qui est pas dans le web, justement, qui bosse à la Cogip, hein, avec des costards marrons en tweed et tout ça. Est-ce que t'as déjà tenté, Das, d'apporter des petites pauses jeux vidéo?
Ouais, bien sûr. Je suis au pôle innovation, en fait, hein. C'est-à-dire que j'ai apporté le jean et les baskets, déjà.
Ah, folie.
Et ouais, c'est incroyable. Maintenant, tout le monde porte des jeans et des baskets au taf. Ouais, nous, en fait, j'ai profité d'un projet qu'avait capoté pour récupérer un écran HDMI, un écran HD, en fait. Mm-hmm. Et puis, bah, du coup, qui était dans une salle qui servait à rien. Et puis, j'ai branché un petit ordinateur et puis des manettes et puis, et puis on joue, quoi.
Tu sais qu'il n'est pas dans une entreprise jeune parce qu'il a le luxe d'avoir des salles qui servent à rien. Alors que dans les entreprises jeunes en général,
il y a pas de... Non, mais alors, juste pour la petite histoire, parce que je veux vraiment respecter le mec, justement, responsable de l'innovation qui s'est fait lourder. Le projet, il l'avait appelé Stargate, en toute modestie. Et le principe, c'était d'utiliser deux Xbox One pour faire la visio sur Skype. Voilà.
Incroyable.
Tu vois le niveau quand même de...
Révolutionnaire.
Et le mec avait vraiment l'impression d'être au 23e siècle, en fait, tu vois.
Première intervention de Fibre.
Bonsoir.
Pas la dernière. Bonsoir Fibre, ça va bien?
Voilà, je vais juste apporter mon petit grain de sel contextuel. Donc aujourd'hui, le marché dominant dans le jeu vidéo, c'est le mobile.
Arrête de dire ça à Fibre.
Merci. Bah, malheureusement, tout le monde fait le constat, Nintendo le premier en pleurant. Et pourquoi? Pourquoi c'est le mobile?
Parce que les gens jouent.
Parce que la pause clope est remplacée par la pause téléphone, parce que les gens ne lisent plus dans le métro, ils jouent au téléphone, et toutes ces séquences de respiration dans le cadre du travail sont devenues sur smartphone et sont effectivement été substituées par des petites séquences de jeux vidéo. Et Candy Crush et Clash of Clans l'ont bien compris, et non seulement ils font des jeux sur mobile, mais ils font des jeux auxquels tu peux jouer pendant 5 minutes.
Ouais. Donc fait pour. Vous acquiescez la GAPA?
Oui, bah complètement. Enfin, en plus, je pense que le fait que le jeu sur mobile marche bien, notamment en entreprise, c'est parce que dans le cas où tu serais dans une boîte où c'est assez mal vu de lancer ta partie StarCraft, même à la pause midi ou quoi.
C'est à peu près 90% des PME françaises, voilà, on va pas se mentir.
Mais socialement, c'est quand même mieux vu de sortir ton téléphone 5 minutes, on sait pas ce que tu fais dessus, que de sur ton écran de 19 pouces, il y a StarCraft qui tourne.
D'accord.
Ça passe mieux.
D'accord. Donc c'est, on revient à cette notion de pause clope, pause détente.
Et même au-delà, il y a un côté accessibilité parce que les gens qui veulent jouer avec leurs collègues et qui sont pas forcément, enfin Street Fighter, c'est un temps d'adaptation mine de rien. Ouais. Tu vois, sauf si t'es sur des niveaux de jeu équivalents de gens.
Clash of Clans, je comprends que dalle perso.
Moi, j'ai jamais joué à Clash of Clans, mais Clash of Clans. Mais non, ouais, il y a le côté viens, on joue. T'as juste à installer le truc et tu fais tes puzzles avec tes mots et tout le monde peut y jouer quoi.
D'accord. Petite intervention, oui, bonsoir. Oui.
Après, le côté Clash of Clans, ça, disons que c'est un jeu qui a été introduit, disons, dans le grand public. Alors, Street Fighter, StarCraft, à ce côté, ce jeu assez hardcore gamer, alors que tu fais un Clash of Clans, un Candy Crush, c'est, moi aussi j'ai l'application, c'est plus une application qu'un jeu vidéo
ça
à ce stade-là.
Ça passe plus facilement en
ça
milieu
passe plus
professionnel.
Facilement dans un milieu, on va dire, qui est, on va dire, général, pas forcément spécialisé, pas forcément jeune, pas forcément dans le jeu vidéo pur, quoi.
Faut mettre des couleurs pastel à StarCraft, en fait. C'est ça le.
Non, mais tu rigoles, mais c'est vrai que quand un jeu comme Candy Crush, les gens, quand ils le voient la première fois, ils se disent pas, je vais pas comprendre ou je vais pas y arriver. StarCraft, tu vois tourner, si t'as jamais joué, tu captes rien, ça passe trop vite, hein, mais.
Même l'écran d'accueil, je le comprends pas, moi.
Ben, de C'est Cool, c'est quoi?
Justement, je me posais la question, quels étaient les retours des auditeurs sur votre sujet? Parce que là, vous parlez, en fait, faire le comparon entre un jeu console ou ordi, où justement plusieurs collègues vont pouvoir jouer en même temps à la pause déj. Ou alors chacun sur son mobile, je me dis qu'il y a une cassure. Donc est-ce qu'il y a des gens qui vous disent oui, mais je sais pas, moi je préfère jouer sur mon mobile, ou est-ce qu'il y a des gens qui vous disent moi je suis éboueur, donc je peux pas jouer à Street à midi. Enfin, est-ce que vous avez eu ce genre de réponse ou
Pas plus que ça. Le truc c'est que c'était la chronique de février, donc on existait depuis quoi, 2 mois, 3 mois.
Okay.
Donc on avait très très peu de retours à l'époque.
Okay, okay.
Et donc du coup non, on n'a pas vraiment vu ça. Après c'est vrai que la chronique on l'a faite sur un constat, chacun notre constat personnel qu'on a vu autour de nous quoi.
Mais, d'accord. Ouais.
Alors, question du coup aussi pour Chloé, est-ce que ce type de chronique, ce qui est intéressant, ça raconte aussi la patte dont vous nous avez parlé en tout début d'émission, qui est faire des sujets sur le jeu vidéo, comme d'autres podcasts de jeux vidéo, mais qui ne sont pas liés à l'actualité. Là, on revient, j'allais dire, c'est très 404, mais on revient du comportement numérique. C'est une de vos pattes, du coup ?
Oui, on voulait parler des usages, on voulait parler un peu de sociaux, d'économie, de tous les trucs un peu sérieux, mais les tourner, essayer de faire de la pédagogie aux gens qui aimeraient bien comprendre tout ça mais qui n'ont pas forcément envie de se taper des articles de 3 ou 4 pages et d'en parler de façon plus entre nous quoi. Donc ça fait partie complètement de la ligne éditoriale entre gros guillemets.
On a fait guillemets avec les doigts.
Avec une seule main, deux guillemets.
À la base, quand on a réfléchi au podcast, on voulait pas viser uniquement un public d'hardcore gamers, enfin de mecs qui passaient leur vie, les mecs qui passent 18 heures par jour à jouer à StarCraft.
Enfin, vous êtes comme quatre putains de hardcore gamers. Oui, dans non, le
mais
podcast,
nous, oui, hein. nous, oui, justement, mais on s'est dit que les mecs qui passent de toute façon leur vie à jouer aux jeux qu'ils aiment, et pas besoin d'un podcast pour s'informer plus que ça. Ils vont en écouter, mais c'est pas leur but de s'informer avec ça. Donc du coup, on voulait aussi toucher des gens qui aiment le jeu, mais qui passent pas leur vie dessus, qui veulent sans y passer du temps. Se renseigner, et donc du coup, on voulait aborder des sujets qui étaient vachement plus ouverts. Ouais.
Très bien. Ben, pour finir.
Du coup, vous vous interdisez complètement de surfer sur l'actu, par exemple, parce que je me dis que vous décortiquez les aspects humains, sociaux, etc. Mais du coup, si ça touche à un truc qui est dans l'actualité, vous allez attendre
comme
que...
Comme quoi, par exemple, au hasard, comme,
pas,
sujet, quoi,
comme
quoi.
Star Wars, par exemple. Non, mais vous allez attendre que la hype passe pour faire genre on surfe pas sur l'actualité, ou vous en foutez.
C'est intéressant. Est-ce que vous vous refusez forcément, ou est-ce que c'est juste que vous ne vous imposez pas à l'actu?
On s'impose pas.
Ouais, d'accord.
Ouais. Moi, j'ai une chronique. Enfin, on a des sous-chroniques. Moi, j'aime beaucoup faire des coups de cœur monomaniaques, comme je les appelle. Et en gros, quand j'ai dosé pendant 46 heures d'affilée un jeu, je me dois d'en parler, quoi. Donc, parfois c'est l'actu, parfois pas.
D'accord. C'est juste que vous n'êtes pas obligé de l'esquiver.
Ouais. Ouais. On l'a fait. Bah, la dernière fois, c'était quand le dernier épisode de Life is Strange est sorti. Il est sorti le 20, je crois. On enregistrait le 22. Elle avait déjà fini. Et donc du coup,
ça va, c'est bon, je juge pas.
Très bien. Alors, c'était dans quelle émission pour les auditeurs qui veulent écouter cette chronique? Est-ce que vous en rappelez? Février, c'est ça?
Février, donc ça doit être le numéro 3 ou 4.
3.
3.
Si c'est non, 4. C'est
Chloé, non, 4, hein, 4. 4. Février, c'est 4.
C'est Chloé qui fait la gestion, c'est Chloé qui sait. C'est 3 ou 4?
4.
Très bien. Et ben on retrouvera en tout cas cette chronique et on espère que vous l'écouterez. C'était l'Agapa. Allez, on va tout de suite sur le mois de mars.
Mars, faire découvrir les passions étranges des autres.
Le mois de mars, c'est la fin de l'année fiscale et on va la passer avec C'est cool, c'est quoi?
Eh oui.
C'est Ben qui va nous parler d'une chronique, même de deux, qui ont été très intéressantes. Une sur les jouets collectionnés par les trentenaires et l'autre sur les jeux de rôle grandeur nature, joués par les trentenaires aussi d'ailleurs.
Oui.
Et tu seras accompagné de ZQSD, de Riviera Détente en duplex live. Il y a des petits micros aussi qui sont pris par Comics Outcast, ouais. Par Mélissa. Je vois Bruno qui est en embuscade derrière. Alors, Ben, on revient sur toi. C'est cool, oui. C'est quoi? Et là, tu nous parles de jouets.
Ouais.
C'était le premier numéro, c'était au mois de mars.
C'est pour ça que je voulais en parler parce que c'était en fait, c'est un peu ce qui a déclenché l'idée de ce podcast et son exécution.
C'est que t'as des amis avec beaucoup de loisirs quand même un peu spéciaux.
Un peu bizarre, dont un de mes meilleurs potes qui collectionne les jouets de façon
à très haut niveau.
Absolument abusé, voilà. Non, c'est pas du tout.
Il est pas du tout connu.
Voilà. Et du coup, en plus, il a du budget, donc ça prend des proportions hallucinantes. Et en gros, après, en voyant son cas à lui, j'ai vu que j'avais plein de potes qui avaient plein de passions cheloues. Et je pense que c'est le cas de tout le monde. Et c'est là que je me suis dit, j'ai envie d'en parler. C'est surtout en fait quand par exemple, je parle de lui à quelqu'un et que quelqu'un me dit non mais il a 30 ans, il collectionne des jouets, c'est n'importe quoi. Bah en fait, moi, c'est cette personne qui pense ça. Que j'ai envie pas de convaincre, mais en tout cas j'ai envie de voir si elle peut changer d'avis, parce que je pense qu'elle a un avis faussé, parce que c'est pas forcément de sa faute, c'est les stéréotypes, enfin voilà, surtout à 30 ans en général, tu offres des jouets à des enfants, tu les prends pas pour toi.
Pour avoir plus de précision là, donc on parlait de quel type de jouets, quel type de budget, quel type de profil, qui étaient tes témoins un peu?
Bah donc j'ai pris.
Donc t'es pas anonyme d'ailleurs.
Non, pas du tout. Donc j'ai mon pote Bastien qui était dedans et j'ai Joe qui je fais un gros coucou parce qu'en fait finalement c'est lui mon réalisateur de l'émission. D'accord. Qui est aux commandes à chaque fois. Je lui fais un gros bisou. Qui lui aussi est ouf de jouets. Donc en fait en gros c'était vraiment pour le pilote parce que je voulais avoir un truc un peu solide pour pouvoir démarrer. J'ai pris ces deux personnes là et je me suis dit bon bah voilà qu'est-ce que j'ai en fait en gros l'approche c'est qu'est-ce que la personne qui lève les yeux au ciel quand on lui parle du sujet a envie de savoir. Et donc en fait, moi je me mets à la place de cette personne-là. Donc j'essaye de me soustraire au maximum, même si moi je...
Tu t'essaies pas de faire le con comme Bruno du
coup ? Non, je fais pas le con. En fait, mais justement quand Bruno en parlait tout à l'heure, c'est exactement cette approche, c'est de dire de passer pour le, enfin pas le débile, mais en gros je me soustrais au maximum, je pose les questions les plus candides possibles.
D'accord.
Et c'est les mecs dont c'est la passion qui vont répondre et qui vont pouvoir répondre à l'auditeur en fait.
Il y a Henri, il y a Henri Michel qui nous fait des grands signes. Et qu'est-ce que tu voulais dire, dis-moi ?
Oui. Et je voulais dire que là, je suis cœur de cible. Tu parles de ça parce que cet après-midi, l'âme m'a dit que j'intervenais sur ce thème, sur les jouets, et j'ai eu très peur au départ parce que j'étais vraiment dans une option de malaise, quoi, par rapport au thème. Pour moi, l'adulte, ça a un monospace, une perceuse, tu vois, des choses comme ça. Et j'ai écouté l'émission et je suis resté sur les 76 minutes de l'émission. Ah. Et honnêtement, c'est pas pour te faire plaisir, mais je suis passé de A à B. Bon, j'en étais pas au point d'acheter des jouets, mais vraiment, ton attitude, justement, j'avais très peur que ce soit une émission d'experts, un peu entendu sur la passion même, et au contraire c'est très didactique et vraiment bon, je pourrais pas collectionner parce que ce côté de garder sous blister c'est impossible pour moi.
Bah ouais, ça fait partie des ovnis un peu.
Oui, là on parle de ceux qui collectionnent des jouets et certains objets qui les laissent dans le blister pour qu'ils conservent leur valeur.
Des fois ils les achètent en double pour avoir en boîte et pas en boîte.
Enfin, pire race possible.
Très oublié parce que je pensais qu'on parlait de sex toys depuis tout à l'heure, pas du tout en fait.
Et non, tu peux collectionner, ce sont des jouets hein.
D'accord, OK, autant pour
moi. Il faut laisser ton sex toy sous blister par contre, sinon
c'est pour ça que le doute est né dans mon esprit tout d'un coup pour des questions de bref.
Ensuite, il y a eu d'autres sujets.
Et ensuite, bah du coup,
sur la même thématique, enfin, ouais, sur la même mécanique,
ça a fonctionné. Et en fait, j'ai vu les retours du premier épisode. En fait, au-delà de mes proches qui avaient des bons avis.
Est-ce que les retours comme ceux d'Henri Michel étaient des retours typiques, ou est-ce qu'il y a des gens qui ont continué à lever les yeux au ciel en disant les mecs, pour 76 minutes, vous m'avez pas convaincu. Hein.
J'ai eu aucun entre guillemets mauvais retour. C'est-à-dire, j'ai pas eu de gens qui m'ont dit c'est nul, tu m'as pas convaincu. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui ont dû penser ça, mais en tout cas, ils ont pas pris la peine de me le dire. Mais par contre, j'ai eu des retours qui étaient je pensais pas, un peu ce que dit Henri Michel, c'est je pensais pas que on pouvait. Enfin, j'avais un autre avis sur le sujet. J'ai changé d'avis. Il y a même des gens qui connaissent mon ami Bastien comme moi et qui m'ont dit putain, mais je le connais bien et pourtant je pensais pas qu'il voulait parler de jouets, un truc aussi dérisoire que des jouets, de cette façon.
D'accord.
Et du coup, ça m'a vraiment galvanisé. Je me suis dit bon il y a plein d'autres sujets que j'ai envie d'éclairer, de mes potes ou pas d'ailleurs. Et du coup, je suis parti. J'ai fait.
Alors, qu'est-ce qu'il y a comme sujet du coup ?
Donc il y a eu les sneakers avec une personne que vous connaissez bien.
Meilleure émission à mon sens.
Les chaussures. Donc il y a eu les pins Disney. Il y a eu
Les pins Disney, pour ceux qui l'ont pas écouté, c'était.
Eh ben c'est pareil, là tu te dis les pins on les a tous collectionnés quand on était, enfin les trentenaires quand on était jeunes on collectionnait des pins, mais là il y a des gens qui vont au parc Disney pour collectionner des pins, les revendre, il y a un marché parallèle.
Ils sont des vrais connus. Mélissa du studio 404.
Pardon, j'interviens parce que je connais Bastien.
Oui.
Et donc est-ce que du coup il racontait, parce que j'ai pas écouté cet épisode, mais pour vous montrer à quel point ça peut être intéressant, est-ce qu'il racontait l'épisode où genre sa meuf. Genre les jouets étaient tombés sur sa meuf.
Ah non, en plus c'est hyper intime.
Et du coup, il disait genre putain, je suis vraiment content d'avoir ma meuf parce que genre mes jouets ont littéralement blessé ma meuf. Quoi.
Ouais. Non mais
est-ce que vous êtes allé jusque là dans le truc?
Il a pas raconté
genre,
ça, mais il a été et ça m'a surpris parce que c'était la toute première émission et je m'y attendais pas. Il a été dans un truc un peu, enfin hyper personnel où il a dit que un jour il collectionnait à une telle intensité qu'il en a fait une mini dépression, quoi. C'est-à-dire qu'il était vraiment, il faut que j'ai ce jouet là. Enfin, je dis pas ça pour que vous l'écoutiez, mais je vais moins bien raconter que lui. Et du coup, effectivement, ça m'a surpris, mais je me suis dit, ok, en fait, là, je vais me faire des couilles en or. En fait, c'est génial ce sujet. Non, c'est pas vrai. Non, je me suis dit, c'est vraiment cool parce que sur un sujet aussi bête que ça, enfin aussi simple
ça raconte,
que ça,
ça raconte beaucoup. Ouais.
Je peux vraiment les gens. En plus, je tends pas des perches à la Jean-Luc Delarue, tu vois, en me disant, il faut que vous parliez de ça.
Alors
les jouets. Non, mais justement, j'ai pas envie de tomber dans cette espèce de voyeurisme un peu bizarre. Donc, du coup, je leur tends des perches et c'est eux qui les prennent.
En l'occurrence, pour ce cas-là, c'était quand même hyper intéressant.
Mais
prouve la folie du truc, quoi.
Ouais, mais il a raconté sa passion et je trouve qu'il l'a bien fait.
Bruno, tu voulais réagir?
Ouais, en fait, parce que c'est une émission que j'adore.
Ouais.
Et justement,
ouais,
pour les raisons qu'il évoque, mais qu'il peut pas évoquer parce qu'il est très humble, c'est que justement, il y a zéro voyeurisme. C'est qu'on a été très habitué dès qu'un sujet est un peu bizarroïde. À avoir l'effet de la rue, l'effet
on va chercher un peu,
on va chercher,
un peu
on va
malaise,
poser la question,
ouais,
on va te demander 27 fois si t'es vierge, tu vois,
ouais,
jusqu'à ce que tu dises oui en pleurant et qu'on dise voilà, c'est ça, c'est un traumatisme.
D'ailleurs Benjamin Renaud
et là il y a vraiment un truc où tu sens que le gars s'intéresse avec une certaine candeur et à la passion de l'autre. Et effectivement, ça donne quelque chose d'intéressant, c'est que tu obtiens le même effet, c'est-à-dire que toute la phase où Bastien explique, pendant deux semaines de vacances, je n'ai même pas vu la piscine parce que je voulais ranger mes jouets, les mettre dans une certaine catégorie, les ranger comme il fallait, et puis ma copine m'a dit, je crois que tu vas trop loin. Et en fait, c'est lui qui en parle de lui-même, parce qu'à un moment, il éprouve le besoin d'en parler, et c'est pas du tout Ben qui va le chercher en disant, c'est mon pote, je suis au courant de cette anecdote, je vais le titiller jusqu'à ce qu'il raconte le truc un peu voyeuriste.
Bah, ça se verra.
Et ça, c'est super intéressant parce que moi-même, quand je le partage, les épisodes de Ben, j'ai beaucoup de gens qui font des retours en disant putain, c'est fou, je pensais pas qu'il y avait tout un marché parallèle des pins.
Ouais. Bah, si donc, c'est donc, ça,
donc
ça fonctionne en fait.
Donc, il y a des bons retours sur ces coups, c'est quoi pour l'instant?
Ouais, pour l'instant, j'ai pas, y a personne qui m'a dit. Et même s'il y avait des retours négatifs, ça m'aurait peut-être servi, mais en l'occurrence, là, il y a que des gens qui ont. Il y a des gens qui juste disent c'est cool, il y a des gens qui disent. Je le savais.
Elle était facile.
Il y a des gens qui disent c'est bien. Il y a des gens qui me disent je pensais pas, enfin j'ai changé d'avis en gros en substance, et il y a des gens qui me disent même par exemple pour les sneakers, il y a un mec sur Twitter qui m'a chopé, qui m'a dit putain t'es chiant, j'ai recommencé ma collection de sneakers ou même les pins ou quoi. Du coup c'était naze. Du coup c'est il y a tous les types de retours et ça fonctionne bien, du coup ça me donne envie de faire d'autres sujets
ZQSD, est-ce que tu as déjà écouté C'est cool, c'est quoi? Et est-ce que ça te donne envie ou pas de tester? Si tu n'as jamais écouté, en tout cas.
Je n'ai effectivement jamais écouté, et comme cette personne est dangereusement proche de moi, je veux dire qu'effectivement, j'ai très très envie d'écouter ça.
Non, mais non.
Bah non, ce qui est intéressant, c'est quand même, on attaque, Ben n'attaque que des sujets de niche, donc quels sont les autres sujets? Les grandeurs nature,
les jeux de rôle grandeur nature, c'était vraiment, je crois, le plus obscur, parce que quand tu dis, ouais, c'est ce que je disais un peu dans mon
Disney avec les braconneurs.
Oui, mais bon, on connaît tous les pins et on connaît tous Disney, mais c'est vrai que de dire, je m'habille en chevalier avec une épée en mousse et pendant un week-end dans la forêt, je jette des boules de feu, les gens rigolent, mais
c'est que tout le monde dans le public, de voilà. Vos camarades ont levé les yeux au ciel.
Exactement. Et ben du coup, je vous engage vraiment à écouter l'épisode, bon, qui est un peu long pour le coup. Là, on a fait plus de deux heures, mais des gens pareil ont eu des retours en disant, j'irai pas mettre une armure, mais en tout cas, je comprends, je lève plus les yeux au ciel, quoi. Et pour moi, ça fonctionne, c'est gagné.
C'est dû ou pas alors d'être QSD ou ça reste quand même.
Ben oui, tout à fait. Surtout que moi, je suis un homme de peu de passion et
je suis un homme de peu de passion.
Bah oui, les choses m'intéressent peu. Et là, tout d'un coup,
là, t'as pris à rebours 80% des bio Twitter, genre passionné de web, de marketing. Non, là, peu de passion.
J'ai très très peu de passion. Et là, pour le coup, je me dis que les gens ont des passions incroyables. Donc effectivement, si j'avais la passion du podcast que je n'ai pas forcément, puisque je n'ai pas de passion, je l'écouterais. Mais puisque je ne l'ai pas, je prendrais peut-être un temps. Mais peut-être pendant les vacances.
Là, t'as rencontré ton Némésis. Si on était dans un truc de.
Oui, mais il y a Némésis, mais aussi tu vois le Yin. Le Yang, tout ça, on se complète peut-être que finalement on est peut-être la même personne en fait. Presque.
Non, il y a eu aussi les trophées dans les jeux vidéo pour rattraper le sujet d'avant.
Ça c'est un autre sujet de C'est Cool.
C'est un autre sujet où
les gens font des soirées.
Voilà, qui font des soirées où ils font le plus de trophées possible sur PS4 ou des achievements sur Xbox. Et là, voilà, j'ai des sujets. Le prochain, c'est le cosplay et plein d'autres pendant 2016.
Alors,
et puis surtout, je trouve que les gens passionnés sont passionnants. Et c'est le deuxième effet de C'est Cool, c'est quoi? C'est que, en fait, tu rentres avec eux dans leurs problématiques et dans leur monde, tu vois, les mecs qui ont des trophées, les gens qui collectionnent les pins, tu comprends, en fait. Et l'autre truc que je trouve très touchant, c'est que tu vois qu'en fait, au final, c'est pareil qu'un bowling ou d'aller voir un match de foot, c'est que c'est des gens qui se réunissent autour d'une passion, c'est jamais des gens tout seuls, en vérité.
Ouais.
Ils ont toujours 3-4 copains avec qui ils en parlent, avec qui ils se passionnent, ils vont sur des forums.
Mais ouais, ce qui est très intéressant, c'est dans l'émission sur les pins, je crois qu'un des témoins disait que s'il avait pas été engrainé par les autres,
ouais.
Il aurait pas été.
Ouais, c'est avant tout un truc de copain, quoi. Ouais.
On se retrouve toujours compte qu'il y a un aspect communautaire. J'ai toujours ce genre de questions. De toute façon, qui pop toute seule. Ils font jamais ça tout seul. Il y a Henri Michel qui n'a plus d'air. Ah,
Henri, respire.
Non, il y a quelque chose que je trouve merveilleux aussi dans ces passions de niche, c'est que c'est toutes des micro-galaxies où il y a une star. C'est-à-dire que le type qui va être passionné sur les cerfs-volants carbone, il y a Loïc Meunier, le champion. Et c'est ça qui est magnifique, quoi. Tu vois, n'importe quel magazine de loisirs de niche dans les kiosques, et tu vois, ils ont leur star. Et s'ils le croisent dans la rue, ils sont émus aux larmes et tout le monde les ignore dans le métro. Et c'est ça que je trouve ça magnifique, quoi.
Mais toi, Henri Michel, en plus, pas dans tes podcasts, mais dans les contenus que tu produis, tu avais suivi des fois des petites niches ou des passions, ou des loisirs comme ça. C'était un truc.
Je m'étais intéressé aux loisirs français. J'ai beaucoup d'affection pour tout ce qui est bon enfant. Je m'étais intéressé au festival de sosie de Valras comme ça. Et même dans le milieu des sosies, il y a des clashs, il y a des rivalités, il y a des stars, il y a des tauliers, il y a des
influents.
Des nouveaux venus, c'est passionnant, quoi.
C'est beau, c'est beau. Ah bah du coup,
les sosies d'Elton John, c'est une lutte à mort.
C'est un gros marché quand même, les sosies d'Elton John. C'est overcrowded. Petite question pour toi.
Je voulais réagir sur Elton John, mais je sens que c'est un peu trop tard.
Est-ce que t'as une passion pour Elton John? On peut faire
non, pas du tout. Je veux juste souligner qu'Elton John était lui-même pas le meilleur sosie d'Elton John. Je pense. Malheureusement aujourd'hui, ça sent de moins en moins. On pourrait parler d'Elton John assez longtemps. Je vais garder le micro d'ailleurs.
passion Elton John. Fibre, tu voulais intervenir?
Une petite remarque avant de passer le micro à Sylvain. Comme Corentin, il a l'air de s'en foutre de tout. Il devrait faire une émission.
C'est con, c'est quoi?
Je m'en fous, c'est quoi?
Les mecs qui pédalent dans la smoule pour dire, mais non, je te jure, vraiment,
j'en ai rien à foutre. Ouais, aujourd'hui, je parle des
génial,
mais je m'en fous, en fait. Voilà.
Pas plus que ça. Sylvain.
Moi, je trouve le concept très intéressant et surtout d'arriver à faire entrer les gens dans le délire des gens qui comprennent pas. Du coup, tu devrais faire des thèmes politiques, en fait. Tu votes FN, c'est cool, c'est quoi?
Tu vois, en fait, je me suis posé plein de fois la question sur des sujets de fond qui peuvent être hyper intéressants. Mais après, quand j'en parle des gens, les gens me le disent, ou moi, je me pose la même question, je me dis, est-ce que
le racisme?
Non.
C'est cool, c'est quoi?
Oui, mais justement, est-ce que c'est... est-ce que c'est vraiment cool, tu vois? Faut que ce soit cool, parce que si c'est pas cool, j'en parle pas, tu vois.
D'accord. Donc,
c'est objectif quand même, hein.
Mais surtout, ça tombe vachement bien, parce qu'on a le petit Kokobé qui a une passion pour le modem, et il a beaucoup de mal à en parler en ce moment. Non, mais si, vas-y. Non, qu'est-ce que tu as fait pour le modem, Kokobé?
Mais j'ai travaillé pour le modem, mais surtout, en ce moment.
Ah, t'as travaillé pour le modem, tu l'as dit très vite, on peut le redire plus longtemps.
Exactement, j'ai bossé pour le modem. Mais surtout, non, mais arrête de dire ça, je suis super. Je suis super pas fan de ce qu'il dit d'un point de vue sécuritaire en ce moment, donc va pas me faire dire ce que j'ai pas dit, monsieur.
Non, mais la politique jamais, hein.
La politique jamais.
En fait, je pense qu'il y a des sujets que je. Alors, que je. Oui, vas-y, moi.
Non, je ne suis pas d'accord avec vous, arrêtez.
Je ne peux pas vous laisser dire ça, monsieur Kokobé.
Je suis désolé d'arrêter de parler de François Bayrou, mais est-ce que je peux te poser une question?
Est-ce que t'as une passion pour François Bayrou?
Passion Bayrou, encore une fois, sans excès.
C'est un bon nom de Tumblr, ça.
Comment tu décides ce qui est cool et ce qui est pas cool?
Eh ben, alors, je le disais tout à l'heure, en fait, ce podcast est né par les passions de mes potes autour de moi. Après c'est un peu étendu, mais en gros, enfin, tu vois, la politique, je pense que je ferai jamais de sujet parce que c'est pas que c'est pas cool, ou enfin, il y a des gens qui peuvent trouver ça cool, mais c'est juste que c'est tellement éclaté, c'est un truc tellement complexe.
Surtout le potentiel de dérapage est si proche de la valeur 1.
Enfin, tu vois, en gros, moi, ce que je veux. Après, si quelqu'un me dit, je vous une passion à Jean-Marie Le Pen, peut-être que c'est intéressant d'en parler avec lui.
Non mais tu vois, pour les
c'est cool, c'est quoi
Non mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des. Je pense qu'il y a des sujets que je.
Les imitateurs, par exemple, t'as quelqu'un.
Déjà. Ouais, à Valras, on passe par Twitter.
Non, mais un mec qui collectionne les affiches de campagne de VGE, des trucs comme ça, tu peux, quoi, par exemple.
Aussi, tu vois.
Alors, c'est intéressant parce que du coup, ça veut dire que tu t'imposes une limite. Il y a une deuxième limite sur laquelle je voulais t'interroger, c'est que, comme tu dis, la plupart des gens que tu as suivis pour l'instant et que tu as interrogés sont des proches.
Alors.
Donc, t'as la chance d'avoir un vivier incroyable de gens avec des passions un peu niches. Pas que.
C'est-à-dire que c'est comme ça que ça a démarré, parce qu'en fait, j'avais pas forcément envie de traiter avec des inconnus tout de suite, justement, peut-être pour éviter ce côté Jean-Luc Delarue dont on a parlé, et aussi parce que j'avais envie que mes potes fassent partie de l'aventure. Et au fur et à mesure, enfin, dans certains épisodes, j'avais par exemple qu'un pote et les autres, c'était des gens que j'avais chopés sur les réseaux ou quoi que ce soit.
D'accord.
Après, c'est sûr, il va arriver un moment où j'aurai épuisé toutes les passions de mes potes et que j'aurai quand même envie de continuer parce qu'il y aura des sujets. En fait, en gros, tant que je trouve des sujets qui, moi, m'intéressent, enfin, en tout cas, en essayant de me placer à la place, en essayant de me mettre à la place de la personne lambda, de me dire ça peut vraiment être cool, on se pose des questions dessus, ou même si moi-même je me pose des questions sur un sujet, je le ferai, même si j'ai pas de potes. Mais pour l'instant, si je peux avoir mes potes dans l'aventure, je trouve ça plutôt cool.
Très bien. Kokobé.
Est-ce que t'as pas peur de tomber à court de sujets à terme?
Je pense pas. Vraiment, je fais au feeling. Si un jour je me rends compte que vraiment j'ai pas de sujet, j'arrêterai.
Là, on fera la politique.
Ouais, voilà, je ferai un truc sur le modem et je t'appellerai.
Il y aura aucune passion.
Non, mais je pense que voilà, si un jour je tombe à court, ça servira à rien de forcer le truc. J'arrêterai et puis voilà.
Bon, en attendant, on espère que ça continuera longtemps.
Bah, moi aussi.
C'est cool, c'est quoi? On espère que vous écouterez. On peut applaudir Ben.
Merci.
Alors, on attaque le mois d'avril.
Avril, je podcaste, donc je suis.
Et nous voici pour le mois d'avril avec le Romcast. Comment ça va?
Salut, ça va là, mais toi?
Bah ça va. Le Romcast, donc comme le cast de Romain, comme le podcast de Romain.
Tout à fait.
Donc c'est vraiment toi.
Absolument.
Et ça tombe bien parce que le sujet ce sera je podcast dont je suis, et tu seras accompagné de Caroline de La Flasque et La Fume, de Bruno de Marché Parler, et j'ai deux chroniqueurs 404 qui sont en embuscade, qui tiennent des micros et des gens qui rôdent autour. Mais d'abord déjà, pourquoi je podcast dont je suis? C'est un titre qui a de l'importance.
Ouais, alors je crois qu'on rentre clairement dans la partie philosophique de cette émission. En fait, je podcast donc je suis parce que c'est un petit peu le cogito ergo sum de.
Oh là 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 là.
Le podcast, hein, c'est posé.
La
question était de.
Fluctuax nec mergiture. Allez, voilà, c'est bon.
La question était de se dire, en interviewant d'ailleurs nos chers amis du studio 404, de savoir comment on fait pour mettre son identité en avant dans du podcast.
D'accord.
À quel point c'est intéressant, à quel point ça ne l'est pas. Et bah voilà. De savoir à quel point on a un rapport existentiel à nos petites créations audio.
D'accord, mais du coup, ce que tu veux dire, c'est la nécessité ou le besoin un peu viscéral de se mettre en avant, ou le choix éditorial de se dire que les vies de chacun sont un bon sujet de podcast, un bon sujet de chronique finalement. Ou un peu des deux, du coup.
Forcément un peu des deux.
L'ego, c'est important.
Je veux dire,
bien sûr.
On est sur de la création, on a envie de mettre en avant nos petits bébés créatifs. Mais évidemment, c'est toujours fait dans une volonté de rejoindre des crews, des amis, des potes.
Il a dit ça en regardant Sylvain, il cherche l'amitié. Là.
À quel moment tu t'assumes Sylvain. Le fait qu'en fait, t'as donné ton prénom à ton podcast?
Pas souvent, à vrai dire. Je suis d'ailleurs en train de réfléchir, ça sera peut-être pour le mois de juin, mais à renommer cette histoire. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de se dire.
Le Romain Cast, direct. Comme ça sera
probablement.
comme ça, on jouera franchi.
Exactement, avec le nom de famille, le @Twitter derrière. Mais en tout cas, non, l'idée, c'est, voilà, on fait en sorte que, à travers soi, on essaie de faire passer des messages de soi-même et de potes.
D'accord.
Je sais pas ce que vous en pensez vous tous. Hein,
alors, mais... Caroline de La Flasque et la Fume. On a beaucoup rigolé avec Caroline, elle s'est envoyé des mails à déformer le nom de ton podcast. Est-ce que dans ton projet, il y avait cette envie de porter un bébé, de porter un contenu, mais aussi de porter ta personne un petit peu, de te raconter, de t'exprimer, de te montrer aussi, finalement.
Je vois pas pourquoi je suis invitée sur ce sujet.
Je sais pas.
Ouais, il y avait un peu un truc de... En fait, je trouvais que mes potes étaient super marrants, qu'ils avaient plein de trucs à dire, qu'ils étaient un peu décalés. Et du coup, je me disais que forcément, ça allait intéresser des gens parce qu'ils avaient un truc, quoi.
D'accord. Zozo, c'était un point de départ assez naturel, finalement.
Ouais, voilà,
un peu comme
exactement.
Ben, qu'on a écouté au mois de mars.
Ouais. Et en fait, j'ai pris le prétexte du cinéma. Mmh. Mais quand on a fait la dernière, à la fin de l'émission, en fait, il y avait des coups de cœur,
ouais,
où chacun faisait un peu spontanément tout ce qu'il voulait sur n'importe quel sujet. C'était très très libre.
D'accord.
Et j'ai tourné avec beaucoup de chroniqueurs sur la dernière, on avait à peu près 10 chroniqueurs.
Ah, carrément.
Et, ouais, et ils sont tous venus faire leurs coups de cœur. Et en fait, je me suis aperçue que c'était ça qui était bon dans l'émission. C'était que vraiment ils arrivent avec leur truc, parce que je sais pas si ça suffit, en fait. Enfin, en fait, il y avait un concept. Mais le concept était un peu fumeux. Et
ce qui est intéressant, c'était les gens, quoi, finalement.
Ouais, en fait, c'était les gens qui étaient bons. Et du coup, je pense que j'aurais dû assumer ce truc-là et faire un truc que sur les gens. Voilà, ces gens-là ont des trucs à dire. Je trouve ça cool, ouais, la manière qu'ils ont d'apporter les choses un peu frais.
Toi, Bruno, on l'avait vu. Caroline l'a un peu découvert. Du coup, tu nous disais, Caroline, tu l'as un peu découvert en fin d'émission, ouais, que la valeur ajoutée, finalement, le seul intérêt, c'était d'avoir des gens qui parlent d'eux, qui s'expriment. Et là, tu rejoignais un peu Romain. Toi, on en a un peu parlé les mois précédents, Bruno. C'est quelque chose que tu rejoins aussi comme théorie, que finalement, en fait, ce qui est important, c'est les gens.
Bah, moi, en fait, j'ai fait un peu les deux démarches. C'est que Radio Navo, quand je l'ai commencé, c'était que sur les autres.
Ouais.
Donc, il y avait une émission qui s'appelait Les Autres et une émission qui s'appelait Les Invités de mon invité sont mes invités. Et qui avait en commun de mettre en avant les autres, puisqu'il y en a un où je parle avec les autres. Et il y en a un où, en gros, je t'invite toi. Et toi, tu dois inviter trois personnes de ton choix pour parler de ce que tu veux.
C'est une chaîne de mails, là, ça.
Non, parce que je t'invite toi dans, ouais, l'émission. Je dis ok, Lame, bah donc t'as invité qui? Et tu dis bah j'ai invité Daz, Sylvain et Mélissa pour, ouais, parler, et pas Fibre. Pour parler, pas, j'en ai fait une avec Fibre Tigre, par exemple.
D'accord. Ok.
Où il a parlé des réseaux sociaux, parce que c'est un sujet qui apparemment le branche. Je sais pas si vous êtes au courant.
Ouais. Un tout petit peu.
Et puis après, récemment, là, j'ai fait un truc qui s'appelle Marché Parlé, où c'est du coup complètement l'inverse. Ça rejoint complètement Romain, où puisque le principe c'est un kit oreillette et on parle de soi, quoi.
On parle que de soi.
Ouais.
Du coup, c'est marrant parce que Romain, pour revenir à ce sujet, souvent c'est un peu un tabou dans les médias traditionnels. Il y a le contenu, mais un journaliste ne se met pas en avant. La formulation par le jeu ne se fait pas, à moins que ce soit des figures spécialisées comme le gonzo journalisme. Mais on ne se met pas en avant quand on crée du contenu. On met en avant que le contenu. Est-ce que pour toi, du coup, il y a une rupture et le podcast, c'est quelque chose qui est vraiment, c'est le vrai blog audio?
Ouais, complètement. Pour moi, c'est l'intérêt majeur d'un podcast. Hein. C'est une des pistes à développer. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment essayé de mettre en avant le côté je crée, je, ouais, propose, j'ai des potes autour de tout ça, mais on fait des raps. C'est moi qui les écris, c'est moi,
d'accord,
qui les avance, c'est mon petit frère qui fait les beats de ces raps. Enfin, il y a un côté un peu familial aussi dans l'histoire, mais on essaie de mettre en avant cette espèce d'identité familiale et de potes, de telle sorte à ce que les gens se disent, tiens, je peux m'associer à cette idée de je mets en avant mes propos. Et ça, c'est la liberté aussi absolue du net, ouais, et des podcasts.
Et du coup, quel a été le retour, justement? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dit, mais le mec, tu te prends pour qui à parler de ta vie?
Alors,
et est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dit, tiens, c'est intéressant parce que finalement, ça raconte quelque chose?
Alors, il y a eu un peu des deux. Le truc, c'est que sur les émissions, j'ai plutôt eu des retours positifs. Après, il y a un truc dont Sylvain pourra certainement vous parler, c'est le spam via MP Facebook, où en fait, chaque jeudi, parce que l'émission est une hebdomadaire, j'envoyais, ouais, un espèce de mail personnalisé faussement à tous mes auditeurs qui étaient absolument...
Bravo.
Il y a Fibre Tigre qui est absolument ravi d'entendre ça. Et en fait, voilà, là, je les ai vraiment hackés et ça les a un petit peu insupportés de recevoir ça en permanence. Mais
d'accord,
c'était signé Romain Herrera, c'est pas le Romcast.
D'accord.
C'est-à-dire
Sylvain,
que toutes les semaines, en fait, tu reçois un copier-coller sur Messenger et t'envoies des messages à tes potes en disant tu l'as reçu? Ouais, je viens de le recevoir il y a deux minutes là.
Genre, bonjour! Sylvain, un truc un peu comme ça.
Exactement. Suivi d'une virgule.
Mais là, on n'est pas dans le podcast. On est autour du podcast,
oui,
et dans,
sûr,
sa promo.
Ouais.
Dans le podcast lui-même, du coup, le retour de ce podcast très personnel comme un pur blog, et qui, contrairement à La Flasque et la Fume, où qu'on a vu tout à l'heure, La Gapard, où c'est cool, c'est quoi, est orienté sur la personne quasiment comme sujet principal. Il n'y a pas besoin de chercher une thématique ou une actu ou des choses comme ça.
Alors si, nous, quand même. En fait, j'ai commencé en basant le truc vraiment sur l'identité de qui je suis et ce que j'aime. Mm-hmm. Et au fur et à mesure, ça m'a un petit peu saoulé. Je me suis dit que la thématique était quand même plus intéressante pour les autres et pas simplement pour mon oreille et mes écoutes. Donc du coup, je suis parti sur de la thématique pure où on allait graviter avec de la musique, du sketch, du texte autour des thématiques musicales. Mais c'était ma voix, mes frères, etc.
Très bien. Caroline, quel a été le retour des gens quand tu leur as dit « Au fait, je fais un podcast pour raconter avec mes potes ce qu'on adore. » Est-ce que des gens t'ont dit « C'est cool ?» Voilà, ou est-ce qu'ils t'ont dit c'est un peu grande gueule de votre part, c'est un peu grosse tête de dire que vous avez des choses intéressantes à dire et vous mettre en avant.
Ouais, mais personne ne nous a fait de retour. En fait, c'était un peu le truc compliqué avec ça, ouais. C'était le retour des auditeurs.
Il n'y a pas de critique dessus alors, du coup.
Il n'y avait pas de critique. D'accord. Et justement, ça me faisait penser tout à l'heure quand il disait qu'il racontait des grosses conneries, c'était Comique à Outcast, ouais. Quoi, qui ont fait des trucs. Parfois, ça m'est arrivé à la fin, bon, je fais plus l'émission, et je me dis, bon, là, on s'est trompé dans le titre, ou là, on a dit une énorme connerie, ouais. Ou là, tout ça. Je me dis, bon, en fait, ça passe, quoi. Ça passait, et on prenait pas forcément, si, sur l'émission d'après, on prenait à peine de un peu modifier, mais on a manqué un peu de ça de retour.
D'accord. Et est-ce que, du coup, vous trois, que ce soit Bruno, Caroline ou Romain, est-ce que du coup ça a changé quelque chose dans votre rapport justement à votre représentation de vous, pardon, votre ego, ce qui est important, la promotion de vous-même, ce qui est devenu un jeu partagé par tous. Est-ce que gérer ces podcasts tournés autour de vous ou alors dont vous êtes le moteur, ça a changé quelque chose pour vous? Je voulais que je la pose en latin.
Non, bah, je sais pas, je pensais que tu posais la question à Romain.
Ah non, vous trois, mais Romain, si tu veux commencer, ou Bruno.
Moi, dans mon cas, c'est un peu particulier parce que j'avais déjà une base un peu de gens qui me suivaient. En vérité, j'ai plutôt fait ce truc-là pour les gens qui me suivaient.
D'accord.
Donc, c'était pas dans l'optique que des gens me suivent ou de me faire connaître ou, c'était plus de se dire un peu comme un blogueur de l'ancien temps, un peu comme un blogueur 1.0. C'était, de dire.
T'as dit 1.0, Bruno, quand même.
Bah oui, en te regardant droit dans les yeux.
Ouais. C'est là 1.0 qu'il
y a. C'est-à-dire qu'il y a déjà des gens qui te connaissent, mm-hmm. Et puis tu fais un truc pour discuter, pour leur présenter des choses que t'aimes bien, des gens que t'aimes bien.
D'accord, donc une démarche assez simple, quoi. L'ego n'a pas trop.
C'est le même ego que sur Twitter, c'est juste que ça fait pas 140 caractères, quoi.
Ouais, très bien.
Mais c'est le même principe, les gens te follow et tu leur dis des trucs. Ouais. C'est un peu la même attitude, mais sauf que là, t'as plus d'espace. Donc les gens te comprennent souvent mieux.
Romain, t'es d'accord avec cette vision?
Ouais, grave. Moi, je rejoins vachement l'idée du blog 1.0. Moi, avant de faire un podcast, j'avais fait de la scène, un petit peu du rap, etc. Et du coup, il y avait cette idée de, on se met en avant, mais c'est au bénéfice d'un projet. Moi, sur le podcast, je vois exactement le même type de délire, c'est-à-dire on met en avant une démarche et on est libre de pouvoir dire ce qu'on veut, absolument de la manière dont on le souhaite. Et c'est pas que de l'ego, c'est aussi un truc de freestyle. Regardez, on peut faire ce qu'on veut, on peut créer. On est des makers, si on le veut.
On est des makers.
Ouais.
Ces petits mots canadiens.
Et pour ajouter à ce que dit Romain, c'est que dans le jeu podcast, donc je suis, t'es tout seul aussi. Donc tu t'as pas besoin en fait d'organiser des trucs où il y a du monde qui se met autour d'une table. Tu te balades avec ton micro et tu vas partout où tu veux et t'as fait des reportages par exemple.
Dans la forme, c'était libre.
T'es allé en banlieue, quoi.
Wow.
Voilà, tu peux aller voir les mecs, parler à des passants et tout. Ouais. Donc il y a un côté quand même terrain qui est assez cool. Et pareil pour Bruno avec Marché Parler, je pense.
Exact.
Caroline, est-ce qu'il y avait une envie de te promouvoir ou est-ce que pas du tout, du coup, avec ce podcast? Te promouvoir toi personnellement?
Moi personnellement?
Oui.
Non, c'était plus vraiment des autres. Enfin, j'étais un peu fan de.
T'étais fan de tes potes.
Ouais, un peu.
Ah, c'est mignon. Ouais. C'est comme Ben, en fait, un petit peu.
Ouais, ouais.
Il y avait une envie de carrément les mettre en avant. Mais pas moi, de promo personnel.
Non, mais bah, j'étais très mauvaise, en fait, en ça. Je me souviens que j'avais demandé à Sylvain un peu comment vous faisiez sur Studio 404, justement, pour.
Sylvain, t'avais fait une reco, des slides?
Ouais, un peu. Il y avait eu des idées, quoi, mais plus pour essayer de financer le truc. Mais bon, à la fin.
Je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de conseils à donner, du coup.
J'arrive pas avec Studio 404.
En fait, c'était un peu que j'avais l'impression qu'il y avait une base de chacun, quoi, de followers, de tout ça, que nous, on n'avait pas, puisque c'était des. Bon, ce ne sont pas des personnes qui sont tournées vers la com, là, c'était des avocats, enfin.
Ouais.
Voilà. Ouais, non, mais voilà, qui visait pas du tout Twitter, un truc comme ça. Et donc, finalement, c'était difficile au niveau de la diffusion.
Ouais. Donc, c'était différent. Ouais. Très bien. Romain, pour finir, du coup, est-ce que le Romcast est parti pour continuer? Tu dis que ça va changer de nom. Et est-ce qu'il y a des choses que tu vas changer, que tu vas modifier ou pas?
Alors,
par rapport à ce délire d'ego trip du début.
Je suis en pleine réflexion, à vrai dire. Ouais. Je suis en train d'en parler avec mon crew. parce que le, ouais,
les rom casters,
c'est affreux. Ouais, c'est affreux. Je suis de ton avis. Donc tout ça, tu vois, c'est un champ sémantique à modifier absolument. Je sais pas. En tout cas, en janvier, ça va ressortir. Il y aura certainement un nouveau format. Je sais pas encore. Je suis en train de bosser dessus. Je pense que je vais changer pas mal de trucs, mais je sais pas encore si je vais toucher ou non pas.
Caroline, pour finir, oui.
Ouais, je voulais quand même dire que là, j'étais en train de penser à tous mes chroniqueurs qui allaient m'écouter, qui allaient se dire, oh, la grosse égocentrique, elle se fout de notre gueule, elle fait ça pour nous. Non, je l'ai fait un peu pour moi aussi quand même.
Bah oui.
Enfin, je veux dire, il y a un truc quand même où on se dit,
Ah, mais je pense que là, t'es entouré de beaucoup de grandes gueules dans ce salon, donc tu peux parler librement, hein, sur l'ego, il n'y a pas de...
Personne te juge.
Oui, je fais ce truc-là, quelque part, ça me servira après, et moi, dans la démarche, en tout cas, quoi.
Ah, c'est bien, on a fini son de confession. C'était beau. Merci en tout cas, Romain, on peut l'applaudir.
Merci.
Pour le podcast dont je suis, le Romcast, de retour en janvier.
Yes.
Sous un autre nom.
Peut-être.
Les Romcasters.
Misters.
Allez, on attaque le mois de mai.
Mais Patreon, le nouvel Eldorado des petits producteurs de contenu.
C'est le mois de mai, on arrête la déconne, on va parler fric, on va parler argent, on va parler crowdfunding, comme dirait Romain du Romcast. On va parler notamment de Patreon, qui est une plateforme de crowdfunding, mais liée aux producteurs de contenu. Et pour nous en parler, il y aura ZQSD et Passe le Stick, qui sont tous les deux des podcasts qui ont eu recours à ce genre de boosting.
On a franchi le pas.
Voilà.
Un grand sourire. Pour Passe le Stick, nous, on est en différé depuis les Bahamas, puisque c'est là-bas qu'est le compte Patreon de Passe le Stick.
Enfin, ça dépend, on a deux comptes, on en a au Caïman et aux Bahamas. Bon,
c'est du jeu.
Et puis, en principal en Suisse, c'est important aussi quand même.
Eh ben, dis donc, on va être bien. J'espère que vous avez défiscalisé les pizzas qu'on a achetées, les gars, parce que c'est nous qui les avons avancées. Alors, retour. ZQSD.
Bonjour.
Ça va? Corentin, tu représentes le crew?
Oui, parce qu'on devait venir à 8 et les 7 autres sont malades, donc voilà.
Ouais. C'est un bien beau fait. Mais c'est bien, on est content que tu représentes parce que ZQSD.
Je suis très content aussi.
C'est un des podcasts JV Geek les plus connus du petit paysage.
Ça me fait très plaisir que tu dises ça.
Bah oui, c'est vrai.
Je sais pas si c'est vrai.
Sinon, je te méprise tout de suite.
D'accord, c'est le plus long. Donc,
connu aussi pour sa rentabilité économique.
Ah, on va en parler tout à l'heure, Fibre.
Et connu aussi pour sa qualité éditoriale.
Et son manque de passion. Ça c'est Corentin. Ça, c'est
Non, mais je suis la caution manque de passion. Je suis vraiment le mec qui a pas de passion.
Est-ce que tu peux dire déjà ton jeu vidéo préféré, ce que c'est pour cette
chaîne? J'aime pas.
Même non, pas Yoda Story.
Allez, Infinity Factory, meilleur jeu de l'année.
Ah d'accord, ok.
Ah, mais ça c'est un jeu de passion.
Même pas Undertale.
Non, c'est nul Undertale.
Stop. Je sens que ça a dérapé. On va s'accrocher. Je vais m'accrocher fort au sujet pendant que les autres ils vont déraper dans tous les sens là.
Bâtard.
On parle de fric. On parle de fric. Et on parle de l'opération Patreon que ZQSD a lancée cette année avec beaucoup de succès, voire si j'ai bien compris, plus que ce que vous pensiez.
Mais on pensait rien en fait. On a vraiment lancé ça. Avant ça, on avait un système de dons via PayPal ou PayPal, je sais pas. Et les gens nous donnaient des sous pour. Et en fait, ils réclamaient la possibilité. Les gens sont fous. Réclamaient la possibilité de pouvoir systématiser tous les mois leurs dons. Donc nous, on n'est pas contre rien. On a dit bon, d'accord. Donc on a lancé ça sur Patreon en mai. En suivant, on est très sympa. C'est vrai que c'est vraiment notre passe caractéristique principale. En suivant l'exemple de Patrick Béja, qu'on ne cite pas, qui fait un podcast. Enfin, qui fait un podcast, j'exagère.
Notre Patrick, 20... si je n'abuse.
Ouais, c'est ça, exactement. Qui fait une vingtaine, une dizaine, enfin, en tout cas, une demi-douzaine de podcasts à lui tout seul, dont un qu'il a commencé à faire financer sur Patreon un peu avant nous, en ouvrant un peu la voie à différents podcasts français. Je sais plus ce que je voulais dire, mais en tout cas, nous, on s'est lancé en mai, et donc avant ça, on était financé via PayPal, effectivement, et donc on savait à peu près qu'on se faisait.
Est-ce qu'on peut parler de chiffres ou pas?
Je m'en fous, oui, complètement.
Ouais. C'est ça la beauté des podcasts. Casser la liberté, c'est pas les médias.
La face cachée de ZQSD. Bière, oui. Cocaïne.
Non, mais déjà juste en PayPal. Donc ils avaient un PayPal ouvert. Gens s'amusent à vous donner de l'argent.
Ouais, c'est
sans faire l'auto-promo de 404. On en a parlé. C'est là un peu c'est l'économie de la responsabilisation, c'est que les gens sont maintenant contents de soutenir le contenu, ce qui est un grand pas en avant.
Ça même, en fait.
Tout à fait. Combien déjà, enfin combien vous gagnez en termes de dons de PayPal avant de lancer la campagne? C'était 10 euros par là, 15 euros par là.
Ouais, voilà, c'était maxi les bons mois, c'était 400 euros par.
Quand même. Donc on parle de.
Dans la mesure, on est 8, ça représente. Parce que, enfin, j'imagine qu'on en parlera ultérieurement, mais nous, dans nos démarches, à aucun moment, il s'agit de se financer pour se payer. Nous, c'est pas du tout la démarche. C'est de se financer pour pas avoir dépensé d'argent pour le podcast.
Très bien.
En tout cas, c'était la démarche au départ quand on a fait PayPal.
Donc après, ça, c'était PayPal. Et donc ensuite, on attaque. Vous décidez. Enfin, à 400 euros dans les bons mois, c'est quand même, ça commence à raconter des choses. Mmh. Et là, vous lancez une campagne Patreon.
C'est ça. Donc, en mai,
On lance ça en se disant bon, on va faire moitié moins parce que les gens, ils veulent bien donner 400 euros une fois, mais ils veulent pas donner ça tous les mois. Enfin, les gens sont fous, mais ils sont non plus, ils sont, enfin, c'est la crise quand même. Donc, on s'attendait vraiment pas à ce que ça marche et finalement,
tu manques vraiment de passion quand même. Hein.
Très, bon, très
vrai, les gens, bon.
Très vite, mais non, mais les gens sont pauvres, je sais, j'en suis un.
Et surtout, il oublie de parler du superbe décapsuleur qui était offert pour les dons.
On pourra parler stratégie si
tu veux. J'en ai pas eu d'ailleurs. Je tiens à me plaindre.
Mais je serais ravi de faire un post-mortem sur comment faire un Patreon qui marche un tout petit peu.
D'accord.
Je sais pas si ça va être le sujet là, mais et donc bah oui, donc très vite ça marchait, ça a dépassé ce qu'on faisait les meilleurs mois avec PayPal et maintenant on tourne à 1 000 $ par podcast, je crois.
Très bien.
1 000, 2 000.
Oh, bravo. Ah, ah, bah, c'est, on a applaudi le fric ou pas?
Entre 1 000 et 2 000.
Oh, bah c'est mes mecs, c'est les années,
on peut claquer les doigts.
Non mais ça fait beaucoup d'autant que
ça fait trop, en fait.
D'autant que vous en sortez deux par mois.
Comment ça se passe? Les gens payent par mois, les gens payent par numéro?
Par numéro,
par
tu fais ce que tu veux sur PayPal.
Sur Patreon,
tu veux que ce soit par mois, que par numéro.
Mais c'est celui qui crée le Patreon qui choisit, évidemment.
C'est ça.
Ça peut être par mois
et les
ou
gens
par numéro.
Fixent un, si vous voulez parler mécanique, c'est passionnant, mais les gens peuvent fixer un maximum. Par exemple, si tu décides tout d'un coup, nous on déciderait de faire un podcast par jour,
ouais.
Il ne paierait pas 30 fois ce qu'il donnait. Enfin, il pourrait payer 30 fois.
Mec, les mecs qui éditent.
Non, mais tu vois, on pourrait faire 10 fois moins de podcasts,
oui.
Mais 10 fois plus court, quoi.
D'accord, ok.
Ce qui serait. Mais maintenant que j'y pense, c'est génial, en fait.
Et ce n'est pas. Et bizarrement, ce n'est pas plus court. Chaque ZQZ est toujours plus long.
En fait, tu peux fixer et c'est là un peu aussi l'astuce de Patreon, c'est que tu fixes une somme que tu verses à chaque fois que l'occurrence de ce que le créateur de contenu t'a promis arrive.
Je n'ai rien
mais
compris.
Aussi oui, moi non plus, je sais pas ce que j'ai dit, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Non, et mais aussi il y a un maximum à la fin du mois. Si tu décides de faire 30 podcasts, tu payes pas forcément 30 fois la somme que t'as
promis. Très bien. Donc cette campagne très obscure que tu n'as pas réussi à expliquer à toi-même, mais cette campagne en tout cas, on comprend qu'elle a un succès parce que
non mais il y a de l'argent qui passe dans un coin, en tout cas c'est
voilà. Non mais il y a de l'argent, et puis encore une fois on parle de sommes qui sont grosses et petites en même temps, c'est-à-dire qu'on parle de zéro il y a quelques années où les gens ne payaient rien. On parle à 3 chiffres aujourd'hui, enfin 3 zéros, ce qui est énorme, et en même temps, ce qui n'est rien, parce que les gens peuvent pas se payer. Mais c'est comme, c'est une piste intéressante quand même qu'on est en train de vivre là.
Bah, c'est.
Est-ce que vous avez l'impression de représenter ou d'accompagner quelque chose d'intéressant?
Bah, on a, alors, comme je le disais, nous, on a vraiment pas l'ambition d'en vivre, parce qu'on est, enfin, tous à côté, on est la plupart journalistes, la plupart journalistes de jeux vidéo, et on gagne déjà notre vie en faisant ça. Donc ça, c'est vraiment, dès le début, c'était l'idée de faire un truc qui était, cadeau en bonus.
D'accord.
Et, mais par contre, moi, entre le moment, où effectivement il y a un an où on se disait si on lance ça on va faire 50 euros, et le moment aujourd'hui où on voit qu'on peut se faire 1000, et tu te dis bah demain peut-être que peut-être pas une équipe de 8, en plus nous on est cons si on est 8, tu vois, donc 10 par 8 forcément 8 il reste plus grand chose.
Toi faudra pas que t'organises un cambriolage, hein, parce que le split il serait très mauvais.
Mais par contre il y a des producteurs de contenu qui sont tout seuls ou à deux,
ouais.
Et que là ça peut devenir, quand les types commencent à recueillir des sommes importantes, ça peut devenir un véritable moyen de financer une création d'une œuvre entre guillemets, ce qui n'est pas une surprise pour les producteurs de contenu américains, ce qui est davantage une surprise et ce qui est assez nouveau en fait pour les producteurs de contenu en France.
D'accord, très bien.
Ce qui en revanche pose des problèmes parce que Patreon ne comprend rien à l'Europe et il ne sait pas comment fonctionne la TVA ou ce genre de choses. Donc de toute façon, tu voudrais te payer, tu auras des problèmes incroyables au niveau de la trésorerie qui sont en train d'être résolus par des gens qui gagnent beaucoup trop d'argent.
Vous irez en taule comme arrêt sur image et
oui, mais d'autres qui marchent beaucoup mieux que nous sont effectivement actuellement en discussion avec Patreon pour tenter de leur expliquer comment ça marche la fiscalité.
Avec toi, il y a un autre podcast de jeux vidéo.
Hello.
Avec aussi beaucoup de mecs et qui est grande gueule, qui existe depuis un certain temps et qui est aussi passé par une campagne de financement, si je ne m'abuse.
Alors, c'est pas nous même.
Kokobé.
Oui, c'est Kokobé. Bonjour.
Oui, effectivement, c'est Kokobé.
C'est pas nous mêmes, c'est Radio Kawa. Donc, c'est un groupement de podcasts dont d'ailleurs Comics Outcast et Lagapar et d'autres.
C'est un peu l'universal des podcasts. Hein, j'ai l'impression.
Ouais, voilà.
Tout le monde,
on est un peu le Disney. Voilà, le podcast Star Wars va pas tarder.
On est arrivé.
C'est le crossover Marvel des podcasts.
Vivement le multivers.
On est arrivé maintenant à 30 podcasts par mois, donc on en sort un par jour sur le global de Radio Kawa quand même.
C'est après les actifs, je sais pas trop combien on en a qui sortent vraiment régulièrement, j'ai pas compté.
Tu poses une colle au vice-président, c'est pas sympa. Mais genre 8, 9, 10, un truc comme ça. Mais,
d'accord. Mais donc là, en fait, du coup, cette campagne, elle est pour Radio Kawa en général.
Global, voilà. Exactement. Global pour toute l'association.
Donc c'est d'autant plus incroyable de la part de ZQSD d'obtenir une telle somme pour un seul podcast, que nous, on le fait pour un groupement de podcasts. Donc techniquement, on divise pas. Évidemment,
on
répartit en fonction des besoins, en fonction de qui a besoin d'argent. Je sais que certains de nos podcasts, par exemple, empruntent des locaux de radio comme WFM pour Comics Outcast et d'autres. Nous, c'est vrai qu'on a peut-être été le podcast le plus gourmand en termes de moyens pour l'instant, je pense.
On est ceux qu'on en avons bénéficié le premier. Effectivement, on avait besoin de, donc, parce que le stick, ça fait C'est notre 3 ans, c'est notre 4e saison.
3 ans en février, voilà.
Voilà, c'est notre 4e saison qu'on fait. Effectivement, on avait le même matos depuis le début qui était plus adapté, qui était pas prévu pour se faire prendre de la bière toutes les semaines sur la gueule, c'est pas fait pour. Donc il a fallu le redoubler et le Patreon a été bienvenu, on a été les premiers à en bénéficier. Mais après ce Patreon là, on est encore à moins que ZQSD avec le Patreon de tout Radio-Kawa.
D'accord.
Ce qui prouve que ces mecs-là sont très très bons et qu'ils ont des très bons lecteurs très riches. Ils ont bien fait.
C'est ça. En fait, c'est que vous
ils ont bien ciblé, hein, vraiment.
Alors, je sais pas s'ils sont très riches, mais en tout cas, je pense qu'ils ont une communauté, en tout cas chez ZQSD,
très dédiée.
Très dédié, exactement, qui est très passionné par ce que ZQSD fait, et je pense que c'est également important dans le cadre, quand on demande un Patreon, d'avoir une communauté aussi. Il faut garder ça en tête quand on se dit, tiens, est-ce que Patreon pourrait financer ce que je suis en train de faire?
C'est très bien.
Il faut se poser la question de, est-ce que les gens sont suffisamment fidèles pour payer ce que je suis en train de faire?
Corentin,
ils sont mignons parce qu'ils sont jeunes, et justement je vais le démontrer parce que
vas-y quoi.
Il est pas plus vieux que nous, hein, faut pas déconner non plus.
Il est très vieux.
En fait, nous, si ça marche, c'est pas parce que c'est bien, c'est parce qu'en fait, nous, on s'adresse à un public de vieux et que les, enfin, un public de vieux de trentenaires, et que eux s'adressent à un public plus de vingtenaires, et qu'en fait, les contenus aujourd'hui.
Toi, tes auditeurs, ils ont des CDI, alors que nous, ils sont en apprentissage,
en
toi.
Stage.
Et encore. Hein, tu vois.
C'est ça. Ce que je veux dire, mais c'est aussi que les gens qui consomment aujourd'hui des médias, des podcasts, des machins, sont aussi des gens qu'aujourd'hui, qui ont 30, 40 ans et qui ont un pouvoir d'achat plus important que,
Très bien.
Que voilà, c'est ce que je voulais dire.
Fibre, qui depuis tout à l'heure trépigne sur son
non,
pseudo Kimcher.
Non, pas tellement, je suis cool. On avait parlé de crowdfunding.
Fibre, depuis qu'on a créé 404, tu fais la guerre au crowdfunding.
Oui, alors, juste une chose, déjà, une parenthèse avant de répondre à cette question essentielle.
Alors, vous savez que Fibre aime bien faire des parenthèses divisées en trois parties, chacune avec un alinéa B.
De toute façon, je savais que j'allais intervenir, j'ai préparé une chronique, mais, ZQSD, vous avez été étudié en haut lieu. Par des gens qui veulent faire des podcasts. Ça, je vous invite à voir une émission qui était faite avec Télérix sur les podcasts, voilà. Et donc ZQSD, la personne qui a fait l'étude, une journaliste, soutenait que ZQSD, vous êtes à l'équilibre financier. C'est-à-dire que
on n'achète que des bières. Donc
non, c'est-à-dire que comme votre émission, elle dure une heure. Si vous payez tous les gens l'équivalent d'une heure plus les charges sociales, vous êtes à l'équilibre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le ZQSD, c'est une entreprise. Quand vous prenez le temps de travail, vous pouvez le payer. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Ouais. Effectivement, nous, à 404, on a des discussions internes parce que nous aussi, on aimerait gagner de l'argent.
C'est surtout Fibre. Non, je rigole. Tout le monde veut gagner
c'est
de l'argent.
C'est plus Fibre. Non, en vrai, c'est Fibre.
Non, voilà.
il peut l'avouer. On pense qu'avec un Patreon, on pourrait être aussi gros que ZQSD.
Attends. Alors là, c'est Fibre. C'est Fibre qui pense.
Taisez-vous. Fibre. Avec un Patreon et HP.
Oui, HP. Le premier point HP, quand même.
Et pas le dernier.
Mais attendez, c'est seulement. Mais regardez, j'accuse l'âme. Il refuse que HP nous sponsorise.
J'étais tellement sûr qu'ils avaient prévu des points HP. Genre le premier qui dirait HP, il a perdu. Pas osé faire la blague de toute la soirée. Non,
les gars, on voudrait bien ou pas HP nous, parce que si on peut.
Ah non, on achète tout, nous on prend tout. HP. On est acheté nous. Non.
L'âme pourrait s'exprimer. Est-ce que tu peux dire déjà pourquoi tu veux pas de sponsor dédié en fait, c'est-à-dire de sponsor technologique?
Ah, parce que c'est le sujet de 404.
Voilà.
C'est tout. Et qu'effectivement.
Les gens sont trop d'éthique.
Mais bon. ce qui est intéressant quand même sur le Patreon, pour en revenir à ça, il y a Henri.
J'ai entendu un ad d'Henri Michel.
Peut-être qu'il bat.
Non, j'ai juste dit bravo à l'âme.
Merci. Henri, qui est aussi un des rares blogueurs 1.0, parce qu'il nous appelle comme ça maintenant, Henri Michel, qui n'a pas fait de post-sponsor non plus.
Non.
C'est tout.
Parce que, effectivement, c'est pas mon métier et. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais je suis dans complètement punk en fait. Ce sera un asservissement. Et puis aussi au niveau de la fréquence de publication, parce que je suis absolument pas fiable là-dessus. Et un crowdfunding, ce serait comme un dû. Du coup, ouais. Je serais obligé de publier. Ce serait absolument terrifiant pour moi.
Et d'ailleurs, ce point d'enrichissement est intéressant parce que encore une fois, mettons vous gagnez de l'argent.
Oui.
Et on retombe dans la logique du OK. Maintenant, j'ai des patrons, puisque c'est le nom du service. J'ai des clients. Ou des sponsors, vous appelez ça comme vous voulez, mais vous avez des gens à qui rendre des comptes maintenant.
Mais pas tant que ça, parce que...
Pourquoi ?
En fait, au début, quand on a commencé à se dire, bon, il faut qu'on achète des PC, des cartes son, des micros et de la bière, et on s'est dit, le problème, enfin, à l'époque, ce qu'on avait comme possibilité, c'était Ulule ou Kickstarter, qui était payer une somme fixe, et donc effectivement, dès lors que tu payes une somme fixe, tu t'attends à avoir un produit donné. Nous, là, aujourd'hui, avec Patreon, c'est pas ça. Patreon, c'est à chaque fois que tu sors quelque chose, tu as la somme. Donc, si nous, tout d'un coup, on se dit pendant 6 mois de faire une pause, les gens paieront rien pendant 6 mois.
Ah, d'accord. Donc, en fait, c'est quand même un système qui est bien pensé. Il y a une flexibilité.
Mais c'est vraiment pensé pour les pas forcément pour les podcasts, mais pour le contenu. Ouais.
Pour les contenus en général. Fibre.
Et puis, c'est éditorialisé chez vous. C'est pas pareil que C'est une vraie émission de contenu. C'est pas, comment dire, des expressions personnelles. Tu veux faire un épisode dada où tu proutes pendant une heure.
Là, t'auras moi, je donnerais à rendre. Hein, tu donnerais pour ça.
Vraiment podcast, ce que tu fais. Là, toi, t'as une ligne éditoriale. Donc, tu la remplis quoi que tu fasses, grosso modo. Mais si j'ai envie de prouter pendant 60 minutes, on risque de m'engueuler, quoi.
Ou de donner de l'argent. Et là, tu fais, mais merde, qu'est-ce qui se passe? juste pour revenir une dernière fois, ce que disait Corentin, c'est qu'effectivement, Patreon, c'est bien fait. Tu ne t'imposes pas non plus de faire du contenu, justement. Toi qui te plains de dire je fais du contenu amateur, erratique,
oui, mais
non
si
régulier.
J'ai envie de faire quelque chose d'un peu dada, les gens diront c'est pas tout à fait un vrai épisode, par exemple.
D'accord, ok. Oui, c'est vrai que là, c'est là où on revient à ton point sur l'éditorial.
T'es pas obligé de tout faire, j'ai l'impression que c'est affreux ce que je suis en train de raconter. C'est extrêmement, je parle économie et tout. C'est très déprimant. Ça me déprime un peu cette émission. T'es pas obligé de faire payer tous les contenus que tu sors. Nous, des fois, on sort des trucs complètement débiles aussi. Et enfin, assez régulièrement, mais des fois, ils sont particulièrement débiles, du coup. On les fait pas non plus payer.
Ah, tu peux cocher ce que tu
exactement.
Vas... Ah, d'accord.
Tout à fait.
Alors, Sylvain.
Ouais, en fait, c'est juste un petit conseil économique pour Henri Michel. Si t'as envie de faire une émission où tu pètes en fait en direct, je te conseille de te rapprocher des modèles économiques des camgirls en fait.
Ouais.
Et du coup.
C'est vrai, hein.
Oui. Du coup, je te propose de péter devant la webcam.
Pour 20 euros,
et les gens t'envoient de l'argent et des tokens et ça fait ding ding et toi tu fais merci et tu pètes un coup, tu vois. Et c'est super cool. Je pense que tu devrais faire ça.
Ça ressemble à certains streamers aussi. Hein,
les fart girls. Oui, Fibre, tu voulais aussi rebondir encore.
Oui, je voulais juste dire que je reprends le fil de notre discussion. Nous avons des discussions en interne sur comment gagner de l'argent à tout prix.
En fait, c'est Fibre qui relance à chaque fois, genre, salut, ça va, Fibre? Ouais. Et sinon, on gagne de l'argent? Ouais.
Non, mais moi, personnellement, non, j'ai été une voix où je me suis opposé au Patreon de 404. Bien qu'on. Tais-toi, s'il te plaît! Quand tu auras la parole, tu parleras. Oh là là, elle est insupportable.
C'est Lisa qui râle.
Je me suis opposé au Patreon parce que je trouve qu'aujourd'hui, 404, on a une émission, on se la pète un peu, on ment sur nos écoutes, etc. On dit qu'on est les meilleurs. Et si effectivement demain.
Mais ce mec ment.
Si demain on est. En tout cas, je m'oppose personnellement aujourd'hui au Patreon et c'est quelque chose, quoi qu'ils disent, c'est mon opinion.
Non mais la gaieté lyrique, c'est pas donné, hein. Il faut la payer quand même à un moment. Faut le dire.
Dis mon argument et après vous pourrez dire n'importe quoi, je pourrais partir. C'est que je me suis opposé au Patreon parce que notre émission, si. Demain, on la présente à n'importe qui, on dit voilà, on a un bon podcast français, on a un institutionnel du podcast français, et que notre émission, elle vaut 3000 euros par mois. On est des nuls! Parce que c'est nul, 3000 euros par mois, en fait, quand on y pense, c'est rien du tout.
C'est mieux de faire une campagne de pub
HP. Si demain, mais c'est pas possible.
Et t'as même pas partagé les fruits de tes bénéfices.
Je suis en train de dire quelque chose de capital. Attendez, c'est hyper important.
On va laisser Fibre terminer.
Demain, si Radio France, si France 2, n'importe quoi, se penche sur le petit monde des podcasts, ils disent, c'est quoi? Ouais, ça gagne de l'argent, c'est intéressant. Et on leur dit, les émissions les plus importantes, elles font 3000 euros par mois. Les mecs, ils vont rigoler, ils vont vous balayer d'un revers de main, ils vont partir. Alors, moi, je suis content que ZSQSD soit à l'équilibre, ils ouvrent des bières, c'est sympa, etc. Mais nous, malheureusement, on est obligé de mentir, c'est-à-dire vivre dans la pauvreté plutôt que de vivre dans les 3000 euros. Parce qu'effectivement, on dévaloriserait complètement notre image. C'est très,
oui,
très
mais
grave.
C'est parce que tu as des ambitions incroyables, mais nous, on n'a aucune envie de gagner de l'argent là-dessus.
Dans 10 ans, tu seras le Cyprien du podcast.
Ah, voilà. C'est tout ce qu'on
non,
souhaite.
Mais c'est histoire.
Des gens qui faisaient des podcasts il y a 10 ans disaient déjà ça. Dans 10 ans,
Il y a un time to business et ce sera peut-être plus tard.
Alvin.
Mais alors, c'est ce que tu disais, vision sur la précarité. Enfin, nous, à Passe le Stick, on la connaît bien, on la pratique depuis un moment. Et l'idée même. C'est pas vrai,
il y a des pizzas, il y a des bières.
Donc, Passe le Stick, on a plus de 100 épisodes. Je pense que tu reprends tous les épisodes, mais on doit avoir 10 changements de taf qu'il y a eu sur 100 épisodes quand même.
C'est ça que je trouve qui est intéressant, mais je n'inquiète pas, j'ai un micro. C'est que finalement, on n'a pas gagné de l'argent directement avec Passe le Stick, mais Passe le Stick nous a fait une carte de visite qui a permis, par exemple, Kokobé d'avoir son travail à Jean-Luc Gamer, je pense, moi, Gaming Life, enfin, finalement, c'est qu'on n'a pas gagné de l'argent directement avec Passe le Stick, mais avec le travail qu'on a fait au travers de Passe le Stick, on a pu avoir un travail, tu vois.
On ne gagne pas que de l'argent dans la vie, on gagne plein de choses, on gagne plein d'expériences, plein de
choses. Fibre ne gagne que de l'argent.
Nous, c'est un plaisir, enfin, il faut aussi le dire.
Et des ordinateurs portables.
On parle de l'aspect financier, mais à la base, un podcast, on
fait
pas.
Il y a une boîte de Pandore qui a été ouverte, c'est fini, mon pauvre Fibre.
Un podcast, on fait pas de temps pour gagner de l'argent, on le fait parce qu'on a envie, parce qu'on y gagne quelque chose personnellement. Si on fait pas ce truc toutes les semaines, c'est parce que d'abord, on a envie de se retrouver, de parler de jeux vidéo avec nos potes, en buvant des bières et en mangeant des pizzas. et c'est bon. Oui, j'ai tout dit comme il fallait.
Oui, oui.
Et c'est d'abord ça la motivation.
S'il y a un peu de coke, s'il y a un peu de coke quand même.
Si quelqu'un veut nous en amener, il est le bienvenu. Effectivement, on peut discuter.
Ok, j'avoue. Ça roule.
Tu es le éboué de cette émission.
Et ben la semaine prochaine, à lundi.
Oui, et puis il a raison, et aussi sur le fait que faire une émission toutes les semaines en ce qui concerne Pass Music, ou toutes les deux semaines, c'est récent d'ailleurs, je crois, hein, pour QSD, vous étiez tous les mois avant.
C'est cette année, ouais. C'est dans le conducteur.
Mais toutes les semaines, en ce qui nous concerne, c'est une rigueur. C'est quelque chose. Moi, en ce qui me concerne, quand j'ai commencé Pass Music, quand j'ai dit à Timote, qui était le fondateur de la formule Pass Music à l'heure actuelle, c'était parce que, je suis au chômage et je me fais chier et j'ai pas envie de rester là, dans ma chambre, à regarder le plafond. Et faire le podcast, c'est aussi une activité, c'est aussi quelque chose qui te permet de, le matin, tu te lèves, allez, faut préparer le podcast parce que c'est le jour du podcast et que voilà. Donc je pense que.
C'était taboué.
C'était une sorte de bouée à ce moment-là, mais à l'heure actuelle encore, je la garde en ce qui me concerne, et je pense toute l'équipe de Passe-Cic pourra dire la même chose, mais ça reste un rendez-vous qui est, on peut parler d'actualité jeux vidéo, ou alors de jeux vidéo de manière générale pour ZQSD, et on va en parler bien, et on va un petit peu réviser ce qui se passe, et c'est une certaine forme de rigueur matérialisée sous forme de podcast, donc je pense que c'est important. Très bien. Voilà.
Conclure deux phrases. Oui. Conclure, je ne sais rien, je ne suis pas moi qui fais cette émission.
Désolé, alors, Fibre, malheureusement, tout le monde veut parler, on a explosé
le temps. C'est Noël, c'est Noël.
L'esprit de Noël. L'esprit de Noël, ouais, c'est ça. Ouais. Des frics. Comment
t'as J'essaye de faire. Patreon paye l'Uber, là, parce que.
Très vite, pour répondre d'abord à Fibre. En fait, on parle de business, de rentabiliser ce genre de d'activité. Enfin, nous, j'ai envie de faire un petit peu de publicité. En fait, c'est un prétexte pour faire de la publicité. En fait, on fait aussi un magazine de jeux vidéo. En fait, on fait déjà ZQSD de manière payante. Et un magazine et en fait les gens qui veulent nous payer et nous faire vivre, ils peuvent déjà acheter le magazine, et donc déjà on vit déjà de ça en fait. Ouais. Et ça c'est une sorte de surcouche gratos qu'on donne aux gens parce que ça s'auto-alimente et ça crée un écosystème.
Tu rejoins un peu Pastostic dessus, c'est que l'aspect financier est bien, mais c'est pas l'essentiel.
Mais c'est-à-dire que ce truc gratuit permet aussi de faire vivre un truc payant qui est le magazine, qui permet de voilà. Et je voulais juste conclure en tout cas en ce qui me concerne, parce que vous parliez tout à l'heure Pastostic de vous gagnez plus d'argent, moins d'argent, de ça on s'en fout. Parce que moi, il y a un truc qui m'est... On était, je pense, le premier sur le créneau jeux vidéo. Et je me suis dit, quand j'ai vu arriver d'autres gens, je me suis dit, merde, en fait, ils vont nous voler de l'argent dont on n'a pas vraiment besoin, d'ailleurs. Mais bon, c'est une question de fierté.
Ah, c'est bon, quoi.
Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc capital. C'est qu'en fait, il y a un écosystème du Patreon où en fait tous les contenus se renvoient vachement à la balle, et nous on n'a jamais eu autant de gens qui ont donné que depuis qu'il y a d'autres podcasts qui existent en fait. Et donc plutôt que de...
Tu veux dire qu'on fait de la merde en fait, c'est ça que t'es en train de
dire? Non, parce que je pense que
donner à ZQSD, les autres c'est de la merde.
Non, il y a un cercle vertueux, qui se crée.
Il y a un cercle vertueux. Plus il y a d'offres en fait, plus il y a de gens qui sont attirés vers le truc. C'est pas délirant ce que je dis, mais
je vous conclure. D'une part, je pense que le fait que plus les podcasts vont se mettre à demander un Patreon par exemple pour financer leur contenu, et plus ça va se normaliser dans la tête des gens. Ça veut dire quand même donner un podcast alors que c'est gratuit depuis tout ce temps. Bah non, vous voyez, il y a ZQSD qui le fait, parce que aussi qui se fait, d'autres qui le font. Et ben voilà, c'est normal. À l'heure actuelle, en 2015, le modèle du net économique se transforme et on... Ça y est, on paye pour notre contenu, c'est génial.
Et c'est un tel effort de faire un podcast aujourd'hui, on se rendait pas compte. Il y a plein de gens qui écoutent des podcasts et c'est génial. Mais par rapport à du YouTube ou par rapport à un site internet tout simplement, c'est tellement dérisoire que de toute façon, ça restera un médium un petit peu faible, secondaire, petit peu élitiste. Et c'est très
bien. En cinq mots. Aux États-Unis, les podcasts technologiques.
Allez, c'est bon là.
En sponsor et en Patreon, gagnent des millions.
Il parle anglais, bonjour, au revoir, bisous.
Il parle anglais, c'est pour
ça. Oui, alors, là.
Et après.
Laissez-le rêver, c'est les fêtes, laissez rêver le petit Fibre, il s'endort avec une petite chaussette.
Non, il s'est endormi.
Non. Aux États-Unis, je me suis juste intéressé un petit peu aux podcasts de comédie, et j'imagine que c'est la même chose là-bas. On en a entendu parler pour Serial aussi avec les pubs. C'était quoi, Mailchimp?
Serial qui a pas pu venir ce soir, malheureusement.
Il y a toute une culture de la pub, mais j'ai l'impression que c'est une pub presque hypocritement assumée. C'est vraiment des pubs où l'animateur s'implique pour faire la promotion d'un produit. Ouais. Mais finalement, je trouve ça presque moins dégueulasse parce que ça m'évoque moi une de mes passions, par exemple Jerry Lewis et Dean Martin dans leurs premières émissions dans les années 50, ils prenaient le micro pour parler de Colgate par exemple, ou parler d'une lessive. Tu voyais qu'ils en avaient rien à battre, que c'était les 2 minutes obligatoires. Il y a toute une économie autour de ça qui est incroyable, quoi. Et des types qui ont vraiment qui se mettent à lire des pubs, quoi.
Très bien. Mais c'est vrai que ce que fait Serial, c'est du sponsoring ouvert. Et on l'a pas encore vu sur les podcasts français. En tout cas, on espère qu'on le verra.
Ah si, moi j'ai un sponsor. J'ai l'auberge de la Patchole, un établissement libertin.
Mais non, c'est Fiverr.
Un jour, le resto nous a livré des pizzas. Un jour, une fois.
C'est vrai.
Mais ça, c'est pas vraiment du sponsoring. C'est un petit acte marketing.
En 120 émissions, ça va. Tu vois, franchement, ça n'aura pas coûté. Hein.
Bon, bah en tout cas, nous on retiendra bien ce que vous avez fait, et on
réfléchira bien fort avec le studio 404 sur notre campagne Patreon. Enfin, on bâillonnera Fibre d'abord, et puis ensuite on réfléchira sur la campagne Patreon. Merci beaucoup, messieurs.
Au revoir.
Ciao.
Allez, on attaque le mois de juin.
Juin, la fin d'un projet. C'est douloureux, mais ce n'est pas la fin.
Allez, vous êtes toujours chez vos parents, au chaud, dans le salon, en train de glander, en essayant de réparer l'ordinateur de votre père. Et en secret, vous écoutez Studio 404, spécial fin d'année, accompagné de nos amis, nos camarades podcast français. Et on va attaquer un sujet qui est intéressant, parce que du coup, il dénote un petit peu avec les autres. Ce sont les fins de projet, les fins d'émission, enfin les podcasts qui s'arrêtent, parce que ça ne marche pas, parce qu'on ne peut plus, parce qu'il y a des embrouilles. C'est un sujet qui... personnellement m'intéresse beaucoup, et pour nous en parler ce sera Caroline de La Flasque et La Fume, qui en avait déjà parlé un tout petit peu en début d'émission mais qui va pouvoir ici développer, et elle sera accompagnée de Romain du Romcast et de Henri Michel de Rivière à Détente. Et je vois que Daz s'est déjà placé pour juger tout le monde de manière très très dure. Alors Caroline, tu avais un podcast qui donnait vachement envie quand tu nous en as parlé, La Flasque et La Fume, qui était une parodie dans le nom du Masque et de la Plume, sauf que ça fumait et ça buvait beaucoup.
Ouais, exactement.
C'est génial comme concept. Comment ça se fait que ça se soit arrêté?
D'abord, ce que je voudrais préciser, c'est que moi, j'ai des notes. Et que je sais pas si c'est parce que j'ai une grosse culture radio ou si c'est parce que vous êtes tous des immenses branleurs.
Ouais.
Mais,
Honnêtement, je pense que c'est des gros branleurs. Et qu'il y a que Fibre qui te dit, ah, moi, je suis comme toi.
Mais du coup, je vais essayer de jouer le jeu un peu, d'improviser un peu.
Non, mais vas-y. Non, mais si tu veux lire ta chronique, attends.
Non, je.
D'accord.
Ça va aller. Donc, en fait, c'était. Bon, ben voilà, c'est fini, c'est un peu triste tout ça.
Ouais. Voilà, ben c'est cool, on va rester au mois d'août.
Bon, ben voilà, merci, c'est bon. Le truc cool, c'est qu'on n'a pas laissé mourir le truc, on n'est pas sorti comme ça sur la pointe des pieds, on a arrêté de faire l'émission en loose day, et puis voilà, de manière un peu nulle. Donc on a fait une bonne dernière en direct.
C'était au mois de juin.
Au mois de juin, exactement. Comme une dernière finalement d'émission, quoi, parce que tout le monde part après en été. Donc c'était une dernière qu'on a fait.
Mais pourquoi une dernière? Pourquoi l'émission s'est arrêtée, ouais, tout simplement, en fait?
En fait, elle s'est arrêtée pour pas mal de raisons. D'abord parce que c'est un peu le sujet qu'on avait avant. C'est qu'on très vite en fait s'est posé la question de est-ce qu'on va gagner du fric un peu avec,
ouais,
et surtout est-ce qu'on va être écouté, parce que sans gagner de fric il y a un peu la question de la rétribution symbolique, c'est d'avoir de l'auditeur, parce qu'en, ouais, fin de compte, quand on, bon, je sais pas, il y a des puristes qui font des trucs comme ça, moi, de manière gratuite, qui créent,
il y a Henri Michel en face de toi là qui fait rivière à détente.
Mais bon, j'ai quand même dans l'idée que si on met un truc sur les ondes ou sur internet, c'est que voilà,
toi, tu attendais un retour quand même.
Ouais, voilà, il y a quand même un truc, on a envie que ce soit écouté d'une, d'accord, certaine manière, quoi.
Qui est un retour ou commercial, ou un retour critique en tout cas.
Voilà, exactement.
Et du coup, comment ça se fait que ça n'est pas. Il n'y a eu ni retour commercial, ni retour critique finalement? Pourquoi ça n'a pas marché? Pour dire les choses franchement, je veux pas te faire pleurer, Caro.
Non, mais.
Dis tout de suite, hein.
Non, mais parce que
si je vois que ta lèvre fait un tremble, je te le dis tout de suite.
Parce que je serais tentée de dire, oui, c'est parce qu'on n'avait pas de réseau, ouais, ou des choses comme ça. Voilà, peut-être que c'est un truc de geek et qu'on l'était pas du tout.
Mm-hmm.
Mais peut-être aussi que c'est parce que c'était un pastiche et que, voilà, que peut-être le sujet n'était pas assez original, je sais pas.
D'accord.
Peut-être que ça existait déjà, je sais.
Ah, des gens qui fument et qui boivent dans un podcast.
Ça faisait peut-être un peu.
C'est plutôt original.
Ouais, je sais pas. Ça faisait peut-être un peu émission punk ou. Je sais pas, quoi.
Donc aujourd'hui, tu sais pas vraiment pourquoi ça n'a pas marché, en fait.
Moi, je dirais que c'est pas. On n'a peut-être pas laissé le temps aussi, quoi.
Ouais.
Peut-être qu'à un moment donné, c'était compliqué parce que justement, tout le monde ne pouvait pas se. C'est des trucs amateurs, donc c'était de la critique amateur de cinéma, donc. Les gens allaient payer de leur poche, quoi.
Ouais.
Donc c'était le truc qui était cool parce qu'on était libre par rapport à ça. Et quand on voulait dire que c'était de la grosse merde, on disait que c'était de la grosse merde.
Bien sûr.
Et chacun le disait de manière très très libre, à sa façon, avec sa sensibilité. Mais à la fois, j'ai dû tourner avec énormément de gens parce qu'on était une dizaine de chroniqueurs à la fin. Donc c'est gérer beaucoup de personnalités, beaucoup de sensibilité, beaucoup
d'ego.
Ouais, ouais. D'ego, ouais. Et puis bon, les agendas de tout le monde, tout ça, c'était. Voilà, à la fin, c'était un peu compliqué. Même moi, ça me prenait beaucoup de temps. Donc, je me suis dit.
On va dire qu'il y a trois choses. Il y a l'argent, il y a le retour commercial, mais il y a aussi le plaisir personnel. Et du coup, même le plaisir personnel, t'en prenais plus, en fait.
Moi, c'était un peu.
C'était un peu dur.
Ça me donne envie, ouais, de chialer, là. C'est très triste, ce mois de. Je ne sais pas en quel mois on est, mais c'est super.
C'est le mois de juin.
C'est le mois de juin. C'est le mois de la tristesse, quoi.
Où étiez-vous au mois de juin 2015 lorsque la flasque qui la fume s'est arrêtée?
On faisait l'émission sexe dans 404.
Non, sans voyant en l'air, du coup. Mais non, mais du coup, c'est quand même intéressant parce que Caroline et son projet représentent aussi quand même beaucoup de podcasts ou même beaucoup de projets en général personnels.
Beaucoup de groupes de rap aussi. Hein,
oui, aussi beaucoup de groupes de rap. Mais en tout cas, des projets qui ne fonctionnent pas, qui ne se retrouvent pas finalement, qui n'ont pas ni d'épanouissement, comme tu dis, financier, ni public, ni personnel à la fin. Est-ce que toi, Henri, qui a lancé quand même beaucoup de projets, beaucoup de types de contenus qui se sont arrêtés et qui ont continué, tu as connu un peu les affres que Caroline a décrit?
Oui, c'est maladif. C'est, faut pas croire que justement je m'en fous de pas avoir de retour. Au contraire, je suis. Enfin, mes amis doivent. Les gens qui me connaissent se marrer là-dessus. Je suis mort de dépression si on m'adore pas, quoi. Et on m'adore souvent pas. On m'adore jamais assez.
Je suis souvent mort.
Et bon, je t'en parlerai peut-être plus tard, mais dans l'émission. Mais oui, c'est maladif. Et j'ai abandonné 1000 fois pour retrouver quelque chose après. Mais je pense qu'on est tous comme ça. Et j'admire certains amis ou certains collègues, notamment des humoristes entre guillemets, comme Sacha Béart par exemple, que j'aime beaucoup, qui fait des sketchs que je trouve géniaux parfois sur SoundCloud et qui ont des audiences qui me rendent fou aussi. Et mais justement, on en parlait tout à l'heure, je veux pas spoiler mon truc, mais il y a des moyens peut-être de d'apprendre à en être heureux, quoi, en fait, de son audience qui te suit tout le temps, en fait.
Romain, est-ce que tu as le Romcast, c'est ton premier projet ou t'as eu déjà d'autres projets, parce que tu dis que t'étais dans le rap, tu faisais d'autres choses, est-ce que tu as eu aussi des projets comme ça qui se sont arrêtés, qui ont échoué?
C'était mon premier projet radio qui maintenant est en suspens, mais en fait moi j'ai eu la chance.
Donc toi aussi il est en suspens du coup.
Ouais, il est en suspens. Donc,
d'accord.
J'attends janvier pour le relancer. Moi j'ai eu la chance de pouvoir vendre mon métier de podcasteur à des boîtes et à des assos, en fait.
D'accord.
Donc du coup depuis août là j'ai réussi à transformer financièrement mon travail de podcasteur. Donc ça c'est de la bombe.
Enfin, et sur les deux autres points dont on parlait avec Caroline et Henri Michel sur le succès populaire aussi, sur l'audience que tu peux faire et la reconnaissance, et sur l'épanouissement personnel, tu t'y es retrouvé ou pas?
Alors moi, sur l'épanouissement personnel, ça manque depuis 6 mois de ne plus le faire très fort.
Ouais.
Sur ce qui est audience, j'aurais aimé que ça soit un peu plus gros, mais j'ai pas vraiment travaillé pour ça. C'était plus un truc un peu de l'ordre de la catharsis, podcast. Enfin, j'étais très heureux de pouvoir me dire, tiens, je crée mon petit truc chaque semaine et je kiffe. L'idée, c'est qu'en janvier, on essaie de le faire grossir et qu'il y ait des niveaux d'audience un peu supérieurs. Mais pour le moment, c'est pas le cas.
Est-ce que Sylvain Palais sera Daz dans l'aventure pour le
probablement en growth hacking, ouais, je pense.
Ok, bien sûr. Évidemment.
On va se faire piquer nos chroniqueurs. Caroline, pour revenir à ton expérience, du coup, ça s'est arrêté en juin. Est-ce que depuis juin, tu as relancé quelque chose ou ça t'a donné envie de relancer quelque chose en disant, j'ai appris? Et finalement, on en parlait tout à l'heure un peu à l'américaine, les échecs ne sont que des bonnes leçons pour rebondir. Ou est-ce que du coup, ça t'a un peu vacciné par rapport à ce genre de choses en disant, en fait, ce qui est un délire entre potes, finalement, demande de la logistique, du travail, peu de reconnaissance, etc. Dans quel état d'esprit t'es aujourd'hui?
Non, parce que Daz, il se fout de ma gueule, mais
il se fout du tout.
Il en profite parce qu'il m'impressionne physiquement.
ça arrive.
Mais si Daz, il te fout de ta gueule, c'est que c'est
non, ça. Non, mais c'est vrai que en fin de compte, c'est fini de manière assez. Enfin, le truc est assez positif. Je pense que à la fin, la dernière émission qu'on a faite, je me suis un peu rendu compte de ce que j'aimais vraiment dans le truc.
D'accord.
Donc après, j'ai appris un peu aussi ce que c'était que les limites de la critique ciné amateur. Voilà, ça aussi c'est.
C'est vrai. Ouais.
C'est oui, parce que c'est coûteux, parce que c'est voilà, c'est une liberté, mais en même temps c'est assez compliqué à mettre en place. Et c'est toujours cette question du financement. Donc voilà, mais après, moi, du coup, ça m'a donné envie de faire d'autres choses. Donc, j'ai
pourquoi un échec projets. Pourquoi qualifier le truc d'échec, en fait? C'est pas. Le truc s'arrête. Je veux dire, t'as parcouru le chemin, tu vois, t'as tenu la distance.
C'est moche.
Si vous connaissez ça, vous êtes vraiment cheesy.
En même temps, tu l'as fait, quoi.
Mais non, mais pourquoi considérer que parce que ça s'arrête, c'est un échec, tu vois,
parce que faut quand Caroline nous en a parlé, ça s'est arrêté pour des raisons qui étaient, c'est pas parce qu'ils avaient été au bout, c'est Caroline me disait effectivement, ça devient compliqué à gérer tous les égos, on fait pas assez d'audience, on n'a pas de reconnaissance. L'arrêt, je pense, pour moi, enfin, en tout cas, je l'ai pris comme un échec de projet, mais c'est pas un mot sale, Daz.
Après, c'est comme, il y a des associations comme ça qui n'ont plus lieu d'exister, puis ouais, qui s'accrochent et qui s'emmerdent à gérer leur fonctionnement interne. Moi, je n'avais pas envie d'être dans ce truc-là. Je veux juste avancer sur une autre création, quoi.
Et du coup, justement, Michel en parlait tout à l'heure, il crée régulièrement
des nouveaux contenus ou des nouvelles formules ou des nouvelles émissions, que ça marche ou que ça marche pas. Est-ce que tu te vois finalement itérer ou explorer régulièrement comme ça des choses et que ça s'arrête ou que ça s'arrête pas? Ou est-ce que ton prochain projet doit être quelque chose de vraiment très important, plus gros, plus durable, enfin quelque chose qui compte plus?
Non, je compte faire que des merdes.
Mais c'est une bonne éditoriale.
La marque de fabrique à la fin.
Ouais, franchement,
formidable mois de juin, formidable mois de juin.
Top du positivisme, quoi. C'est genre, on est bien.
Henri, est-ce que t'as des conseils à donner, toi le céréal
mal ou un truc?
Non, toi le céréal lanceur de.
Au contraire, c'est super déprimant. Ce que j'ai à dire, c'est que je suis aussi sévère avec les autres qu'avec moi. J'ai toujours pensé qu'un bon joueur de foot ne reste jamais en deuxième ligue. Et qu'à un moment donné, si t'es pas populaire, c'est que tu le mérites pas. Et je l'applique à moi, hein.
Ouais. Là, tu te considères quoi comme joueur de foot, du coup?
À moi, c'est, je sais pas, pépinière d'Arras.
Sosie de Cristiano Ronaldo, c'est ça? Bon, écoute. Bon, du coup, tu relances ton prochain projet? Tu nous en parles un petit peu ou c'est encore flou dans ta tête, Caroline?
C'est encore un peu flou, mais après, j'interviendrai sur le...
Ouais, un autre sujet.
Le marché parlé
de Bruno, ouais. Tout à l'heure.
Et c'est un truc un peu qui m'inspire, mais plutôt dans l'idée de faire du podcast quelque chose de différent de la radio. Parce que d'accord. Moi, on est arrivé avec une envie de faire une émission. C'était comme on peut pas le faire à la radio, donc on va le faire là. Ouais. Et je pense que.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est intéressant parce que c'est aussi une motivation de beaucoup de gens qui ouais. Se disent souvent c'est un peu nul à la radio, on peut faire aussi bien finalement.
Voilà, on peut le faire. Et en fait, je me dis que c'est peut-être une connerie.
Bah, c'est marrant parce qu'il nous est arrivé un peu la même chose.
C'est carrément ça. En fait, ouais, j'allais le dire, ouais, on est des frustrés de la radio en fait à la base.
Ah, moi je pensais plus même aux 404 temps. Et vous qu'on avait fait à Dailymotion qui ressemblait à la fin de la télé en moins
ouais.
Bien.
Ouais, mais enfin, non, mais si tu. Non, mais
il y a ça aussi.
Ouais. Mais si tu retournes aux origines de Studio 404.
Oui.
Initialement, le projet, c'était de le proposer en radio.
Oui, tout à fait.
Donc, c'est bien aussi qu'il y a ce côté un peu acte manqué ou tu vois.
Partie de bottom. Ouais, look where we are now.
Ouais, voilà. On est toujours dans le bottom, mais bon, voilà. mais on s'y plaît, hein, on est bien dans les bas-fonds, c'est cool.
On est au chaud. En tout cas, Caroline, on espère que tu nous tiendras au courant du prochain projet. Ouais. Est-ce que les numéros de la flasque et de la fume sont encore disponibles?
Ouais, je continue à payer tous les mois à mon compte.
Donc tu t'es vraiment...
je suis vraiment investi.
Ouais, c'est beau. En tout cas, on espère que vous essayerez, chers auditeurs, d'écouter cette émission et que vous aurez le nez et la gorge prise dans des odeurs d'alcool et de cigarettes. On peut applaudir Caroline et Romain et Henri et Daz et Mélissa qui étaient là. Et on attaque le mois de juillet.
Juillet, ivre, il twitch chez lui. Sa réaction va vous étonner.
Et nous voici au cœur du mois de juillet, et pour tomber dans un bon gros stéréotype, on va partir dans le sud de la France, on est des juilletistes, et on va rejoindre Henri Michel de Rivière à Détente. T'es content Henri Michel, on te fait des cigales. Est-ce que quelqu'un peut faire un raciste cramoisi s'il vous plaît en même temps, hein, qui habite à Toulon, qui habite
Putain Kong, Henri Michel.
J'adore, c'est parfait, restez comme vous êtes.
Bonjour de Paris. Non allez, plus sérieusement, on te rejoint Henri Michel pour parler d'une petite expérience que tu as eue, mais qui est tout à fait rigolote, qui fait partie de ton exploration de tous les moyens d'expression possibles sur Internet. En juillet, ivre, virgule, il s'essaye à Twitch, c'est ça?
Ouais. Et en fait, je vais essayer de la faire rapide. Oui, j'étais au Punch, et j'ai fait un Twitch qui était assez médiocre au final. Je pense qu'il y avait... c'était pas très très intéressant comme Twitch, mais par contre, j'ai eu une sorte de révélation. Et Rivière à Détente, c'est un peu le fruit de cette révélation. C'est des gens qui rigolent en face de moi, c'est insupportable.
Tout le monde t'aime.
La révélation, c'est que ce que tu as dit, j'ai toujours eu 4000 personnes qui me suivaient.
Ouais.
J'ai fait des blogs, 4000 lecteurs. J'ai fait des vidéos, 4000 lecteurs. Même des vidéos pour des événements un peu plus gros, tu vois, où j'avais de l'espoir, 4000 spectateurs. Et ce jour-là, j'ai fait ce Twitch ivre-mort, et il y avait 120 personnes en direct, et je te jure, c'était 100 fois plus précieux que,
ah oui,
que 4000 personnes. Ouais, c'était dingue, parce que c'était un direct, je sais pas pourquoi, parce qu'il y avait pas de préparation, surtout, tu fais rien, t'es bourré, t'as 120 personnes.
Bah, il y a la préparation,
c'était beaucoup
du coup,
plus précieuse que 4000 personnes. Et ces 4000, ce qui est drôle, c'est que j'ai décidé de faire une petite émission de jeux vidéo, un peu pour les seniors. C'était le player lambda. Et ce qui m'a tué, c'est que j'ai fait 4000 personnes. Et que c'était non seulement que c'était pas 4000 gamers, c'était les 4000 mêmes qui m'ont suivi et qui ont dit, ah, c'est cool les jeux vidéo, en fait, j'ai acheté une Xbox One pour te suivre et tout.
Ah oui,
et donc j'ai compris.
Pourquoi t'as pas lancé un Patreon, 4000 Patreons, mec, t'as gagné.
J'ai compris un truc, c'est qu'en fait il y a un diagramme en fait entre le plaisir que tu prends et ta tolérance d'audience que tu peux avoir. En fait, tu peux être heureux avec une toute petite audience si tu es complètement sans la moindre contrainte. En fait.
D'accord.
Et j'ai fait des choses très produites avant pour le Festival de Cannes et tout. Et j'étais très malheureux d'avoir 4000 personnes. Mais maintenant, j'ai pris mon meilleur pote avec qui on a commencé des podcasts. En fait, depuis en 2000, on a commencé les podcasts. C'était Henri L'Audio.
Henri L'Audio.
Quel nom de podcast ? C'était une émission qui s'appelait la Web Radio des Cools. Et on avait, on avait 1500 personnes à l'époque. C'est 1500 personnes, c'était énorme. Ouais. Et on avait arrêté, on s'est plus parlé pendant 10 ans, etc. Bref, il y a plein de raisons qui font que j'ai appelé Spot et on a fait cette émission et je fais quelque chose qui me plaît à 1000%, peut-être le truc le plus intime que j'ai fait et je suis heureux avec ces 4000 personnes.
Très bien, c'est marrant cette expérience sur Twitch. Alors évidemment par le podcast, Twitch c'est du stream d'une certaine manière, c'est pareil, on produit du contenu.
Parce qu'en fait j'ai un gros projet et Rivière à détente c'est une étape et le Twitch j'ai eu mind blown sur cette histoire de direct et disons que Rivière à détente c'est la première étape d'un gros truc que je vais mettre en place qui est lié avec le direct.
Voilà, oh là là, le gros teasing. En face à toi, je sais pas si tu les vois, ils sont un peu dans le noir,
je
mais
les
ils
vois
sont
tous
ici là. Il y a nos amis de Lagapar et de Passe le Stick qui font aussi qui connaissent bien Twitch chacun à leur manière en tant que consommateur ou que producteur, ils vont nous dire s'ils sont déjà essayé à Twitch. Et ce qui est intéressant effectivement, c'est le Twitch en tant que média et deux effectivement comme tu dis le fait de produire en direct voire en vidéo. Je crois que nos confrères de ZQSD aussi font leur podcast enregistré en direct et en vidéo. Et est-ce que vous êtes d'accord chers camarades sur le fait que il y a un rapport très fort à l'audience qu'on a à ce moment-là et que même si on a que 120 au lieu des 4000 dans les Michel, je crois que c'est une série télé les 4000 non ou les 4400. Mais bon.
4400,
ouais. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que les 120, ça peut valoir les 4000 lorsqu'ils sont en direct? Oui.
Alors oui, je dirais juste l'interaction qu'il y a en direct, parce que entre guillemets, que la personne écoute en différé, il y a deux jours, il y a trois jours, il n'y a pas ce même rapport. Là, c'est tu parles et la personne répond derrière.
Ouais.
Soit par Twitch avec le chat, ou même nous avec Radio Kawa avant feu Radio Zero avec Dradis, qui est un outil très intéressant fait par Stan, où en fait, carrément, on pouvait diffuser une web TV avant Twitch. Ce qui est intéressant, c'est que via Twitter, on pouvait avoir les interactions en direct et juste avoir les réactions en direct. C'est du genre, tiens, on a dit une bêtise. Tiens, les gens réagissent à notre blague. Tiens, on va surenchérir derrière. Le rapport qu'on a par rapport à juste, on envoie un écho et ça réagit deux jours plus tard. Et là, paf, dans cinq minutes, j'aimerais réagir là-dessus. J'aimerais apporter une précision, une blague là-dessus. Ça rajoute vraiment, on a l'impression de vivre le truc, pas juste donner un signal, mais vraiment de le recevoir aussi en retour, quoi.
Ouais.
Et puis j'ai eu l'impression que c'est le seul vrai format web. Tout à l'heure, tu as parlé de les bonnes émissions, les bons podcasts que je connais quand ils sont bien produits, c'est de bonnes émissions de radio et c'est triste. Ouais. Et les bons trucs sur YouTube, ça devient des chroniques télé, c'est super triste. Et Twitch et cette interaction et ce côté multiflux que tu peux avoir, ça c'est un vrai format web. Là vraiment, on se casse des standards du bien fait ou du mal fait, et ça m'excite vraiment, quoi.
Ouais, donc là on est vraiment dans une sorte de contenu brut de décoffrage qui est pas du tout qui est pas travaillé.
Pas seulement brut, mais tu n'as aucune contrainte de durée, de contenu. Tu peux mettre de la musique, tu peux mettre de la vidéo, tu peux mettre des jeux vidéo, tu peux tout faire en même temps. Et c'est là tu casses tous les formats existants. On est très formaté encore, je trouve.
Bon, il y en a deux à ta gauche virtuelle qui se battent pour prendre la parole. Au hasard,
oui,
je crois que ce sont les mecs.
Moi je voulais dire que oui, pour l'audio, en fait, Twitch est pas forcément adapté, parce que nous, pour Passe le Stick, en tout cas, on peut en parler, c'est que depuis depuis qu'il y a Twitch, c'est plus compliqué pour nous.
C'est du dépannage en vrai.
Voilà, c'est pour nous c'est une solution de dépannage et on avait plus d'engagement sur Twitter. Si on en parlait marketing, voilà, tout ça, il y avait plus d'engagement sur Twitter et plus de réactions quand on était sur du flux juste audio parce que pour une personne qui a un PC, c'est moins lourd, ça passe beaucoup plus facilement que Twitch qui reste quand même un format assez lourd pour un PC ou un netbook ou un iPad, enfin une tablette. Et Twitch pour nous est du dépannage et honnêtement le chat réagit pas pour nous sur Passe le Stick.
Notre chat c'est le hashtag
pour
en fait.
Pour nous c'est le hashtag, bien. Tu vois, on sert pas du tout du chat et les gens l'ont compris. Mais on le voit bien sur du direct, les gens sont moins là depuis qu'on est sur Twitch que avant quand on était que sur du flux audio.
Ça dépend des invités, mais oui, je pense qu'il y a moins ce côté direct en fait avec Twitch. C'est vrai qu'on a une attente différente, on a une attente de vidéo, une attente qui n'est pas la même qu'avec un streamer comme GE2 qui veut prendre la parole depuis tout à l'heure.
Depuis tout à l'heure, les mecs de
parce qu'en fait,
de
ouais,
parce que si qui lâche pas le micro.
Oui, alors déjà de un, mais c'est juste de réagir par rapport à ce que disait Henri Michel par rapport à ce côté formaté. C'est vrai que maintenant sur YouTube. C'est formaté. Maintenant, le format YouTube est formaté avec le début, l'intro, le contenu et la fin. Et Twitch, il y a encore ce petit côté recherche à la mine d'or. C'est du genre, c'est pas encore formaté. Il commence à y avoir quelques formules qui en ressortent. On rigolait avec les camgirls, mais il y a ce côté avec tout ce qui est follow, sub, qui marche très bien sur Twitch. Mais c'est encore un format qui est assez jeune, qui a encore beaucoup de promesses, qu'on n'est pas encore formaté. On peut faire, tiens, je vais faire des vidéos comme ça,
des emotes,
je vais faire un truc de la musique, je peux faire quoi, enfin tout.
Mais ça peut être formaté, c'est pas le problème d'être formaté, mais c'est que c'est un format qui s'affranchit des codes de la télévision.
Bah, disons que t'as le côté interactif qui était différent du format télé. Disons que Internet, c'est ce côté interaction avec le chat que tu as directement, où tu peux faire des modules directement avec le chat. Alors que si tu poses juste un fichier, les gens peuvent interagir, mais c'est pas en direct, ils ne participent pas. On va dire la création en direct du contenu, quoi.
C'est une culture encore différente, Twitch, et c'est un public qui est plus jeune, qui demande vraiment de l'entertainment sur de longues périodes. On en parlait avec avant l'émission. C'est vraiment des gens qui sont prêts à rester pour regarder quelqu'un pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il y a basiquement que des jeunes qui ont une vie adaptée pour rester pendant des heures devant.
Il y a les chômeurs aussi qui sont moins jeunes.
Quand bien même tu es chômeur, tu dois aller faire les courses, tu dois aller chercher tes moments à l'école. Tu vas pas rester aussi longtemps que peut le faire un jeune. Et ça joue, je pense.
Je crois que tu surestimes beaucoup
de
chômeurs.
Sur Twitch en tout cas.
Nico de Lagapar, ouais.
Sur Twitch, tu peux aussi faire. Enfin, moi, c'est un truc que je fais beaucoup quand je vais sur Twitch. La merde dont je consomme, je fais beaucoup de zapping entre guillemets. Alors que je passe beaucoup d'une chaîne à une autre, voir s'il y a un truc qui m'accroche, je vais rester. Mais la plupart du temps, quand je vais sur Twitch et que je sais pas quoi regarder, je clique à droite, je clique à gauche, je peux y passer un quart d'heure à ma TV chaîne à la suite et y a rien qui me branche, je vais ailleurs, quoi. Mais c'est comme la télé, en fait.
Ouais, comme la télé,
ouais. Chloé, vous qui avez donc du coup un podcast audio enregistré en différé, qui est maîtrisé sur la durée, qu'est-ce que tu penses d'Henri Michel qui veut tout péter, qui veut fuck the society là.
Mais je trouve ça trop bien.
Ah, trop bien. Toi, ouais. Donc t'es punk aussi du coup. Alors que vous avez quand même une émission qui est assez maîtrisée.
Mais c'est pas parce qu'on a choisi quelque chose par rapport à ce qu'on voulait véhiculer que le reste est mauvais.
D'accord.
Dans notre cas, c'est vraiment la diversité des offres qui compte. C'est juste que dans le jeu vidéo, c'était surtout des longs trucs qui parlaient beaucoup d'actu. On voulait se démarquer là-dessus. Mais non, je trouve ça très bien justement d'utiliser le vrai média du web et de pas en faire un ersatz de télévision supplémentaire, quoi. Je trouve ça vraiment cool.
Mais pour enlever ce côté égocentrique, ce n'est pas de la prétention, c'est de la résignation aussi.
Pourquoi la résignation,
c'est que
en fait
moi, par rapport à ce que je veux proposer, j'ai pas d'autre choix que de passer par ces médias-là et de m'affranchir vraiment de ces codes-là. Donc c'est de la résignation parce que, à un moment donné, j'ai fait des trucs qui ont pas marché par des canaux normaux. On a fait le festival sur Arte, etc. Et on s'est fait virer suite à un canular. Et voilà, donc maintenant, je peux plus passer par la fenêtre. Donc c'est directement au char d'assaut ou pas. Et je serai heureux dans les deux cas. C'est ça qui change au niveau de ma formule maintenant.
Mais pour rebondir dessus, Henri, pourquoi du coup Twitch a été une expérience aussi forte et qui apparemment, j'ai l'impression que ça a été le plus gros potentiel que tu as pu voir ou entrevoir en tout cas, pour finalement revenir à un podcast audio.
Parce que c'est une première étape pour moi. Le podcast, c'est renouer déjà avec un plaisir d'improvisation, parce que 80% de ce podcast par rapport à enfin Player Lambda aussi c'est de l'impro, mais je dépends vraiment d'un contenu propriétaire en fait, le jeu vidéo. Là c'est de l'impro vraiment
oui,
pour ceux qui de l'avion quoi.
Pour ceux qui n'ont pas qui n'ont jamais écouté Rivière à détente, j'arrive pas à essayer de pitcher Rivière à détente.
Rivière à détente est très compliqué.
Je m'inspire beaucoup de ces programmes un peu joyeux, des radios locales que j'ai connues dans mon enfance. J'ai pas de culture radio en fait.
Ouais.
J'ai connu Lovin' Fun, Max, et après les radios locales très ensoleillées, ouais, où les animateurs sont toujours très optimistes, quoi qu'il arrive, sont toujours parlent de soleil, de naturisme, qui sont super positifs tout le temps. Et voilà, je travaille sur cette contrainte un peu là, et je me fais plaisir avec un comparse avec qui on fonctionne bien en impro, quoi.
Oui.
Alors, oui, enfin, moi je voulais revenir sur Twitch justement, et le côté en fait c'est de plus en plus grand public. C'est-à-dire que je sais que Rue89 avait fait un live sur Twitch pour le jour le plus chiant de l'année, je sais plus c'est quand ça tombe, et ils avaient passé la journée à jouer à Farming Simulator.
Je me rappelle, oui.
Et le fait qu'un média comme Rue89 qui appartient au Nouvel Ops, qui est quand même quelque chose qui est un peu, qui est clairement mainstream, se mette à ça et qui est installé comme tu dis, ça prouve que il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus et qu'il y a quelque chose dans ce médium-là qu'il n'y a pas sur les autres en fait. Et que.
L'Ops.
Pardon. Oui, Nova, Lops, tout ça, c'est bon. Mais voilà, et en tout cas, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Et les gens qui sont là-dessus, que ce soit Webedia avec Gaming Live ou Millennium, enfin plein de choses, ou Henri Michel tout seul qui tente des choses, c'est les pionniers du futur de ce qui se fera sur le web plus tard, quoi.
Ce serait tellement marrant que Webedia rachète Henri Michel.
Mais je peux le dire d'avance.
C'est pas l'argent. Il va dire banco là-dessus. Il n'est pas à vendre.
Non, mais par contre, j'avais une question pour Henri Michel, vu que finalement, moi, je t'ai découvert beaucoup avec YouTube, en l'occurrence, tes vidéos de Let's Play sur Assassin's Creed, sur Destiny, qui étaient absolument hilarantes. Il y avait quand même un aspect comique là-dedans. Quelle est la différence d'approche entre une vidéo YouTube dans laquelle tu vas sélectionner les bonnes pages entre guillemets, et le Twitch où finalement bah il y a des moments où même je t'ai entendu t'excuser dans Until Dawn par exemple, tu dis pardon, je suis en train de faire l'idiot, ça prend du temps, et compagnie.
Le Twitch, c'est il faut maîtriser, mais les spectateurs sont autant habitués que les producteurs, il y a un rapport à l'ennui quand même que moi je connaissais pas. En tant que producteur, quand tu fais une vidéo YouTube, t'as pas le droit à l'ennui une seconde. Ouais. Et sur le Twitch, ça fait partie de la culture de Twitch, qui est de l'ennui, qui est du silence, qui est tout ça. Et moi, je suis très mal à l'aise par rapport à ça. Et c'est ce que j'essaie d'apprivoiser pour l'instant. C'est pour ça que je fais des Twitch vraiment plus pour tester le support que pour proposer vraiment quelque chose en ce moment.
Ouais. Bah, disons que c'est chose d'assez différente. Twitch, disons qu'il faut savoir gérer son rythme, ne pas toujours être à 200%, savoir pourquoi faire une petite baisse de régime, parler avec le chat. Ça qui est bien avec le Twitch, c'est que finalement, quand tu as une baisse de régime, finalement, tu te dis, c'est calme, c'est tiens, pourquoi parler avec le chat? Pourquoi pas rebondir sur le chat, sur ce qui s'est passé il y a, je sais pas, 2-3 minutes, genre, ah là là, c'est bien marré, alors, je sais pas, Tango Charlie 48, ah, c'est vrai que j'ai merdé là-dessus, mais c'est une chose, il faut rebondir là-dessus. Et c'est ça aussi la gestion de Twitch, c'est que finalement, sur YouTube, tu fais un best-of, sur Twitch, il faut savoir gérer avec le rythme avec les gens qui entourent, via Internet.
Très bien. Henri, du coup, tu nous as un peu teasé pour finir. La révélation avec Twitch, le premier étage de la fusée Riviera avec Riviera détente. Et du coup, dis-nous un tout petit peu ce que ça va donner dans quelques mois, tout ça.
J'ai la vraie nostalgie de ces émissions joyeuses qui existaient dans les années 80, qui existent plus maintenant, et Colaro, tu vois, Coco Boy, des émissions comme ça, avec un postulat qui était pas plus compliqué que de faire rire, tu vois, poète comme ça. Bon, maintenant c'est un peu Raston si tu regardes les sketchs de l'époque.
Un tout petit peu.
C'est un peu macho, Raston, tout ce que tu veux. Mais même le centre de visionnage d'Edouard Baird, ces moments où tu sais que quand ça commence,
ça, c'est un bijou,
tu vas
ça.
Juste rire, quoi, tu vois. Et j'adore le format direct de Twitch. Et ce que j'aimerais, ce serait faire un programme en direct. Un peu produit avec de l'improvisation et être ton propre diffuseur, ton propre canal, avoir ton propre studio, être affranchi de tout asservissement de production et t'éclater quoi, et vraiment proposer quelque chose.
D'accord. Est-ce que dans le salon avec notre All Star des podcasts, vous seriez preneur de ce genre d'émission ou pas? Oui, non?
Oui, oui, oui.
Je vais en
oui.
parler à Webedia et on va essayer de le racheter Henri Michel à henrichimichel.com, bien sûr.
Je ne sais pas si le public de Twitch est très sensible à cet esprit canal.
Non, mais c'est pas pour les Twitch shows.
C'est pour les 4000 d'Henri Michel. C'est pour Henri Michel tout court.
Depuis que. Pour les 4000 d'Henri Michel, je sais pas. En tout cas, tu devrais faire un Patreon parce qu'il y a 4000 personnes, même s'ils donnent qu'un euro, à mon avis, t'es déjà bien.
Ouais, mais il veut pas, on va voir. En tout cas. Non. Bon, on a hâte de voir ça. En tout cas, on te remercie Henri, on peut l'applaudir.
Merci.
Live from Cannes. Et on te retrouve tout à l'heure. Allez, on attaque tout de suite le mois d'août.
Août, organisation et motivation, un vrai boulot d'amateur.
Et nous voici au mois d'août.
Déjà.
Qui est naturellement et traditionnellement la période creuse, morte, chiante de l'année. Vraiment, vraiment très très chiante. Et c'est aussi le moment où normalement quand tu bosses dans le contenu, c'est le moment où toi tu fais ta rentrée et tu commences à rapatrier tes journalistes, rapatrier tes réals et tu prépares ton numéro de septembre, ce que font la plupart des organisations sérieuses et ce que 404 n'a pas fait du tout.
Pas du tout.
Voilà, puisque nous étions totalement dispersés, totalement amateurs, pas organisés, on avait d'autres choses à faire, d'autres priorités.
Alors,
on a vu nos limites.
Je tiens quand même à dire un truc. Dans cette formidable équipe de Branlos là, qui est Studio 404, je suis celui qui a le plus d'obligations légal, n'est-ce pas? Et je suis celui qui est du coup le plus disponible, ce qui est assez incroyable par rapport à tous ces freelances de merde là qui partent faire le tour de France dans des bus échangistes.
Personnellement, nous sommes tous chefs d'entreprise sauf toi.
Chef de quoi, excuse-moi? Une entreprise, c'est-à-dire qui gagne de l'argent ou?
Ah oui, qui en gagne, oui.
Ok, d'accord. Avec des ordinateurs en mode tente ou comment ça se passe?
Bon. Arrêtez, voilà. Arrêtez, on se croit dans ce 404. Stable clash.
Fibre. Si tu vois mon postérieur, c'est parce que je l'ai pas vendu. Tu vois, il est là. Je m'assois dessus.
Là, Sylvain,
voilà.
Moi, nous sommes chefs d'entreprise, donc.
Oui, Sylvain, bah oui. Sylvain, désambigue, s'il te plaît, c'est pas possible.
Non, mais en fait, ce que qu'essaie de t'expliquer Fibre, c'est que il est pas forcément disponible tout le temps, puisqu'il est tout le temps en train de créer.
De faire le Summer of Love.
Des jeux de cartes sur WhatsApp. C'est pour ça, il est pas disponible.
Ce qu'il aura fait. Mais au-delà du barrage de vannes que vous venez de vous envoyer, je suis content que vous retrouvez, ils me font toujours un grand plaisir, chers chroniqueurs. Pourquoi on n'arrive pas à s'organiser, pourquoi on n'arrive pas à se motiver parfois quand on est une organisation non professionnelle aussi. Comme je prends des fois beaucoup de podcasts, ils sont en train de dire bon les mecs, faut qu'on avance un peu là, et puis en fait c'est un peu dur quand même des fois. Mélissa.
On essaye de faire des doodles, mais on n'y arrive jamais.
Ouais.
On part beaucoup en week-end parce qu'on est encore un peu jeune. Enfin, ça, on essaye d'y croire. Bah, attends, toi aussi, tu pars en week-end. Ouais, je suis à Londres, je peux pas là.
Une fois.
Pourquoi 404 n'est pas notre priorité numéro 1? Est-ce que c'est l'argent?
Non, en fait, non. Parce que si c'était vrai. Non, mais si c'était vraiment l'argent, au bout de 3 ans, on aurait arrêté.
Ouais, mais c'est vrai. Daz.
Non, mais pour moi, 404 est une des priorités de ma vie.
Oui.
C'est juste dommage que d'autres préfèrent faire des jeux nuls et des tourbus échangistes en Lozère, quoi, tu vois.
Attends.
C'est ça le problème.
Attends, tu peux pas dire ça, c'est mauvaise foi. Je suis le faillot, je suis toujours présent, j'ai toujours mes chroniques préparées, donc.
Non, mais toi, tu peux, ouais, c'est vrai que Fibre, il peut nous dire, bon, écoutez, les gens, là, on est, je dis les gens, frappez-moi. Ouais. Là, on est en décembre 2015, je vous préviens tout de suite qu'en avril 2018, je serai absent du 22 au 24, mais je reviendrai à midi et demi.
Machine
par
d'Excel.
Le TGV 6239 en provenance
de
l'Ontario.
Cela ayant été dit, j'aimerais dire que oui, effectivement, c'est à cause de l'argent, excusez-moi, je vais vraiment passer pour le mec.
Non, mais c'est intéressant.
Pourquoi? Non pas parce que on a besoin d'un 404 qui nous apporte de l'argent pour vivre, mais si effectivement, on en a parlé tout à l'heure avec le Patreon, on avait une obligation financière, on avait un patron et des responsabilités.
T'as pas d'obligation, c'est ce qu'il disait avec Patreon.
Oui. Non mais t'as une sorte de cadre, on va dire.
Voilà. Et donc là, en l'occurrence, comme on n'a pas un salaire qui tombe parce qu'on fait du 404, effectivement, on peut décider de pas le faire et on peut même décider un mois de pas le faire. Et personne va nous en vouloir.
Ce qui a failli se passer, on a dû se faire douleur pour ne serait-ce qu'enregistrer un podcast. Sylvain.
Il y a une autre raison aussi, c'est qu'on a mis une certaine exigence dans la, pas forcément la qualité de nos contenus.
Ah.
Mais la qualité de l'enregistrement. Et on a besoin d'avoir une salle avec Ghislain à côté de nous. Dis bonjour Ghislain parce que t'as pas parlé.
Bonjour.
Ghislain qui était entre Kalouga et Vladivostok pendant tout l'été dans un RER russe.
Voilà.
Donc ça aussi.
On
ça
a besoin d'avoir une table de mixage, des micros, des casques, parce qu'on met une certaine exigence dans la qualité sonore aussi, et une salle qu'on n'a pas réussi à avoir, par exemple.
Oui, c'est vrai.
Donc c'est ça aussi qui est difficile pour se retrouver.
Il y a aussi l'organisation qu'on baptise organisation Lamua, c'est-à-dire la non-organisation ou l'organisation au débeauté.
À la hussarde.
Ouais, à la hussarde, voilà, où 3 jours avant, là, me dit, et si on enregistrait depuis la Tour Eiffel dans le dirigeable Goodyear qu'on ferait venir de New York? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, envoyez des mails.
C'est vrai que j'ai parfois une organisation en live.
Ça joue aussi. Hein,
qui est bien mise en valeur par l'organisation dite DAZ, qui s'appelle aussi le streaming de chronique en live, en disant j'arrive, j'écris la chronique pendant que je vais la lire. Ça arrive. Bon, maintenant qu'on a lavé bien linge sale en famille, on est avec aussi deux autres groupes de podcasts qui, est-ce qu'ils connaissent les mêmes affres et les mêmes souffrances que nous, qui sont, on a un projet collectif avec des gens qui ont des jobs ou des occupations et un projet donc amateur aussi, donc qui ne peut pas être en priorité numéro un. Est-ce que parfois c'est douloureux pour vous l'AGAPA? Est-ce que parfois c'est douloureux pour vous Comics Outcast?
Alors nous,
Nico de l'AGAPA.
Nous on n'a pas trop eu de problèmes. C'est vrai qu'on a fait cet été, on a fait une pause en juillet, on a repris en août.
Mais on a dû faire une pause
pas
aussi.
Pas trop eu de problèmes pour reprendre parce qu'on a beaucoup de chance chez l'AGAPA, c'est qu'on a une NIO
ouais.
qui nous manage super bien, qui envoie le mail,
qui nous coordonne.
Ah, pardon. Et qui envoie le mail en disant voilà tel jour on fait la réunion pour décider des sujets, tel jour on enregistre, tel jour on publie. Alors,
vous écoutez parce que moi j'envoie aussi des mails pour dire tel jour on vous envoie les chroniques.
Je te donnerai des astuces.
Ah d'accord, ok.
En fait elle nous fouette. Un peu.
Ah bah je savais. Mais donc non, vous tenez quand même. Il y a une discipline hygiène qui fait que.
Ben non, mais le fait de d'avoir un planning qui est établi quasiment un mois voire deux à l'avance.
Ouais.
Bah on sait à quoi s'en tenir et du coup c'est vrai que c'est plus facile. Tu un jour tu t'assieds, tu dis bon voilà ma chronique je vais l'écrire, je la prépare etc. Et du coup ça a vraiment pas été très dur de reprendre même après les vacances.
D'accord. Non, mais le petit rush. Le rush que nous, par exemple, on a sur Slack quand on est la veille de l'enregistrement, qu'il est 3h du mat et que tout le monde est connecté parce que tout le monde est en train d'écrire sa chronique. Oui, non, mais lui, il compte pas. Je parle des gens qui ont un cœur.
Ça n'empêche pas que je boucle parfois mes chroniques 4 heures avant de les lire pendant l'enregistrement.
Oui.
Mais le planning est fait et il est respecté.
Il y a eu quelques soucis dans les premiers mois vis-à-vis des chroniques écrites au dernier moment.
Mais et j'ai réglé le problème.
Voilà. Ça s'est réglé par un. On va en parler dans la cuisine. Et on en a parlé dans la cuisine. Non, mais en gros, ouais, il y a eu des soucis de réécriture des chroniques au moment de l'enregistrement et la qualité était pas là. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec Comics Outcast numéro 12. Et comme la qualité n'était pas là, on a réenregistré.
Le déjà culte.
Vicieux.
Le déjà culte.
Et ouais, comme ça ne nous satisfaisait pas, on a réenregistré. Sauf que du coup, ça nous a tous bien saoulés. Du coup, tout le monde a pris sur lui pour que ça ne réarrive pas.
Ike, comment tu arrives à gérer? Est-ce que tu es freestyle comme moi? Est-ce que tu es beaucoup plus... coordonnées, parce que c'est le mot qu'elle aime bien appuyer, comme
alors,
Chloé.
L'AGAPAR a une Chloé.
Ouais.
Moi, j'ai un Ben et une Lucille.
D'accord. Donc, toi, t'as aussi des...
Voilà, c'est mon cerveau droit et mon cerveau gauche.
Ouais.
Donc, moi, je ne suis nulle part. Non, c'est deux personnes qui, franchement, sans elles, on n'aurait pas l'organisation qu'on a aujourd'hui. Elles sont très méticuleuses et très... En fait, elles nous poussent.
Ouais.
À chercher, à se... les doodles, c'est pareil. Le Slack, c'est pareil. C'est deux personnes qui, si elles n'étaient pas là, il y aurait pas le drive qui ferait que toutes nos émissions soient bouclées à temps avec tous les sujets qu'il faut. J'ai une certaine volonté, j'ai une certaine je suis animé de passion, ça marche, mais tout seul j'y arriverai pas. On
D'accord.
est neuf. Il faut concentrer les énergies, on parlait de responsabilité, on a un nouveau papa, on a des gens qui sont pas sur Paris tout le temps, on a des gens qui travaillent le week-end mais pas la semaine et ainsi de suite. Bref, tout des situations différentes qui font que réunir quelqu'un, enfin 9 personnes au même endroit.
Vous êtes jamais 9 à l'enregistrement, rassure-moi.
Non, mais pour prendre les décisions justement des sujets dont on va parler dans les émissions précédentes, 1 mois, 2 mois à l'avance, pareil comme l'AGAPAR, parfois il faut réunir tout le monde pour être sûr que tout le monde soit représenté, que toutes les voix soient là. Et ça, on a une certaine rigueur à cet égard-là, mais au quotidien c'est pas possible. Là, par exemple, un bon exemple, on a l'émission du 28 décembre, donc dans 3 jours, qui a été préparé
dans 3 jours.
Parce que moi j'enregistre beaucoup d'émissions en avance et donc je sais compter en avance.
Je suis content qu'on ait vu en live le sens de l'organisation de Daz.
Et oui,
voilà.
Fibre aussi.
Alors fibre.
Tout ça pour. L'organisation, c'est tout à fait collectif et sans ces deux personnes là, je. C'est gentil. Je pense que ce serait beaucoup plus compliqué parce que voilà, je travaille 9 heures par jour.
Ouais.
Et c'est pas évident de réunir d'autres personnes qui travaillent certainement plus que moi et qui ont d'autres responsabilités. Et...
On rappelle que Ben de C'est Cool C'est Quoi admin aussi 54 pages Facebook, je crois.
C'est ça.
Et 72
toute la, toute la journée. Fibre, tu voulais dire quelque chose?
Juste pour dire que parmi les murs et les obstacles qui font que Studio 404 peine à sortir chaque mois, c'est que non seulement on se réunit.
Peine à sortir chaque mois.
Oui, c'est vrai, on a un peu peiné.
Non seulement de se réunir une fois pour enregistrer, mais généralement on se réunit une fois avant pour déterminer les sujets. Parce qu'il faut qu'on fait une réunion physiquement, ouais. Parce qu'on n'est pas tous des robots dans l'équipe en tout cas. Et voilà, c'est un reproche. Et il y a aussi le fait que l'âme, il corrige nos chroniques. Et souvent, il dit « Ah non, mais je suis pas d'accord. » Voilà, il faut tout refaire. Non, mais là, à la fin, tu l'as refait. Et donc, ouais, c'est.
Bon,
c'est
en général, les chroniques que l'âme repime de fond en comble, c'est les tiennes, parce qu'en fait, il te donne une orientation que tu n'écoutes pas en disant oui, oui. Et après, t'écris un truc qui a rien à voir.
Peut-être
en fait.
Qu'il corrige pas les tiennes parce qu'il dit bon, de toute façon, déjà j'en ai une, je suis content.
Non, parce que je suis bon élève, tout simplement.
Non, j'ai corrigé des chroniques à toi qui étaient hors sujet aussi, d'ailleurs. Si tu veux balancer aussi, oui, c'est ça, oui. Est-ce que vous prenez la tête à faire des. Est-ce que vous compliquez la tâche comme nous, par exemple, parce effectivement, on s'impose, alors, réflexe de journaliste, des réunions de rédaction en live. On discute des sujets, des attaques, des conclusions, etc., etc. Est-ce que vous imposez ça ou non, du coup, blague à part ?
On fait une réunion de rédaction sur Skype.
Ouais.
Mais c'est plus pour s'émuler un peu sur les choix des sujets. Des fois, on va se dire, tiens, j'ai envie de parler de ça, vous en pensez quoi ? C'est pertinent. Bon, pour langue, j'ai pensé à ça, mais je suis pas sûre. Enfin, c'est surtout ça.
Et ça arrive aussi souvent que moi je débarque en disant j'ai pas de sujet, donnez-moi.
Ouais, mais on s'émule, du coup c'est ça, on se donne des idées et après la rédaction elle est pas relue.
Ouais.
En revanche, si à l'enregistrement, mais c'est arrivé dans les premiers numéros, les 3-4 premiers, si on voyait que le fil rouge il n'y avait pas, que ça menait nulle part, on a fait non, mais là on va refaire parce que c'est pas possible quoi.
D'accord.
Mais du coup ça s'est pas réarrivé depuis février quoi.
C'était au début ça.
C'était vraiment au tout début, maintenant ça a l'air d'aller.
Ike, tu fais des réunions de rédaction ou pas ?
Oui, plutôt en live.
Ouais, aussi.
À cause du nombre.
Ouais.
Parce que sur Skype, je pense que c'est pas tenable. Et en fait, récemment.
J'imagine 9 Henri Michel comme ça en train de se parler.
Non, c'est. On a dû le faire à des moments critiques où véritablement, de façon notable, après novembre où certaines personnes pouvaient pas être dispo, on a dû le faire par Skype pour des raisons qui étaient. Voilà. Mais de préférence, on le fait en physiquement pour vraiment pouvoir se parler directement, s'écouter, se couper et échanger, et changer d'avis dans le moment plutôt que par Slack interposé qui font que, bah, comme machin travaille toute la journée, bah, il est ludique à 6 heures du soir et en fait, ouais. Tout le monde a fait la conversation et ah, d'accord, c'est moi qui fais ça, mais j'avais pas envie.
Ouais.
Voilà, on essaie de faire ça en live pour mettre en avant plutôt les interactions humaines.
D'accord, très bien. Il n'y a pas ce stick qui veut prendre la.
Oui, parce qu'en fait, j'en profite que Coco B ne soit pas là pour justement le remercier, parce que c'est lui qui tient l'émission depuis maintenant 2 ans, si je dis pas de bêtises.
Alors, c'était Timoth avant, maintenant c'est un peu plus Coco B.
Et du coup, sans Coco B, il n'y aurait pas de passe le stick tel qu'il est, parce que c'est lui qui écrit toutes les news et qui reprend justement si on fait des fautes, pareil. Si sur la page de live, quand on fait la petite descriptive, s'il y a des fautes, c'est lui qui reprend tout ça et. Et du coup, c'est très compliqué. Nous, les faves actu, parce que chaque chroniqueur a un sujet à chaque fois, et il est souvent fait 10 minutes jusqu'à de 2 heures à 10 minutes avant le début de l'émission, qui est en live à chaque fois. Et on a l'impression que toutes les semaines, c'est facile parce qu'il y a du contenu tout le temps. Et en fait, non, c'est hyper dur. Et il arrive toujours à trouver des choses à dire, à un débat, à trouver du fond pour réagir. Et voilà. Et du coup, j'en profite qu'il ne soit pas là pour le remercier. Parce que sans lui, parce que le stick ne sera pas ce qu'il est actuellement.
Très bien. Sylvain.
Du coup, la conclusion de ça, c'est que, en fait, le système de gouvernance des podcasts pour tout le monde.
Le système de gouvernance
ouais,
des podcasts.
Ouais, j'utilise des mots comme ça. Poussé, ouais, voilà. Non, mais c'est vrai, en fait. Pour tous les gens qui sont autour et qui ont pris le micro, c'est qu'il faut quand même un mec qui lead le truc, quoi.
Ouais,
que la démocratie totale,
ça n'existe
pas.
Ça n'existe pas, c'est de la merde.
On en avait parlé au tout début, mais blague à part arrive, enfin. Avec une démocratie totale, plus un management.
Coordination.
Hashtag coordination.
La moitié de l'équipe de la Gapard habite au même endroit, quand même.
Je tiens à préciser que si elle a
Nico, ouais.
une coordination qui est très stricte, elle nous impose rien du tout, hein, par contre.
Ça, tu sais pas encore, ça. Tu penses qu'elle t'impose rien.
C'est ça.
Tu crois
nous manipuler, effectivement.
Je t'impose rien, Nico. Je te coordonne. Ah, bah, ça va, alors c'est bon.
J'ai mal à la tête, des fois, après qu'on a enregistré. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Je pensais pas à ça, mais.
Bon, très bien. Premier 404, on prend exemple sur les autres. ou pas?
Bah, on le fait déjà.
On le fait déjà, ouais.
C'est
ouais.
vrai. Tu es notre gouvernance, là.
Oh.
On te remercie pour ça, c'est Noël.
Non, je suis votre dictateur. Coordinateur.
Notre coordinateur.
Alors, je veux juste revenir sur août, ouais. Période creuse, tout ça.
Ouais.
Eh ben, nous n'arrêtons jamais. C'est-à-dire que même
vous arrêtez pas.
On n'a pas arrêté depuis septembre 2014.
On a peut-être dû ne pas arrêter non plus, en fait. Est-ce que c'est intéressant de se dire que justement, il n'y a pas de cassure et que la reprise n'est pas moins dure si ça
Techniquement, les gens partent quand même en vacances et j'arrive toujours.
C'est chiant, hein.
Voilà.
C'est parce qu'ils sont neufs, donc ils peuvent.
Voilà. J'arrive toujours à décoter. Trois personnes pauvres qui ne partent pas et qui, et qui seront là avec moi. Qui...
La spéciale émission précaire de d'août, quoi.
Ouais, c'est ça. Bah, précaire parce que voilà, c'est les films de merde qui sortent, hein, Fantastic Four,
ouais.
Qu'on doit commenter.
Non, c'est vraiment l'émission de la loose, quoi. C'est des chômeurs qui.
Non, mais
c'est comment des films.
C'est toujours facile de bâcher. On aime bien bâcher. Bise Adrien. Mais non, c'est. Il y a pas de problème quand on est nombreux de justement de se retrouver à 3-4 et de faire un podcast quand même avec du contenu et intéressant et sans que ce soit une corvée.
D'accord.
Ça peut être août. Enfin, on est toujours là, quoi.
Non, mais c'est bien parce que ça fait 2 ans que je pense agrandir l'équipe de chroniqueurs, mais je crois qu'ils le vivent un petit peu mal, mes 4 chroniqueurs. Oh, on parlera. Chloé, pour finir.
Tout petit rectificatif. On n'a pas fait une pause en juillet. On a fait une pause en juillet-août.
Ah, carrément.
On a fait la pause de l'été.
Eux, c'est des riches, tu vois. Eux, c'est des riches.
Ben, ouais, deux chroniqueurs bon, sont partis un mois en vacances. Du coup, de fait, on pouvait pas.
Et alors, attends, ils sont partis où en vacances? Parce que c'était pas la porte à côté non plus.
On a des États-Unis.
Voilà. Donc, ils sont vraiment riches, en fait. Hein.
Et voilà. Du coup, la pause, c'est un peu imposée.
Mais est-ce que vous a fait du bien ou est-ce que vous a fait du mal, juste pour finir?
Ça a rien changé, le planning était prévu.
Oh, cette coordination quand même.
De toute façon, sur 3 ans, on a le business plan là.
Une super chronique à la rentrée.
Oui, c'est vrai.
Bon, ok, promis.
On fait des marches, tu sais, comme dans les dictatures communistes, les mecs qui marchent tous en rang. On fait ça maintenant. Hein.
Mais officiellement, c'est une démocratie totale avec une coordinatrice. Voilà, une coordination. Merci tout le monde. Allez, c'est la fin du mois d'août et on attaque la rentrée. Wouhou!
Septembre, tenir 100 émissions et au-delà.
Déjà le mois de septembre, donc c'est la rentrée, et pour certains c'était aussi la 100e, carrément le 100e podcast. On a parlé avec Caroline des fins de projet, on a parlé avec Henri Michel des petits projets qui montent par itération, par expérience. On a parlé avec nous-mêmes de la difficulté parfois de tenir sur la longueur. Il y en a qui ont réussi, et c'est pas ce stick qui sont vraiment parmi les podcasts qui sont là depuis le plus longtemps. Ils vont nous le confirmer dans quelques instants. Messieurs, c'était. On parle d'années, on parle de centièmes, c'est énorme. Quand
on parle
même,
de là. Décennies, de siècles. Alors, c'est qu'est-ce que.
Alors, Kobe, on passe le stick, ouais.
Exactement. Donc tu disais septembre, la centième. C'était la 101e. Hein,
la 101e.
C'est juillet. Voilà. C'est juillet.
On a passé la centième en juillet à 42. Je te rappelle bien.
Et encore, c'est pas vraiment la centième parce qu'il y a eu une. On va dire une alpha de voilà. Passe le stick sur une web radio.
Il y a eu une bêta. En fait, on a démarré Passe le stick avec Radio 01 à l'époque.
D'accord.
Voilà, ce qui était notre groupement de podcast et qui était un petit peu la nouvelle plateforme sur laquelle on a démarré, étant donné que on était sur une autre radio à l'époque et l'émission s'appelait Le Geek Passe le stick avec Inks qu'on embrasse très fort de Suisse. Il nous a dit hey, vous pourriez couper Passe le stick, c'est bien, parce qu'on cherchait un titre et du coup c'est devenu Passe le stick à ce moment-là.
D'accord.
Donc on a démarré en février 2013.
Et donc il y a bientôt 3 ans.
Il y a bientôt 3 ans. En février, ça fera 3 ans. Donc, en tout cas, au niveau des chiffres, si on regarde le nombre d'émissions, oui, en effet, on est là depuis longtemps. Mais en vrai, c'est aussi parce qu'on fait ça toutes les semaines. Donc, fatalement, ça fait plus de.
C'est vrai qu'il y en a une par semaine, ce qui est quand même un rythme. C'est, parmi tous les podcasts qu'il y a ici, très peu font un podcast par semaine.
Voilà. Donc, c'est plus sur le rythme.
Est-ce qu'il y a eu hashtag coordination très forte pour tenir un rythme comme ça de un par semaine?
Bah, en fait, à la base, on est des mecs qui sont des purs randoms, on est des mecs qui boivent des bières, qui parlent de jeux vidéo, qu'on avait une passion commune des jeux vidéo sur des petits fan sites, et en fait on se dit tiens, j'ai une web radio, est-ce que tu veux passer faire une chronique, ainsi de suite. Au début on était que 3, il y avait d'abord Timothée, après Kobe qui arrivait, après moi qui arrivais, ensuite c'est Alvin, ensuite c'est Yaki, et en fait c'est devenu une bande de potes qui parlent de jeux vidéo. Et en fait c'est pas le facteur travail qui nous a unis, mais c'est vraiment le facteur vas-y, il y a des news, on parle, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on s'engueule, on se moque l'un de l'autre, on s'insulte, mais gentiment. C'est vraiment cette ambiance bande de potes qui fait que bah on est au 100, on va être le 25, 115, 116 épisodes, quoi. Donc Oui, c'est vraiment le facteur pote qui a fait le
truc. On a le 114e qui arrive lundi.
Même si à la base, moi, je suis arrivé juste pour vendre les jeux de mes potes, parce que moi, je fais du jeu vidéo à la base, et du coup, je me suis dit, ouais, un podcast, c'est l'occasion de caser 2-3 noms.
Ah, t'es fait un jeu. On a fibre aussi pour ça.
Non, voilà. Et voilà. Et en gros, voilà, je voulais, c'est vraiment les vrais indés de France qui font du jeu vidéo, parce qu'il n'y a pas HP Spec derrière. Et au final, non, ils sont sympas, ces gens-là. Et du coup, on s'attache.
Parce qu'on parle de longévité, je vois Henri Michel en train de s'abreuver, parce que je pense que le rôle de longévité.
Je suis ivre mort.
Non, mais je voudrais d'ailleurs saluer l'âme qui, donc, anime cette émission depuis 4 heures déjà maintenant. Ouais, et la vraie longévité, elle est là.
D'ailleurs, je veux bien, Engine, une clémentine, s'il te plaît. Voilà, c'était l'instant coulisses. Tu t'as pris la parole, Corentin, ZQSD, qui est aussi un des podcasts qui dure depuis un certain temps quand même.
Hein. On est plus vieux que Passe le Stick, déjà, pour commencer, hein, les amateurs. On a, je pense, 2 semaines de plus.
C'est à peu près ça.
J'entendais parler lors d'un mois précédent où tu parlais des podcasts à 9 qui arrivaient malgré tout à se coordonner. Nous, je pense que, enfin, en plus, ma grande fierté, c'est non seulement qu'on ça fait 3 ans qu'on fait ça, mais ça fait 3 ans qu'on fait ça à 8 et on est là tous les 2 semaines à 8. Oui. Quasiment. Et je sais pas, il y a une sorte de happening incroyable qui s'est passé.
C'est le lancer de Clémentine, on dirait Interville, c'est fantastique.
Oui, sauf que c'est un peu raté. Hein.
Toutes les 2 semaines.
Toutes les 2 semaines, mais toutes les 2 semaines ou 4 semaines, quoi, à peu près. Enfin, 1 ou 2 par mois.
Ça a évolué, de toute façon.
Dira-t-on. Mais effectivement, la grande difficulté, c'est de réussir à faire ça à 8, alors avec des gens occupés. Enfin, occupés, non, parce qu'encore une fois, quand on est tous journalistes de jeux vidéo, on est tous plus ou moins précaires, chômeurs ou avec des horaires à la con. Donc finalement, on arrive à s'en sortir quand même à peu près. Ouais. Je pense que c'est le secret. Je ne sais pas comment des gens avec des vrais métiers pourraient en fait faire ça pendant 3 ans.
Et du coup, entre vous deux, là, les deux mastodontes du podcast du jeu vidéo français, qui est là depuis longtemps, qui fait beaucoup d'émissions, qui est très nombreux, j'ai invité donc Ben de C'est Cool, C'est Quoi. Pourquoi ? Parce que 1, il est tout seul à faire l'émission. 2, il fait une émission qui est assez récente. Et 3, on se connaît bien parce qu'on a le même souci tous les deux. Il a tendance à lancer plein de petits projets, mais qui ont parfois du mal à durer.
D'ailleurs, je m'en vais.
T'es impressionné.
Tu annonces la fin de C'est Cool, C'est Quoi.
Je suis impressionné, mais
qu'est-ce que t'en penses du coup, toi qui a C'est Cool, C'est Quoi, ça marche très bien, mais c'est plutôt récent. C'est un rythme de production qui n'est pas hebdomadaire non plus.
Non.
Est-ce que ça te donne envie ces chiffres assez forts ou c'est pas ton truc non plus?
En fait, je pense que la raison pour laquelle je me défends juste sur cette attaque ville et ville et en fait, je me défends en disant que j'essaie de privilégier la qualité et la quantité, même si j'ai 12 000 blogs. Mais c'est juste que, enfin. En gros, 6 mois, C'est Cool, C'est Quoi, j'en fais qu'un par mois. C'est déjà de base, je savais que j'en ferais pas plus que ça par mois parce que je voulais pas que ce soit à la chaîne, que ce soit juste, voilà, je dois en faire tant et essayer de remplir un quota ou quoi. Je me suis dit, voilà, un par mois, je pense que c'est pas mal et je reste là-dessus. Et du coup, j'avais une question pour Passe le Stick, c'était de savoir, qu'est-ce qui vous a décidé à faire un par semaine, qui est quand même assez vénère.
C'est beaucoup, hein, oui.
Et est-ce qu'à un moment, vous avez eu l'idée de ralentir, de se dire voilà, on en fera plutôt un tous les 15 jours ou un par mois ou pas?
Le Geek Passe le Stick, qui était le podcast qui a entre guillemets initié Passe le Stick, enfin qui était un petit peu l'alpha comme disait GED, ouais. Était toutes les semaines et ben en fait comme on traitait vraiment de l'actu jeu vidéo et on s'est mis vraiment en traiter comme des gens qui la lisaient tous les jours vraiment, on s'est dit ouais, l'actu jeu vidéo au minimum peut se traiter sur une semaine. C'est vraiment tous les jours ça serait trop court. Toutes les 2 semaines pour nous c'était un petit peu long. Vraiment toutes les semaines il se passe des trucs a priori. Donc je pense que naturellement ça s'est placé sur une semaine. Et je pense que étant donné qu'on était des gens tout autour de ce podcast qui lisions l'actualité jeu vidéo et qu'on en parlait de manière régulière, je pense que la semaine pour parler de l'actualité jeu vidéo est la formule la plus adaptée. Alvin, je pense que t'es d'accord avec moi.
Ouais, je pense que c'est vraiment la bonne unité de temps où on peut suivre les dossiers, on peut voir d'une semaine à l'autre ce qui avance. Et ça correspondait à une situation aussi dans nos vies, effectivement, où on cherchait un travail, où on était pigiste. Ça nous permettait un peu de garder la main aussi. C'est aussi simple que ça.
Souvent, mais pas trop souvent.
C'est ça. Et, non, mais même je vois là, on va être en pause estivale. Bah, c'est Noël, donc forcément, on va être un peu en pause. Ouais, le premier lundi où on n'a pas passé le stick, ça fait bizarre. Ça te manque un peu quand même. Tu te dis, c'est chelou. Et quand on reprend en septembre après l'été. Putain, ouais, merde, ah, c'est toutes les semaines. Et ça revient. Après, ça revient.
Justement, vous dites que vous étiez disponible, donc vous pouvez le faire à l'époque. Vous le faites toujours, vous arrivez à tenir le rythme. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vos auditeurs saluent et qui crée aussi une forme de fidélité?
Les enfants des auditeurs originaux, en tout cas, ouais.
En tout cas, ils l'attendent. En tout cas, on le sent, notamment par Twitter, parce qu'on est en direct. Et je pense que vraiment, ce qui fait aussi le sel de Passe le Stick, c'est qu'on est en direct. On devrait se voir une fois par semaine pour enregistrer. Ça serait pas aussi fun que d'avoir cette vraie excitation de se dire attention, l'heure approche, il faut qu'on soit prêt, le petit moment de stress, les 10 minutes avant le direct,
on est en
stress.
Sans le direct, on aurait droppé depuis longtemps, en vrai.
C'est clair. Non, mais c'est évident. Et ça fait
le direct,
beaucoup
c'est ce qui maintient, votre couple vivant.
C'est ça.
Ouais, je pense à quelque chose à dire là-dessus, puisqu'il Twitch régulièrement, donc c'est du direct aussi.
C'est ça, le direct. Bien, le direct, le truc, c'est que, on a beau dire que c'est une heure, en fait, passe aussi que c'est une heure et demie, hein, de base.
Et c'est, à peu près.
Et c'est parce qu'en fait, à chaque fois, on rebondit, et ça qui est bien, c'est vraiment ce côté, certes, le public est pas très réactif en commentaire, sur Radio Kawa.
Ça dépend des jours, ça dépend
des sujets
aussi, hein.
mais souvent en direct c'est toujours bien d'avoir la blague récurrente. Au début on avait le hashtag mon message qui était mon message de base, mais après c'est bien ce même qu'on fait une erreur, c'est toujours bien d'avoir des par exemple dernièrement on parlait du Canada dans le 113 et il y avait des expatriés qui faisaient oui alors moi je suis au Canada, moi j'ai tel témoignage à faire sur le sujet, je ne suis pas d'accord sur ça. Il fait ah toi très bien, bah n'hésite pas à nous faire d'autres remarques là-dessus en direct. Et du coup le débat on était seulement on va dire à 5-7 dessus.
Enfin, seulement à 5-7.
On est 7 depuis la rentrée systématiquement.
On est 5 de base et 2 invités. On était finalement à 7-8-9 avec oui, alors moi j'ai une expérience de tel temps dessus. Et finalement, c'est vraiment l'expérience live qui fait qu'en fait, on se renouvelle même au niveau des invités, car chaque viewer est potentiellement un invité à Passe Stick.
Parce que je pense que dans Passe Stick, on n'a jamais eu honte de dire qu'on n'avait pas la science infuse et qu'il nous arrivait de dire des bêtises aussi. Et que Twitter, les gens qui réagissaient en direct, et c'est aussi la force du direct, c'est que des gens peuvent nous corriger des fois si on dit des bêtises, parce que comme on réagit à de l'actualité qui est parfois chaude, notamment, et où les articles, les sources sont parfois un petit peu incertaines. Et ben moi personnellement, quand je présente une émission et que je prépare une émission, parce qu'en général c'est beaucoup de travail, je suis content quand des auditeurs arrivent et disent oh là là, vous avez dit 2 millions, c'est plutôt 3 millions, ou alors c'est une petite précision de fact-checking en direct qui est effectuée par les auditeurs eux-mêmes. Mais continuez les gars, c'est super, je suis content. Faites-nous du fact-checking, c'est beaucoup de travail de préparer Passe Stick et je suis content quand en fait l'émission peut être absolument précisée par les auditeurs eux-mêmes. Ça nous donne aussi une certaine légitimité nous de dire quand les auditeurs nous corrigent, parce que on n'est pas toujours raison, et je vois que ça nous fait coucou dans l'iPhone, donc
Henri, Michel, oui.
Non, je voulais te demander, est-ce que les éditeurs prennent au sérieux le format audio avec toute la pléthore de blogs, de sites, de vidéos, etc. Comment ils considèrent le format audio justement?
Bah ça dépend lesquels. Ça dépend qui. Certains éditeurs, en l'occurrence, quand on demande des jeux en test, puisque jusqu'à la saison dernière, on faisait carrément des chroniques pour tester les jeux. Donc on enregistrait des petits MP3 de 3 minutes qu'on insérait dans l'émission qui était en direct. On en faisait jusqu'à 2 par émission. Et on a arrêté d'en faire cette année parce que ça demandait beaucoup de temps et qu'on commence mine de rien une fois par semaine, c'est beaucoup, donc on les fait en direct maintenant. On dit ce qu'on pense des jeux en direct parce que c'est moins de travail et que de toute manière on sait de quoi on parle quand on a joué à des jeux. Et par exemple, je sais pas, je vais pas balancer certains éditeurs, mais certains éditeurs nous aident et d'autres nous aident pas, donc tout dépend les éditeurs, tout dépend quel rapport ils ont avec nous et comment ils considèrent notre podcast. Oui, je peux pas dire les noms parce que c'est pas très pro, donc certains éditeurs sont plus sympas que d'autres.
Une petite anecdote sur la communauté professionnelle des créateurs de jeux vidéo par rapport à Passe le Stick, c'est que quand il y a eu les EIGD, donc un salon indépendant des créateurs de jeux vidéo à Paris, la plupart des créateurs de jeux vidéo sont à Lyon, hein, donc ils sont montés à Paris. Le soir même, ils ont déjeuné dans un resto, ils se sont dit, allez, on va avoir Passe le Stick, on va cracher, et parce qu'on veut absolument les connaître et tout. Donc, en fait, c'est pas rien. Ils sont pas dit, tiens, on va aller voir la rédac de Canard PC, par exemple. Ils sont très bien, Canard PC, mais voilà, ils sont allés voir Passe le Stick. Donc,
ils ont débarqué en direct. Voilà. Vraiment.
Ils ont débarqué chez moi. Parce qu'il faut savoir que ça se passe chez moi, Passe le Stick, tous les lundis soirs. Et en fait, on a reçu un tweet d'abord. Ouais, William David. Alors, William David, qui, Swing Sessomane, qui est quelqu'un d'adorable, qu'on connaissait personnellement un petit peu. Voilà. En fait, il venait, parce que c'était l'occasion, donc il venait sur Paris, et il a pas dit à ses convives qui passait à Passe Stick. Et du coup, ses convives, ils ont appris sur Twitter, mais attends, il va sur Passe Stick, on n'est pas au courant. Et en fait, on a eu un premier message sur Twitter, on vient. Et je fais, mais non, c'est une blague, c'est trop gros, ça ne peut pas arriver. Et ils sont vraiment arrivés à 7-8 chez moi, dans mon petit 20 mètres carrés, et ils ont tous parlé un petit peu, c'était sympa.
Est-ce que vous voyez encore tenir Passe le Stick le rythme des années, justement, si on revient à la longévité? Ou est-ce que vous dites
Bêtement, en tout cas, c'est ce qu'on fait sur Radio Kawa en général.
Ouais.
On voit saison par saison. Honnêtement, on ne sait pas ce qui va arriver dans nos vies. D'accord. On fait bénévolement. On en parlait tout à l'heure sur
Patreon. Ça fait 3 ans que vous vous dites bon, l'année prochaine, bon, ok, une saison.
En tout cas, on en discute. En tout cas, on en discute chaque année. Ouais. Quand on part, c'est pour une saison parce qu'on termine les saisons parce qu'on est pro à Radio Kawa. On essaie dans la mesure du possible ou de terminer une demi-saison ou de terminer une saison quoi qu'il arrive. Et après, on en discute. Effectivement, à l'heure actuelle, on sait pas où on sera dans, enfin, on saura, c'est pas où on sera dans 6 mois, quoi qu'il arrive, sur quelques domaines qui soient. Donc, on peut pas s'engager plus que ça. Mais, j'ai encore envie de faire passer le stick demain, donc j'ai encore envie qu'on fasse passer le stick un moment.
C'est ça, c'est que le rythme hebdomadaire, nous embarque, nous contractualise presque pour au moins, pas une année. Enfin, en ce qui me concerne, moi, je compte en année, mais oui, c'est le même genre de comment dire de voilà, on compte plutôt en gros paquet de saisons d'émissions et c'est vrai que c'est difficile à compter. Enfin, on va en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on s'arrêtera pas à faire passe le stick en février ou en mai. On s'arrêtera en juin ou en décembre, mais on s'arrêtera pas
plus visiblement putain de merde.
Et je vous rassure, on sera là et je vous rassure, on sera là en janvier.
Corentin, excusez, tu voulais réagir
du coup. Je veux dire, ouais, ça fait 3 ans qu'on fait ça, nous on a 30, 35 ans, on a des boulots à côté, des trucs, des projets, certains des enfants, et que ça commence à devenir de plus en plus difficile de se réunir tous les 8 mine de rien.
Bah oui, justement, ouais.
Une fois ou deux par mois, et nous c'est un truc qu'on est en train de réfléchir à moyen terme et de faire de manière extrêmement enfin c'est juste enfin de manière complètement informelle, mais on se dit comment est-ce que un jour on va peut-être faire évoluer le format pour faire proposer autre chose et peut-être proposer même autre chose qu'une émission. On parlait de précédemment de l'argent qu'on pouvait gagner avec.
Ouais.
Et on se disait comment on pourrait peut-être mettre ça au service d'autres, enfin, de faire des épisodes, non pas un podcast qu'on ferait tous les 2 semaines jusqu'à 45 ans ou 60 ans ou jusqu'à, je sais pas, façon Rolling Stone, tu vois, jusqu'à la fin. Ou est-ce que,
on
pourrait pas faire évoluer le projet pour faire ça en le transformer plutôt en une sorte de plateforme, un truc comme ça. Enfin, c'est le genre de réflexion qu'on a.
Vous, la longévité, c'est aussi de transformer un peu, de faire grandir le projet.
Ben, ouais, parce que, enfin, moi, je me vois pas, on parlait des podcasts qui arrêtaient. Moi, je peux pas, on pourrait pas arrêter ça, je pense. Enfin, ça nous ferait trop de peine. Et, par contre, le faire évoluer, le transformer, garder le nom, le truc, et peut-être l'idée, la philosophie derrière le truc, mais le transformer en un projet, pour aider d'autres trucs, ça, c'est un truc qui nous intéresserait, par exemple.
Ben, toi, du coup, est-ce que tu peux te dire, je peux penser en termes d'années, sur C'est Cool, C'est Quoi, où tu dis, à chaque prochaine émission, ça arrive, je veux pas savoir si ça va durer longtemps.
J'ai une petite avance, j'ai quelques émissions, enfin, quelques thèmes d'avance.
D'accord.
Mais je pense que, comme je le disais tout à l'heure, le jour où j'aurais plus envie dans le sens, il y aura plus de sujets qui me bottent, ou en tout cas plus de sujets où je me dis, ça vaut le coup de faire une émission, j'arrêterai. Après, voilà, je vais pas laisser tomber, même si je pense que Radio Kawa repose pas du tout sur moi. J'essaierai d'être pro, comme il disait, d'aller au bout, mais enfin, je vais pas forcer le truc. Ça s'arrêtera. Je pense que voilà, ça va devenir culte parce que ça sera arrêté. Tu vois, ça sera comme un pigeon qui meurt en plein vol, tu vois.
Ah, oh, c'est beau.
C'est comme un pigeon qui meurt en plein vol. C'est magnifique.
C'est une question aussi qu'on se pose souvent, évidemment, de comment finir un podcast, quand est-ce qu'on arrête. Et ça arrive dans l'intérêt.
C'est toi qui vas finir ce mois-ci. Comment tu finis là?
Comment on
finit là?
Eh ben, écoutez, joyeux Noël.
Bravo. Merci beaucoup à tous. On attaque le mois d'octobre.
Octobre, quand le podcast redevient tout simple, tout seul.
Nous attaquons le mois d'octobre avec une nouveauté. On a parlé beaucoup, la plupart des podcasteurs et des podcasts qui sont ici avec nous ce soir sont des équipes, il y a de la réal, il y a du matériel, il y a de l'organisation, il y a de la hashtag coordination, ce sera hashtag du soir. Puis on a vu un peu en ovni Henri Michel qui nous parlait de ses expérimentations et là c'est en fait Bruno de Marché Parlé qui va nous parler de la sienne. Bruno, toi tu as créer plusieurs programmes de podcast au-delà de ton boulot. Et récemment, tu en as lancé un qui est vraiment très nouveau, qui prend un peu à revers ce qu'on a dit en termes de la monétisation, l'organisation, la longévité, la discipline, les réunions de rédaction, etc. Tu t'es dit, je vais juste m'enregistrer dans le micro de mon iPhone en marchant dans la rue, en allant au boulot le matin, et je vais publier. Et ça s'appelle Marcher Parler.
Exactement.
Et alors, première chose, comment ça t'est venu? Par rapport à d'autres expériences ou juste comme ça?
Bah, un jour, je marchais pour aller au travail, j'aime bien marcher.
Ouais.
Et je me suis dit, je pourrais parler dans mon iPhone. Et en fait, ce qui est cool, c'est que du coup, je l'ai fait tout de suite. En fait, j'ai pris mon kit oreillette, j'ai mis le micro près de ma bouche, j'ai expliqué le principe du truc.
Et c'était fait, c'était lancé.
Et voilà, et en arrivant au boulot, je l'ai uploadé sur SoundCloud. Et j'ai dit, wow, j'ai essayé un truc, écoutez. Et voilà.
Là, on a été au bout du fantasme de l'idée, la production, la réalisation et la diffusion.
Voilà,
genre,
c'est ça.
Vraiment.
Parce qu'en fait,
très fluide.
Radio Navo, en fait, c'est à peu près le même dispositif que ce que vous avez là. C'est-à-dire, il y a une table, en tout cas, il y a du matos, il y a 5 micros. J'ai pas de réal.
Donc je réalise tout seul, ce qui fait que en gros techniquement je prends toutes les pistes séparées
ouais.
de chaque micro et je fais ma réal moi-même derrière. C'est ça que je vais couper.
Tout en animant.
Maintenant, en fait, je le fais après coup.
D'accord.
Donc, ça prenait quand même vachement de temps. Voilà, si j'enregistrais pendant deux heures derrière, après, je faisais de l'édition pendant, ouais. Pendant deux heures. Et c'est, ça fait partie des choses qui m'ont découragé. En fait, très rapidement, un jour, je me suis fait voler mon ordinateur.
Ouais.
Il y avait des histoires de clés pour Pro Tools. Je te passe des détails qui ont fait qu'il fallait faire des papiers, il fallait demander est-ce que vous pouvez me renvoyer la clé. Et à partir de ce jour-là, j'ai jamais refait de podcast parce que la flemme a gagné contre moi. Parce qu'en fait, ouais, c'est ça, contrairement aux gens qui sont en équipe, moi, je suis tout seul, donc, ouais. Si à un moment, je suis pas motivé.
T'as pas de personne pour dire,
dis donc, allez, on y va.
Ouais.
Et donc, ça faisait un sacré moment que j'avais rien mis sur Radio Navo.
Ouais.
Et quand j'ai eu cette idée-là, je l'ai mise. Et voilà, ça, et les gens ont bien aimé, je pense.
Tu penses?
Je crois, je suis pas sûr, en fait. Il est vraiment très tard, il est 1h30, tu sais, là. Je suis à moitié bourré, hein.
Oh là là.
À un moment, je vais dire un truc, genre, vive l'État islamique, ça va être la merde dans ton.
Mais tu le diras de manière très belle pour essayer de nous interroger et qu'on nous
donne des réponses intelligentes. C'est pour avoir vos réactions sur l'État islamique, je pense que c'est important.
De quoi tu parles dans Marché Parlé à part l'État islamique?
Sérieusement, en fait,
est-ce que justement c'est comme la préparation et t'as envie de ne pas choisir et de te laisser aller?
En fait, je pars de chez moi, je pense à un truc, je me dis tiens, je vais le dire.
Ouais.
Et je le dis. Après, en fait, le principe c'est que du coup, en le faisant, tu t'écoutes penser.
Ouais.
Et donc, tu sais pas exactement de quoi tu vas parler, donc en vérité, ton titre, tu le trouves après, quoi.
Ouais. Est-ce que tu dévies du coup comme quand on pense?
Un petit peu. Enfin, souvent j'ai un thème, mais par exemple, là, on parlait de l'État islamique et du coup c'est marrant parce que c'est vrai.
C'est vrai que c'est marrant l'État islamique.
Un des derniers, en fait, je parlais des attentats.
Ouais.
Et en gros, je parlais du fait que t'as pas envie de parler d'autre chose.
Ouais.
Et en fait, en parlant du fait que j'avais pas envie de parler d'autre chose et en ayant dit au début, bon, bah là, en fait, je vais en post-production de bloquer, on va faire de l'étalonnage. Je me dis, bah voilà, normalement, j'aurais parlé d'étalonnage et je me suis repris moi-même en disant, ouais, non, mais en fait, je m'en parlais, je vois pas pourquoi on s'empêche de parler de trucs, voilà, c'est bon, j'ai parlé des attentats. Et donc, le truc est bizarre parce qu'il s'appelle les attentats et l'étalonnage. Une première partie sur où je parle de la Marseillaise et pourquoi je trouve que c'est violent et comme j'ai tendance à m'embrouiller avec les gens sur Twitter.
C'est vrai?
Ouais, tu savais pas?
Ah, c'est vrai.
Ouais, c'est fou. Hein. Et du coup, souvent, j'explique un truc qui est incompris en 140 caractères, j'essaie ouais. de prendre un peu plus de temps dans Marché Parlé pour le développer. Donc voilà, là, il y a pourquoi la Marseillaise est violente et qu'est-ce que l'étalonnage.
C'est marrant, du coup. Donc jusqu'au bout, tu laisses une sorte de fluidité. C'est pas l'écriture automatique, parce qu'il y a quasiment du penser.
En fait, la pensée, c'est de l'écriture. Enfin, oui. c'est automatique, en fait. C'est, oui. Et c'est ce qui est intéressant. D'ailleurs, c'est plus intéressant à écouter qu'à faire.
Ouais.
Parce que le truc que moi je trouve vraiment cool avec Marché Parlé, c'est que dès le début, je disais faites-le, qui est un truc que j'ai tendance, je suis un peu open source là-dessus. Ça m'a jamais énervé quand. Il y a longtemps, je faisais un blog BD qui s'appelait La Bande Pas Dessinée. Ouais. Et il y avait des gars qui m'envoyaient des mails en disant ouais, est-ce que je peux en faire? Je dis bah, fais-en, c'est ouais. des bulles dans des cases. Donc, du moment que tu dis pas la même chose que moi, ouais. C'est intéressant. C'est le format. Parce que le principe, c'est si tu sais pas dessiner, tu peux quand même faire de la BD. Pareil pour quand on a fait Bref et qu'il y a eu des parodies. Moi, j'étais content.
C'est vrai, il y a eu des parodies de Bref.
Bah ouais, et en fait, tout le monde appelle ça des parodies, mais quand tu regardes bien, c'est pas du tout des parodies parce qu'ils parodient pas du tout ouais. ce qu'on fait. Ils prennent pas un épisode ou un style et après, ils s'en moquent. En fait, ils racontent un truc qui leur est propre,
mais
avec le même format. Ouais. Et donc là, c'était un peu la même chose, c'est-à-dire ce format-là pour moi. En gros, pour moi, le premier gars qui a peint un tableau,
ouais.
s'il avait dit au deuxième gars qui fait un tableau, t'as pas le droit, c'est moi qui ai eu l'idée de mettre des pigments sur une toile, il y aurait pas de tableau quoi dans la vie.
Ouais.
Il y aurait un vieux gars qui a fait un tableau flingué. et donc pour moi, c'est ce principe-là, c'est de dire faites-en. Et du coup, j'en écoute plus que j'en fais.
Et alors, on attaque la deuxième partie très intéressante de Marché Parlé, c'est l'émulation autour de Marché Parlé. C'est qu'en fait, la simplicité de réalisation du système qui est vraiment prenez votre téléphone et le kit oreillette, parlez dedans et publiez, a fait que des gens ont repris ce système et ont publié à leur tour. Et ils ont repris d'ailleurs même la dénomination, parce que c'est leur Marché Parlé aussi en fait.
Ouais, après il y en a qui appellent ça autrement, mais en fait c'est le
principe. Ah, il y a d'autres noms aussi, d'accord.
Ouais. Mais si Sylvain Palais était là, il le dirait. Je pense qu'en communication, ce que tu essayes de faire en général, c'est de trouver l'idée
ouais.
que ou n'importe qui se dit ah mais j'aurais dû y penser.
Ouais.
Sauf qu'il n'y a pas forcément pensé lui. Et tu sais qu'une idée est bonne normalement pour ça. C'était le cas pour Bref, c'était le cas pour la bande palestinienne. C'est que le principe au retour qu'on me faisait, c'est ah merde, j'aurais dû y penser avant toi.
Bah, tu sais que c'est bon signe.
Ouais, bah c'est plutôt bon signe. C'est de dire ah j'aurais dû le faire, ouais. tu vois.
Henri Michel, est-ce que tu aurais voulu avoir cette idée de concept de marché parlé?
Mais il peut pas dire non, ça a l'air insultant maintenant.
Non, c'est pas ça, c'est que j'essaie de, c'est pas la même démarche. J'ai écouté le premier épisode, j'ai trouvé super, super intime, très immersif. Et au bout de 20 minutes d'écoute, j'avais l'impression d'être au téléphone avec toi. Et ce qui est drôle, c'est que je connais Bruno de la pire manière qui soit, c'est-à-dire via Twitter.
comme beaucoup
et par le, et par le biais du podcast, vraiment, j'ai découvert différemment le garçon et des, le premier épisode notamment qui est très, très intime et c'était vraiment très impressionnant l'immersion que le format impose. Moi, je le ferai pas parce que c'est pas un format comique, que je fais que des trucs qui c'est à peu près de faire rire.
Il y a des gars qui font des trucs marrants. Hein. Il y a des gars qui font. Il y a Flaubert, par exemple, un mec qui s'appelle Flaubert qui travaille sur Golden Moustache. Lui, il en a fait un ou deux qui sont marrants en fait à écouter. C'est, en fait,
oui, mais je parle
chacun fait ce qu'il a envie de faire, quoi. Moi, je pense, moi, j'adorerais entendre un marché parler de toi parce que j'aimerais bien rentrer dans les. Dans les méandres de ton cerveau. Et
bah, tu entendrais que des cris d'enfants et des crissements de Tourane.
De Volkswagen Tourane. Conduit par les. Caroline, toi, tu es avec nous aussi. Donc, Caroline de La Flasque et la Fume. Toi, tu étais assez intriguée par ce système de marché parlé.
Ouais, moi, j'ai été vachement inspirée par le marché parlé parce que, en fait, ça m'a fait penser à quand Lars von Trier et Winterberg et tous leurs copains un peu.
Ils ont fait le dogme.
Suédois ont fait le dogme. Ils commençaient à se. C'est pas qu'ils s'emmerdaient, mais ils trouvaient qu'il y avait un truc un peu formaté dans le cinéma et un peu lourd au niveau de la technique. Et donc, ils ont fait ce truc-là qui était une unité de temps, une unité de lieu.
Pas d'éclairage artificiel,
pas d'action, de scène d'action. Mm-hmm. Pas de, voilà, un format spécial, tout ça. Et en fait, le marché parlé, ça m'a fait un peu penser à ça. J'ai trouvé qu'il y avait une réutilisation du podcast qui était plus axé sur tout ce qu'il a de libre dans la spatio-temporalité, en fait.
Ouais.
Que ça s'éloignait justement vachement de cette espèce de peur qu'il y a avec le podcast, en tout cas que moi, du coup, j'ai eu avec La Flasque et la Fume, d'être une sorte d'ersatz de la radio un peu.
Ouais.
Et là, c'était quelque chose de complètement, c'est quelque chose de complètement différent. Et donc, ça exploite vraiment les forces du podcast par rapport à la radio qui peut être un peu plus.
Là, tu rejoins un peu ce que disait Henri Michel qui n'est, n'essayons pas de reproduire de la radio. Pour toi, le marché parlé, c'est une manière, enfin, c'est un moyen en tout cas ou un langage qui a été trouvé qui s'en éloigne.
Ouais.
Est-ce que tu es d'accord avec cette idée de dogme ou est-ce que pour toi c'était d'abord un je m'en foutisme total sur la réelle ou est-ce que c'est devenu un langage, une discipline que tu veux t'imposer? Le côté vraiment le casque micro de base, il faut marcher.
Non, ce que ce serait contradictoire de s'imposer quoi que ce soit dans ce type de format. C'est pour ça qu'il n'y a pas de. C'est quand je pense à un truc, je l'enregistre. Si c'est cool, je l'upload. En général, je l'upload quand même. J'essaie de le mettre même.
Ouais, même si c'est pas top comme si on en parlait avec Mickey.
Ouais. Ouais, voilà, parce que le format fait que. Même si c'est pas top, c'est normal, tu vois.
Ouais.
Et quand j'écoute les autres, c'est pareil. Quand j'en écoute un et que bon, le mec, il bégaye un peu, il est un peu fatigué, il dit un truc moins intéressant que d'habitude, je me dis juste, oh bah celui-là était moins intéressant, mais c'est comme un coup de fil, quoi.
Ouais.
Et c'est cool d'ailleurs parce que les gens qui en font en parlent mieux que moi souvent. Et notre ami De Paul qui en fait aussi, dit marcher parler, c'est comme se téléphoner à soi-même.
D'accord.
Il y a un peu ce truc là.
C'est pas mal, ouais.
Ouais. Il y a un peu ce truc là, c'est genre c'est au bout de 5 minutes, t'arrêtes de t'oublies un peu que les gens t'écoutent.
Ouais.
Et donc, on rentre un peu dans ton mécanisme de pensée. Et c'est intéressant de voir que les gens pensent différemment qu'un mec qui a plutôt tendance à faire des blagues tout le temps va plutôt être marrant en faisant un marché parlé qu'un mec qui est vachement dans l'introspection comme De Paul va. T'as l'impression d'écouter une psychanalyse, quoi.
Ouais.
T'as vraiment l'impression qu'à côté de lui, il y a un psy qui dit rien et qui note. Ça. Et quand t'es un peu, t'aimes bien débattre et que t'es tout seul comme moi, tu as tendance à exposer des idées et à défendre un point de vue. Navi, qui en fait aussi, qui est plutôt quelqu'un de bienveillant et qui pense aux autres, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se pose avec une clope et qu'elle regarde les gens dans la rue, elle parle des gens dans la rue. Et donc tu te rends compte que les gens utilisent ce format chacun à leur façon, quoi. Ça te
D'accord.
donne un.
Ouais.
C'est. Enfin, j'ai rarement entendu quelqu'un faire un truc différent de ce qu'il est. Quand il fait un marché parlé.
D'accord. Ben, tu voulais dire quelque chose aussi depuis tout à l'heure ?
Ouais, j'avais une question. En fait, je me disais, est-ce que tu penses que. Parce qu'on parlait de. Enfin, tu disais que tu faisais ton truc et que tu l'uploadais direct, tu fais aucun montage, aucune censure, rien. Est-ce que tu penses que ce format spécial peut excuser tous les dérapages, toutes les. Tu parlais de bégaiement, donc ça, c'est pas grave, mais tu vois, un mec qui va partir dans ses pensées, qui va commencer à parler de trucs un peu tabous ou qui se disent pas forcément. Enfin, tu vois, est-ce que tu penses qu'on peut se dire quoi qu'il dise et quoi qu'il se passe, on peut se dire ouais, mais bon, c'est le format qui veut ça, donc c'est brut,
non,
quoi.
Non, parce que quoi qu'il arrive, c'est toi qui dois assumer d'appuyer sur uploader.
Okay.
C'est-à-dire que si tout d'un coup, tu pars dans ton délire et que pendant 20 minutes, tu dis que les nazis, c'est bien,
On a dit que c'était l'État islamique, Bruno. Ouais, faut tu dérives là.
Et que tu dis vive Daesh.
Ah voilà.
Et voilà, ouais. Tu vois. Et que tu dis ils ont eu vraiment raison. Tu vois.
Mais si tu sais que le mec il assume par exemple.
Au moment où t'appuies sur. Non mais s'il assume, il assume. Moi je suis pour l'expression. Chacun s'exprime. Mais si à un moment tu sais que t'as dit de la merde et que tu l'uploades. C'est à toi d'assumer. Tu peux pas dire ah non, bah c'est un marché parlé.
Alors, non mais toi en tant qu'auditeur, si tu vois que le mec il part en vrille et que tu dis toi c'est un peu chaud là, tu dis ouais mais bon c'est le format, il est le gars est non, nature bah, donc ok.
Je dis non, je me dis ce format c'est vraiment du génie pur. Je pense que le mec qui a créé ce format est vraiment intelligent. Dommage que des gens disent de la merde dedans. Quoi.
C'est mal exploité.
Non mais tu vois, je veux dire, si tu tombes sur un blog tu tombes sur F de Souche, tu te dis pas putain les blogs c'est vraiment de la merde.
Non, mais je parlais surtout du format, genre vraiment brut de décoffrage, ouais, sans montage, sans rien. Est-ce que du coup, c'est pas un peu.
Ouais, non, parce que c'est enregistré. Je pense que je pardonnerais plus un Periscope,
okay.
Voire un Snapchat, allez, un peu tendancieux, que là, en fait, c'est enregistré. Tu sais que tu vas le mettre pour toujours en ligne. Enfin,
ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, entre le direct et le diffé, il y a une petite différence de responsabilisation.
Mais oui, c'est ça. Pour moi, on peut. Mais c'est pareil à la télé. On pardonnera plus facilement un dérapage en direct, oui. En disant ouais, mais le gars, il était fatigué. Il fait une émission. Il en était qu'au mois de janvier, tu vois.
Mais est-ce que du coup, s'il y a du montage, c'est encore un marché parlé ou pas?
Après, moi, chacun fait ce qu'il veut. Pour moi, marché parlé, ce qui est cool, c'est d'entendre les bruits autour, et de pas le monter et d'assumer le moment relou où tu mets le kit oreillette, t'appuies sur enregistrer, tu fais voilà, bonjour à tous. Bon, bah, marché parlé, voilà.
Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que tu reviens sur un point qu'Henri a soulevé. Ce qui est très fort dans marché parlé, dans la sensation, c'est qu'effectivement, on est vraiment embarqué avec toi. On entend le frottement des vêtements, les fils d'écouteurs contre le visage. On entend la respiration quand la personne marche un peu trop vite, etc.
Mais c'est marrant, d'ailleurs, les gens sont souvent essoufflés parce qu'en fait, t'es assez essoufflé quand tu parles en marchant.
Ouais.
Et puis, c'est très parisien, je trouve aussi.
C'est-à-dire.
Non mais c'est vrai. C'était gratuit. À la rue et au déplacement, quand il dit, moi j'ai halluciné le premier épisode où il dit, bon je fais mon trajet pour le travail, il y a 45 minutes de marche. Déjà je suis tombé de ma chaise. Et le rapport au trottoir, aux voitures, etc. Et il y a un peu de Paris aussi dans ce programme.
Tu feras un tour à Paris, toi?
Pardon?
Tu feras un tour à Paris. Bah,
ça va durer 10 minutes les émissions. Hein, c'est des petits trajets dans le coin. Hein.
Mais je crois qu'il y a des gars qui le font, hein, qui font rouler parler quand ils sont en voiture, ils s'enregistrent.
C'est exactement ce que j'allais dire. Il y a des Américains.
Sylvain qui vient d'arriver.
Ouais, je viens d'arriver. Je devais être normalement sur. Je viens de regarder le fichier Excel. Je devais être là-dessus normalement. Donc je débarque. Vous en avez peut-être parlé.
L'organisation 404.
mais effectivement, il y a des Américains qui se calent une GoPro ou leur téléphone en face de la gueule pendant qu'ils sont en train de conduire 30 minutes pour aller au boulot et qui font des podcasts comme ça. Et il y a des podcasteurs super connus américains qui ont commencé comme ça, quoi.
Fibre.
C'est un peu du Snapchat.
Non.
Non, mais il y a un côté selfie audio. Selfie mais audio. Sauf que ce que dit Bruno, c'est vrai, c'est que ça triche pas, alors que le selfie visuel, Dieu sait qu'il peut tricher.
Caroline.
Ça fait un peu penser à la minute de solitude de Pascal Clark qu'elle donnait à la fin de ses.
De Rebecca Manzoni,
ouais. Pardon. Ouais. Et en fait, est-ce que à un moment, c'est pas comme une auto-interview un peu?
Ouais, c'est ça un petit peu. Mais en fait, ça dépend des gens.
C'est ce qu'il disait, je crois.
Moi, ça ressemble à une auto-interview parce que j'aime bien réfléchir à voix haute et parler avec moi-même et me contredire et contredire les autres et contredire le monde. Et puis, il y a d'autres gens où ça va être beaucoup plus... Ça dépend des gens, ouais. Et c'est ce que je trouve cool, c'est que c'est propre à chacun. Je pense que personne ne fera le même...
Ouais, ce qui sera intéressant, c'est qu'on invite la plupart des gens qui sont là ce soir à tester chacun... Un marché parlé à sa manière. Fibre,
je suis chaud. Un marché parlé de Fibre, il m'a dit non. Je lui ai déjà dit.
Bah, Fibre, ce qui est marrant, c'est que Fibre, enfin, encore une fois, c'est un Snapchat, donc c'est plus monté. Mais Fibre, c'est des Snapchats qui ressemblent presque à des marchés parlés.
Mais oui,
qui sont vraiment
il fait
très
des Snapchats où il se filme en train de parler et c'est genre 10 secondes en 10 secondes, il raconte un truc pendant une heure. Fait un marché parlé, mon gars.
Je dirais plutôt faire un réseau social de tes marchés parlés, mais bon, on en reparlera. Juste faire une conférence.
Ça, c'est parce que pour moi, j'ai pas du tout envie de le formaliser. En fait, pour moi, c'est important de pas du tout dire bonjour, je suis le mec. En fait, il y a des gens qui font des marchés parlés. Parce que Bidule en a fait un et c'est pas du tout moi, il s'en fout que ce soit moi au départ. Et je veux pas dire bonjour, je suis le grand prêtre du marché parlé.
On aurait pu te présenter Marché Parléo, hein, une start-up française de marché parlé.
Petite confession de 2h du matin, puisqu'il faut quand même rappeler la réalité.
Mais c'est pas grave, parce qu'officiellement on est en vacances, on est chez nos parents, c'est le 25 voilà. Décembre. Hein.
Ouais, j'ai fait une série de marché parlé, de fiction.
Ah ouais?
En juillet dernier.
Tu nous as caché ça?
Pour séduire une jeune fille.
Avant que le mien existe.
Ouais, mais c'était de fiction. C'est-à-dire en fait.
Je veux dire, c'était pas un marché parlé. Tu dis, ça ressemblait à un marché parlé.
Ça marchait pas vrai.
Le concept, c'était, je lui laissais un message sur son téléphone.
Genre salut, je fais ça aujourd'hui et je raconte un truc fou, genre je suis en mission, je suis en Bosnie, blablabla. Et donc c'était à chaque fois des histoires folles qui fait que je pouvais jamais la retrouver, voilà. Donc c'est marrant parce que j'ai publié sur SoundCloud sur un faux nom, vous trouverez jamais, cherchez pas.
Fibre. Et Fibre, on découvre tous les jours des nouveaux trucs qu'il a fait, quoi.
Non, et ce qui est cool, c'est que j'ai fait un podcast donc où il y a eu un auditeur. Voilà. Mais c'était exprès.
Mais c'est marrant parce que moi j'ai une pote qui m'a dit moi je fais des marchés parlés pour une pote. Elle est à Paris.
Ah c'est marrant
pote,
ça.
Elle a une pote qui est à New York.
Que des marchés parlés privés que t'envoies carrément. Voilà.
Navi et Pénélope en fait s'envoient des marchés parlés pour se donner de nouvelles l'une de l'autre parce qu'elles se sont rendues compte que c'était cool de parler pendant un quart d'heure en se baladant et de dire ouais là je suis à Broadway.
T'as créé un réseau social en fait.
Bah ouais mais qui est un peu unilatéral quoi.
Mais on en parlait aussi tout à l'heure en off avec Bruno, c'était que en fait ce format là tu peux le faire pour toi tout seul aussi.
Parce que comme un journal intime, une sorte de log.
C'était que à force de parler tout seul et à laisser un message super long sur ton propre répondeur, tu laisses un moment filer tes pensées et tu t'exprimes ta pensée plus que tu réfléchis à ce que tu dis.
Ouais.
Et pour faire développer des idées, des choses comme ça, je pense que ça peut être très intéressant. On peut les vendre en mode startup, design thinking. Ouais, il y a un business
model. Le marché palais.
Le marché palais. Oh, depuis tout à l'heure.
Ok, je le prends, c'est gagné.
Depuis tout à l'heure, il y a Henri Michel qui a bout de force dans sa cave de Cannes. Il fait putain, il faut que je la sorte. Et après, je meurs la tête haute, quoi. Je pars comme un prince. J'ai une toute dernière question, mais qui est là. Très bête, mais qui me turlupine depuis le tout premier. Alors, effectivement, Daesh, est-ce que. Non. Est-ce que t'as l'air d'un con quand tu fais un marché parlé? Genre, quelqu'un qui te croit, c'est
non,
bon alors.
J'en pense que tu téléphones.
Ah ouais?
Bah ouais.
D'accord. Mais à un moment,
déjà, t'es à Paris, donc personne te regarde.
Ouais. Mais imagine un moment, t'es sur le trottoir où t'es avec quelqu'un qui est à peu près à la même vitesse que toi, et t'entends dire, oui, mais moi, ce que je pense, c'est que la politique, machin, et puis, Daesh, ouais, voilà, il est sioniste, d'un autre côté.
Vraiment,
tu parles, les mecs, ça fait une demi-heure qu'ils te suivent, mais je dis, mais ce mec, c'est un ouf, en fait, non?
Non, parce qu'il y a jamais personne qui te suit pendant une demi-heure.
Ouais, mais pourtant on est à Paris, tu sais.
Ça, bah ouais, mais non, en fait c'est juste tu croises des gens.
Donc personne t'a jamais vraiment surpris en enregistrement.
Tu ressembles à un gars au téléphone, quoi.
Ouais.
Mais
ouais,
du. Moi, ce problème avec Snapchat. Ouais, c'est ce que parce que je tiens le téléphone, je parle, ouais. Tu vois. En plus, des fois, je leur fais deux fois le même message parce que ça va passer le premier. Vraiment, j'ai l'air d'un con. Non, les gens me regardent.
Non, moi, j'ai un kit main libre près de la bouche et ils se disent, bon, bah, il est en train de parler à quelqu'un qui écoute vraiment attentivement parce qu'il ne comprend pas.
Parce que du coup, il parle depuis 15 minutes. Très bien. Bon, en tout cas, j'espère que ce sera marrant qu'on teste tous un marché parlé, voir comment chacun le fait. On fait quoi? On le publie après sur ton SoundCloud, on publie chacun de notre côté. Il y a des.
Là, les gens font ce qu'ils veulent. Il y a pas de. Bah, tu peux mettre hashtag marché parlé, mais c'est même pas obligé, quoi.
Moi, je mettrais le hashtag choqué et déçu.
Choqué et déçu. Tu peux le faire. Choqué et déçu.
Henri, tu nous en feras un petit ou pas?
Ouais, mais je sais pas où le caler. Enfin, ne répondez pas en trois lettres, mais je saurais pas trop où le mettre, quoi.
Bah, pendant que t'emmènes tes enfants à l'école, je sais pas, un truc comme ça, non?
Non, mais le mettre où? Sur SoundCloud, sur Riviera Détente.
Je veux dire, t'es un peu sur SoundCloud, t'es sur YouTube, t'es sur Twitch, t'es sur Twitter.
Ouais, je vais le faire, je pense que c'est Michel.
Tu trouverais de la place quelque part.
Je pense que t'as 2-3 comptes, Henri.
Ouais, 2-3. Ouais.
Merci en tout cas, Bruno. On peut applaudir Bruno et Caroline et Henri Michel. C'était très intéressant et je pense que, effectivement, ça va devenir viral. Allez, on attaque le mois de novembre.
Novembre, lorsque l'actualité dépasse votre thématique.
Nous voici au mois de novembre, on a quitté Navo et son marché parlé. Le running gag de Navo étant Daesh, on a beaucoup rigolé. Et là, on va du coup en parler de la manière moins marrante, puisqu'en novembre, évidemment, on a tous connu les affreux attentats du 13 novembre qui ont frappé Paris et sa banlieue. Et au studio 404, on a fait une émission, on s'est beaucoup posé la question, et on a finalement fait une émission sur les attentats. On parlait des attentats en essayant de garder en même temps la ligne éditoriale de l'émission qui sont les comportements, les névroses et ce qui se passe en fait dans l'utilisateur sur le numérique et avec les attentats. Donc on a réussi avec plus ou moins de bonheur, vous me confirmerez cher chroniqueur, à marier les deux choses, c'est-à-dire garder notre ligne éditoriale et notre thématique et parler de ce qui était inévitable. Et je voulais savoir, est-ce que vous pensez qu'on peut esquiver ce genre de choses lorsqu'il se passe quelque chose de vraiment énorme? Que ce soit quelque chose de joyeux comme une finale de Coupe du Monde ou quelque chose de malheureux comme un attentat ou un accident très grave, est-ce qu'on peut, quand on est une émission thématique, s'en tenir à ça ou est-ce qu'on est quand même un minimum rattaché à la vie?
Bah, ce Mélissa. Mois-ci, on réussit quand même à éviter Star Wars.
Ouais.
J'aurais dit le mot, voilà.
Ike de Comics Podcast qui applaudit.
Je déteste Star Wars.
Ah là là là.
Moi aussi, j'en ai... enfin, c'est vrai que je déteste, c'est que j'en ai rien à foutre.
Et bah, c'est marrant, j'ai fait une intro spéciale Star Wars à la base que j'ai pas faite.
Ouais. Et bah voilà, on a réussi à éviter ça. C'était soi-disant un gros sujet en fait, non.
Mais est-ce que c'est un sujet inévitable comme les attentats ont été un sujet inévitable
non.
par exemple
mais non, non, mais non, ça n'est pas du tout.
C'est un sujet inévitable, c'est un sujet opportuniste.
Ouais, c'est Disney qui l'a imposé quoi.
Donc là, on fait la différence entre sujet opportuniste.
Le capitalisme, là, c'est ça qu'on est en train de faire. Ouais, il est 2h du mat. Ouais. Ok. Ouais.
Mais là, on fait une différenciation entre sujet, comme disait Sylvain, opportuniste et sujet inévitable. Il y en a 20 qui était vraiment de ressort national, fibre.
Moi, j'ai un proverbe personnel qui dit.
J'ai peur.
Bah, les couilles, quand ça se passe pas en bas de chez moi.
presque. C'est les Twin Towers en beau s'écrouler. Faut bien nourrir les poissons rouges le soir. Oh, c'est-à-dire que.
Eh ben, tu sais quoi, Das, t'avais raison. Tu savais ce qu'il allait
on
dire.
Pas loin, hein.
Eh oui, non, mais
non,
oui.
Mais à un moment, il a percé ma pensée. Il a tout compris de moi. Non, mais moi, j'étais prêt pour l'émission de novembre de Studio 404 qui a traité majoritairement des attentats à parler de ma chronique Snapchat. elle sera là pour janvier. Puisqu'on va décembre aussi, on n'a pas fait une émission, donc tant pis.
Vous rappelle que Fibre, c'est le mec qui a fait la chronique sur le fait que le deuil, il connaissait pas vraiment.
Non,
ça rapporte.
Non, d'une façon générale, quand je me sens pas trop compétent dans un sujet,
ouais.
J'essaie de pas trop en parler de façon sérieuse et approfondie. Et les attentats, je me sentais pas trop légitime d'en parler. Moi, on aurait fait une autre émission sur n'importe quoi d'autre, j'aurais été hyper à l'aise dans mes baskets.
Voilà. D'accord. Henri,
Henri
Michel.
Sur les attentats, il y a aussi une citation de Louis C.K. qui est magnifique, qui dit que la probité d'un homme se mesurait au temps qu'il lui a fallu pour se remettre à se masturber après le 11 septembre.
Oui.
Et lui dit, je l'ai fait entre la chute de la première et de la deuxième tour.
Et ce qui est très marrant, c'était que Sarah Silverman, qui est aussi une comique stand-upeuse américaine, avait fait un tweet qui avait fait scandale à l'époque, qui était « La masturbation n'est qu'une question de focus, hashtag 9-11 », c'était pour fêter les 5 ans ou les 6 ans de la chute des tours et qu'elle arrivait aussi à se masturber. Mais eux, ils arrivent à faire de l'humour, noir ou pas, Bruno arrive à faire de l'humour là-dessus. Est-ce que, lorsque vous avez d'autres sujets, vous arrivez à ne pas en parler? Par exemple, Alvin, vous, sur votre podcast, est-ce que vous pouvez parler de jeux vidéo innocemment ou est-ce que vous dites c'est indécent à ce moment-là?
Dans Pas Ceci, que ça s'est pas présenté parce que l'actu jeux vidéo, effectivement, on en glisse un mot au début d'émission et on attaque direct derrière. Le truc, c'est que je fais un autre podcast qui est aussi en direct, qui s'appelle TVNR, qui parle de télé, et qu'on a diffusé, donc on a fait en direct le 15, donc vraiment 2 jours après.
Ouais.
On parle de médias, nous on ne pouvait pas y échapper, on devait faire. Mais c'est vrai que la question s'est posée de est-ce qu'on a eu l'émission, est-ce qu'on diffuse l'émission de secours parce qu'on a une émission de secours qui est déconnectée de l'actu pour dans ce genre de situation-là. Ah, et au final,
vous avez une émission de secours.
On a quand même, on n'est jamais à l'abri de les chroniqueurs sont pas disponibles et tout ça. Et donc on a une émission de secours. Mais c'est vrai que là à ce moment-là, on s'est dit on a envie d'en parler. Et c'est vrai qu'on a commencé l'émission en étant tous déprimés et à la fin on était quand même très heureux d'avoir exorciser ça et d'avoir pu en parler, de débriefer un petit peu ça, même si c'est dramatique de débriefer un attentat, on débriefe pas un attentat, mais de pouvoir en parler.
De débriefer vous vos sentiments,
exactement, voilà, de pouvoir aussi sentir les auditeurs, on avait un petit peu besoin, les auditeurs étaient un peu heureux de dire bon, au moins après on a fait une demi-heure sur les attentats, puis on a fait l'émission normale, on a rigolé, on a trollé sur la télé et tout le monde était assez heureux, donc on peut pas éviter le sujet quand on est collé à l'actu. Il faut pas s'en interdire. Je pense que les gens, nous aussi, savent qu'on est des humains et attendent qu'on réagisse si on a des choses à dire sur les attentats. Il se trouve qu'on était 3 personnes à habiter le 11e dans le podcast. Donc oui, forcément, on avait envie d'en parler. Ouais. Et tout le monde en était assez heureux. Donc je pense pas qu'il faut s'en interdire.
Mais même sans être collé à l'actu, en fait. Nous, justement, on l'est pas trop. Et c'était vital qu'on en discute. Il faut exorciser. C'est normal, quoi. Enfin, vraiment.
Mais est-ce que ça pouvait rester dans la sphère privée ou est-ce que c'était quelque chose qui était important d'être exprimé dans un podcast?
Je pense que ça aurait été même indécent de faire comme si c'était rien passé, de dérouler notre programme standard, en fait.
Ouais.
Moi, ça me paraît pas possible de faire comme si c'était rien passé. C'est ça qui est bizarre. Ça ferait bizarre pour tout le monde, je pense.
Je vois pas où est l'indécence parce que.
Parce que Fip, tu vois pas du tout où est l'indécence nulle part, en fait.
Parce que pour ça, il faut une race.
Non, laissez-moi terminer. Je ne vois pas où est l'indécence parce que les podcasts ont vocation à être écoutés dans 2 ans ou 3 ans.
Oui, mais ils s'inscrivent dans une période de temps quand même qui est
une grosse temporalité.
Moi, par exemple, souvenez-vous, est-ce que vous vous souvenez de l'actualité de mai dernier, de même des sujets de podcast?
Non, mais après, c'est vrai qu'on était en septembre.
C'est vrai que Fibre, il a raison aussi de dire ça parce qu'il découvre Snapchat en décembre 2015. Tu vois. Donc forcément, déjà, il brouille les cartes un petit peu, il brouille les pistes.
Mais pour les gens qui ont un cœur, je trouve que c'est super important en fait d'en parler. Et je trouve qu'on s'est, en plus, parce que là il est 2h du matin, donc ça risque de drifter. Ouais. Mais je trouve que l'émission de A à Z a été tenue sur les attentats. L'émission de novembre a été tenue de main de maître. Voilà.
On a eu des bons retours et les gens ont même dit ça nous a fait du bien de l'écouter.
Ouais, mais je pense qu'on rejoint ce que disait Alvin, c'est qu'à un moment fallait juste, il y avait un besoin d'en parler. Ike, comment tu as géré ça, toi qui as un podcast qui est du coup 100% culturel,
voilà,
sur de la fiction,
une personne très mauvaise. Ouais. Mais du coup on a enregistré deux jours avant.
Rappel pour Comics Outcast.
Voilà, hein. Nous on parle vraiment exclusivement d'actualité comics. On ne parle vraiment pas du reste du monde. Et du coup, on a enregistré deux jours avant. L'émission était programmée pour le lundi suivant. Je me suis demandé, est-ce qu'il faut que je retire l'épisode qui ne parlait ni d'explosion ni, enfin, elle n'est pas indécente en soi. Je me suis dit, c'est un divertissement.
C'est différent. Voilà. T'as enregistré avant, donc là.
Voilà, c'était enregistré avant et surtout, enfin.
Mais est-ce que t'as rajouté un avertissement, par exemple? Je me rappelle que
ou un message.
Oui, il y a des trucs où il disait cette émission a été enregistrée avant.
Par exemple, enfin, la métaphore est un peu tirée par les cheveux, mais lorsque Patrick Roy est mort, ils ont diffusé des émissions de Juste Prix après, qui étaient avec Philippe Risoli, mais qui du coup était pré-enregistré sans avertissement.
Plus récent encore, ils passaient La France un incroyable talent.
Ouais.
Juste après les attentats.
Oui, il le disait, il y a un bandeau.
Cette émission a été enregistrée il y a deux semaines. Voilà.
Alors, on a fait un petit tour des podcasts. On a avec nous Angie, qui est notre voix. Tous les meilleurs jingles de France sont faits par Angie. Mais tu travailles, t'es une animatrice professionnelle à la radio.
Professionnelle.
Ouais. Professionnelle.
Mais du coup, ouais.
Comment tu gères?
Non, mais déjà, c'est du vrai direct. Donc, il n'y a pas la. Enfin, c'est pas du podcast qui est enregistré et ensuite diffusé. Donc, comme disait Navo tout à l'heure, qu'on met en air ou pas, c'est en fonction de ce qu'on a envie de faire. Donc, moi, j'étais à l'antenne au moment des attentats.
Et justement, comment tu gères à ce moment-là?
Déjà, j'ai mis du temps un peu à comprendre ce qui se passait parce que voilà, ça commençait vers 21h45, je crois.
Ouais, 21h30, quelque chose comme ça, ouais.
Et j'ai réalisé réellement qu'on était, voilà, que c'était dramatique vers 22h30. Donc, tout de suite, moi, j'appelle mon directeur d'antenne parce que j'ai une émission de dédicace avec des gens qui appellent en
donc
disant.
Donc, une émission plutôt légère, bonne ambiance, bonne humeur.
C'est essentiellement de la musique et de temps en temps, des gens qui appellent pour laisser un petit message. Salut, bon anniversaire à Tati. Truc, machin. Donc c'est vraiment très léger et je me suis dit, est-ce que là, vraiment, maintenant, il faut passer de ces dédicaces? Et en même temps, moi, c'est pas mon rôle d'informer et donc on a arrêté les dédicaces parce que ça avait plus de sens. En revanche, j'en ai pas parlé parce que je pense que les gens et tous les jours qu'on suivit, on n'en a pas parlé directement à l'antenne sauf dans les mornings parce que forcément, il y a de l'info.
La morning, c'est plus actu, ouais.
Et on n'en a pas parlé parce que les gens ont été abreuvés, que ce soit à la télé ou à la radio, dans tous les sens, on en a eu partout. Donc, on était un peu la bulle d'oxygène que les gens pouvaient avoir.
Et personne ne vous a critiqué en disant « mais c'est de l'indécence, vous ne devriez pas rester léger ou joyeux ou rester même sur votre routine
?» Non, pas du tout.
D'accord.
C'est l'émission de dédicace, donc des auditeurs appellent, puis parfois des auditeurs n'appellent pas, donc c'est nous qui allons les chercher.
Ouais.
Voilà. J'ai déjà vécu cette situation.
L'envers du décor. Et le fameux lundi, donc mon directeur d'antenne m'avait dit non, on fait pas de dédicace pendant une semaine parce qu'on peut pas revenir tout de suite avec de la légèreté, donc on va faire juste de la musique. Et ce jour-là, il y a eu 5 appels d'auditeurs qui avaient envie de parler et de dire des choses.
Ah, donc on se rejoint tous à ce moment-là, c'est qu'il y avait un besoin de...
Ouais, les gens avaient vraiment besoin de parler et moi j'avais dit à mon directeur, non mais je pense qu'il faut laisser les gens s'exprimer et ils ont besoin de dire des choses, de se réunir, de... Et puis de
la faute des Arabes.
Non, non mais après, on choisit.
Je vais déguiser cette chanson de Khaled pour dire que bon. Henri Michel.
Ouais, il y a juste une petite anecdote touchante. Tu parlais des dédicaces. J'ai une petite marotte, c'est d'écouter les radios d'outre-mer. Je rentre pas dans les détails, mais les radios d'outre-mer, Réunion, Martinique, Guadeloupe. Non, mais ce qui était très touchant le jour des attentats, c'est que les antennes aussi là-bas étaient occupées par une vraie tristesse des gens. Et que c'était très touchant, alors qu'ils sont pas confrontés directement à ce terrorisme, de voir qu'il y avait une tristesse vraiment de la nation, et que c'était particulièrement touchant. Au plus, les gens sont éloignés, au plus ils partageaient une tristesse, alors qu'ils n'étaient pas frontalement menacés par le terrorisme. Ils étaient vraiment tristes pour la France. Et c'était vraiment très émouvant aussi, quoi, au niveau des dédicaces et de la manière dont les gens avaient besoin de s'exprimer, quoi.
Est-ce que toi, qui fait du contenu un peu burlesque, rigolo, etc., est-ce que du coup, tu t'es senti déplacé à en faire?
Non, au contraire, j'ai précipité le projet Riviera Détente à cause de ça.
Ah ouais, carrément.
Autant mon émission de gaming, j'ai eu beaucoup de mal à me remettre à GTA et la Kalash. Vraiment, les armes liées aux attentats de Charlie. Non, mais c'est vrai, hein. Ouais, c'est vrai. J'ai eu beaucoup de mal à m'y remettre et j'ai joué pas mal à des jeux à la con en attendant que le deuil se passe. Autant là, je me suis précipité pour donner de la joie gratuite, bas du front et
à 4000 personnes.
À 4000 personnes.
À 4000 personnes.
À 4000. Bah, même si c'est 4000, ça faisait 4000 contents.
Fibre.
Une petite parenthèse, je sais pas si ça rentre dans le cadre de l'émission, mais dans le dernier Canard
PC. Je sens que ça n'a rien à voir.
Non, si, dans le dernier Canard PC, c'est, ils ont une rédaction qui a plutôt tendance à aimer les FPS, on va dire, de haut niveau. Donc, ouais. des jeux de tir. Eh bien, il commence une critique. Alors, je sais plus de quel FPS, mais il dit, bon, là, c'est un peu lourd de parler de jeux où on se tue la Kalash. Dans ce contexte, c'est difficile, mais je vais quand même vous en parler parce que c'est l'actualité. Et effectivement, c'est la grande période, mais eux-mêmes, ils étaient affectés, par le contexte. Voilà.
D'accord. Ouais,
Sylvain, c'est une question que je voulais poser aux podcasteurs jeux vidéo. C'est est-ce que quand il se passe quelque chose comme ça et qu'il y a Battlefield 5 qui sort,
et les raccourcis de certains pour dire est-ce que les jeux vidéo violents ?
Est-ce que toi qui dois traiter l'actu du jeu vidéo, est-ce que tu le fais quand même ou est-ce que tu te dis bah du coup je vais pas le traiter et je le garde pour plus tard ?
Alvin ou Coco,
on en traite différemment, mais ne serait-ce que par exemple, typiquement, toutes les pubs pour Call of Duty et tous les FPS de fin d'année ont été annulés. C'est-à-dire qu'on voit quand même qu'il y a une réaction derrière, les gens sont pas complètement débiles, et on prend la distance, enfin, on annule ça, ça n'a pas de sens dans les événements. Après, bien sûr, on prend du recul. Moi, j'ai joué à MGS5, genre 3 jours après les attentats. C'était pas la meilleure idée de ma vie. Effectivement, la fusillade au début, je l'ai un peu mal vécu. Mais, malheureusement, après, oui, c'est un produit comme un autre et on essaie, sinon, peut-être pas de le mettre en avant de la même façon. Mais après, oui, on a une vocation à en parler, donc on en parle, mais peut-être avec un peu plus, en faisant un peu plus attention. Bien sûr qu'effectivement, on va peut-être faire moins de vannes sur Counter en ce moment qu'on l'aurait fait avec légèreté avant de voir ce que c'est que des fusillades en vrai. C'est vrai que c'est pas marrant.
Je pense que c'est des débats qui se posent à la fois sur jeux vidéo que sur le cinéma. Il y a aussi des films qui ont arrêté leur campagne suite aux attentats de novembre. Et en ce qui concerne le jeu vidéo, ça ne nous empêche pas de parler d'autres jeux qui parlent pas forcément de violence, qui sont pas forcément violents.
Est-ce que c'est une manière indirecte, du coup, de changer votre ligne éditoriale? Justement, c'est pas de parler des attentats, mais du coup de parler d'un certain type de jeu dont vous parleriez pas normalement.
Comme disait Alvin, certains éditeurs qui justement produisent des jeux un peu violents ont arrêté leur campagne et ça fait partie de l'actu, donc on en parle. En l'occurrence, il me semble pas que cette semaine-là on en ait parlé puisqu'il me semble que ça s'est fait un petit peu après. Mais en ce qui nous concerne, on n'a pas vraiment changé notre ligne éditoriale puisqu'elle n'a pas été directement, elle n'était pas choquante par rapport à ce qui s'était passé dans les événements. Mais je pense que si ça avait été le cas, on aurait eu une réflexion éditoriale un peu différente. En l'occurrence, ça n'a pas été le cas puisque il me semblait pas que l'actu était particulièrement
toutes les grosses sorties avaient eu lieu avant. Call of voilà. serait sorti le même jour. Là, on aurait été très gêné et là, on serait posé la question.
Et en l'occurrence, si des jeux non violents sortent, bah on en parle. C'est pas un problème. Ça ne fait pas partie de l'actu.
Saga 4, par exemple.
Exactement. Non, mais en novembre, il y avait quoi ? Il y avait
tous les AAA quoi.
Tous les AAA étaient déjà sortis quasiment.
Tu vois, arrêter de parler de Fallout par rapport aux attentats, ça n'avait pas beaucoup de sens puisque Fallout parle d'une autre circonstance, d'un autre contexte. Après, ça n'empêche pas de mettre à la fin de l'émission un petit message. Allez, courage.
Il y a un chien loup, ça m'a fait penser à Diesel.
Ouais, moi aussi, c'est vrai. Et par exemple, est-ce que vous auriez parlé de Fallout après Fukushima ?
Ah ben bah, tu vois, c'est une bonne question ça. Et ça je sais pas.
J'ai l'impression que Fukushima c'était un événement qui a moins touché la France parce que encore
ouais,
une fois.
C'est absolument vrai.
Enfin comme dirait pas Louis C.K., on parle aussi de la distance.
C'était plus un accident nucléaire alors que ça a été à la frontière.
C'était plus un accident nucléaire alors que l'occurrence Fallout c'est une guerre nucléaire, donc encore une fois c'est.
C'est
bon alors.
Non c'est pas alors, que c'est bon mais. Là, on parle d'intention et d'événements qui arrivent. Donc, en l'occurrence, si on avait un jeu sur, je sais pas, un commando qui commet des attentats contre un régime, j'en sais rien, on n'en aurait certainement pas parlé.
J'ai un dernier point pour finir sur ce mois. Et pour revenir encore une fois à Bruno, donc Bruno Muchaud de Marché Parler, qui est très ouvert au débat libre, 100% libre d'expression. Qu'est-ce qui se passerait est-ce que vous pensez qu'un des podcasts ou des gens pourraient se permettre de parler très frontalement de la chose sans pudeur, sans rien? Est-ce que c'est quelque chose qui vous choquerait ou est-ce que le fait que ce soit un podcast exemple comme Marché Parler avec beaucoup moins de filtres, et le charme de ça c'est qu'on entend des gens qui parlent vraiment de manière non réfléchie, très vraie, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui vous choquerait? Il y aura un devoir de décence ou si c'était un podcast de 6 places, ça passerait mieux?
Moi perso, je suis pas choqué quand c'est vraiment du freestyle.
D'accord.
C'est-à-dire que si quelqu'un dit un truc d'odieux, mais que c'est finalement dans un flux de mots
et qu'il y a rien, il y a pas de calcul, etc. J'ai pas trop de problèmes. J'ai plus de problèmes avec des trucs qui peuvent partir en sucette, alors que là l'émission est un peu écrite, préparée, etc. Là ouais, là ça me dérange. Mais ouais. Marcher parler, bon, c'est des Gaulmont qui marchent dans la rue et qui discutent, tu vois, je veux dire. Ils font pas de mal, quoi.
Bruno, si tu nous écoutes. Alvin.
Je pense, à moins
que. Tu pourrais écouter ce genre de choses ou tu dirais non, ça se fait pas.
Je sais même pas. Je pense qu'on a tous une réaction différente, tous portés par l'émotion. Je pense pas qu'on, dans les jours qu'on suivit l'attentat, déjà les gens en parlaient, c'était bien. On n'était pas là à faire des procès à, oh, lui, il en a mal parlé et tout. On était déjà tellement
non, mais
sous
là,
le choc.
Là, la question c'était vraiment, vraiment plus.
Il y a eu des procès quand même, hein.
Ah, sur Twitter.
Non, mais la question c'était vraiment plus de savoir si des podcasts. Comme on a pu le voir à travers Henri Michel ou Bruno, qui sont vraiment beaucoup plus ouverts, bruts de décoffrage, sans forme de censure, sans forcément aller chercher dans la provocation, mais ce sont des entités de contenu qui peuvent passer, ou c'est quelque chose qui doit se plier comme n'importe quelle grosse émission, comme disait Angie, à une forme de décence et d'autocensure.
Ça peut passer à partir du moment où les gens laissent parler leur émotion dans un moment qui, une émotion qui traverse la France. On peut pas leur en vouloir, on peut pas leur reprocher de s'exprimer. C'est quelque chose quand même. On a tous eu besoin un peu de l'accoucher quand même, ce qu'on a ressenti, ce traumatisme qu'on a eu là. Quelle que soit la façon de faire, on regarde après. Mais je pense qu'à ce moment-là, de toute façon, quel que soit le podcast qui soit sorti dans la semaine suivant les attentats, personne n'est venu faire un procès en disant de ah oh, lui il aurait pas dû dire ça machin. Les gens ont envie d'en parler. Si tu as la force de faire un podcast derrière pour en parler, parle-en et c'est tout. Et c'est ça qui est important.
Très bien, Fibre. Pour finir.
C'est une question très complexe qui va être difficile à formuler à 2 heures du
matin. On a dit qu'on finissait Fibre.
D'accord, non.
Fibre, il est compliqué, je sais pas. Bon.
Non, ok. Alors. Rapidement.
Rapidement. Tu me mens.
Le podcast, c'est quelque chose qui est aujourd'hui, en général, assez formaté.
Ouais.
D'accord. On est un petit peu dans, on essaie de reproduire l'émission qu'on écoutait à la radio quand
mais
on
non,
était petit.
Non, mais justement, petit. Là, je te parle oui, de podcast brut de décoffrage.
Oui. Et il me semble que le format du futur, d'ici quelques années, ce sera effectivement comme on va de la vidéo vers Twitch, ce sera vers un format à marché parlé, très franc, très cash, et ça sera très bien. Voilà, pour moi, ce sera quelque chose de positif, même si on tient des propos frontales, durs. Au contraire, ça va faire du bien parce qu'on va exorciser d'une certaine façon. De même qu'il y a des mecs qui tiennent des propos odieux sur Twitter, parfois, bah, c'est une soupape de décompression pour certains, et parfois, c'est une soupape de décompression parce qu'on peut leur taper dessus. Voilà.
Ça s'appelle le psy.
Ah, j'allais dire, ça s'appelle Periscope, mais bon, c'est à peu près pareil.
Moi, ça me ferait autant, ça me fait autant chier que peuvent me faire chier des mecs bourrés au comptoir. Qui sont en train de parler de ces sujets-là, quoi.
D'accord.
Ça me concerne pas, et si ça me fait chier, je coupe. Et si j'avais écouté cette émission de marché parler et que j'étais pas d'accord avec ce qu'il disait, ben j'aurais coupé.
Je pense que d'un point de vue des podcasts, la structure elle-même du podcast, qui est tenue également par l'animateur, est importante et que il doit y avoir une espèce de retour à la réalité, d'une retour à la neutralité qui doit être tenue par la personne qui tient le podcast et de dire, il vient d'être dit ça, mais il y a d'autres gens qui pensent autrement, et c'est également important.
Ouais, mais sur marché parlé, les mecs sont tout seuls, tu vois. Donc,
oui, bien sûr.
Ouais,
mais
ils tiennent leur truc, quoi.
Il faut rappeler le contexte. Je pense que rappeler le contexte de l'émission, comment elle est faite, comment on réfléchit à l'émission est important. Et que, au moins rappeler le contexte, c'est important, même si on donne pas d'opinion particulièrement, quoi.
Très bien. Eh ben, on se quittera sur ces petits mots de sagesse, en tout cas. C'était un mois de novembre, effectivement, très bizarre pour tout le monde, pour nous tous, producteurs de contenu.
C'était mon anniversaire.
Ouais, mais très intéressant aussi.
Le 13 novembre.
C'est vrai, ah
ouais,
que Daz.
Ouais, moi, j'ai appris le truc au moment du gâteau, donc je te dis pas.
Ouais, la famille de Daz, elle a des dates de naissance.
Ma copine est née le 11 septembre, et moi le 13 novembre, et ma fille le 18 mars 2012 pendant les trucs de Mera à Toulouse.
C'est voilà.
On est bien. On est bien.
Une belle famille.
Jean-Michel, pas de chance.
Bon, voilà. Allez, c'est la fin de ce mois de novembre. Merci à tous. On s'applaudit pas si quand même. Est-ce que c'est indécent? Ouais. Et on attaque le mois de décembre.
Décembre, bonne fête 2015, meilleurs vœux 2016.
Et nous voici arrivés au mois de décembre 2015. C'est la fin de cette émission. Il est peut-être le 31 décembre chez vous, parce que je crois que cette émission va durer à peu près 4 heures au bas mot, hein. C'est un director's cut de Peter Jackson. On en fera une trilogie. En tout cas, on va se dire au revoir avec tous nos chers invités, nos amis et nos invités des podcasts qui étaient là et qui nous ont fait le plaisir de venir. On refera ça, j'espère qu'on fera ça. C'était très sympa. Est-ce que vous avez, chers amis, quelque chose à souhaiter à vos auditeurs ou à vous souhaiter pour 2016 du coup? Ah, par qui on commence? Alvin, de passe
le micro. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter en 2016?
Vous souhaitez déjà à vous.
Nous souhaiter à nous.
Passer en quotidienne. Allez, on est fou là. Vu comment vous êtes parti.
De trouver quelqu'un qui accepte.
Parce que quasiment tout le monde est chez Webedia maintenant. Il faut...
C'est vrai qu'il y en a pas mal de gens chez Webedia. Non, mais en vrai, une quotidienne, pourquoi pas, juste de se faire produire, d'avoir des podcasts qui marchent, plein de podcasts qui marchent, de gens qui écoutent plein de podcasts encore.
Très bien.
Juste continuer ça et soyez très heureux. C'est ça, d'être important.
Soyez très heureux. Ça, c'est un message fort.
Très heureux.
Heureux, c'est important, surtout après cette année qui a été particulièrement sombre, tant dans l'actualité.
C'est vrai qu'Assassin's Creed était pas top cette année.
Non, mais ouais. À mon sens, et d'un pur point de jeu vidéo, l'année a été très sombre. Tant au début qu'à la fin, bref. Mais une année 2016. Sombre. Prenez surtout du plaisir et faites-vous du bien et lancez des projets. Allez au bout, faites-vous plaisir. C'est très important, surtout en 2016. Et regardez pas autour de vous. Parfois, il vaut mieux se focaliser sur ce qu'on fait et c'est important.
Qu'est-ce que tu souhaites pour 2016?
Alors, ce que je me souhaite et ce que je souhaite aux gens, en fait, c'est un peu la même chose. J'allais dire.
Bien vous faire enculer.
Bien vous faire enculer. Violence du gars. Non, c'était. J'allais dire un truc tellement poétique. Okay, excuse-moi.
On l'a refait. Hey Ben, comment ça va?
Hey, bonjour.
Hey, tu faisais un marché par là, je t'ai croisé dans la rue.
Comment... Ouais, tout à fait.
Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu souhaites pour 2016?
Eh ben, en fait, je souhaite la même chose aux gens qu'à moi. En fait, j'allais dire aux gens reculé. J'allais dire aux gens de vivre leur passion. Si leur passion c'est de se faire enculer, qu'ils y aillent, tu vois. Mais en gros, de vivre leur passion et justement d'aller dire à ceux qui hate d'aller se faire enculer. Et comme ça, s'ils vivent leur passion, bah ils m'appellent et comme ça, on peut en parler dans mon podcast. Voilà.
Ouais, très bien. C'est cool. C'est quoi? Bah je me fais enculer. C'est cool. Bah, c'est...
Est-ce que c'est cool de se faire enculer? Ouais.
Bah on en parle. D'ailleurs, avec Das qui prend le micro en parlant de ça.
Dans les deux. Ouais. Non, moi je souhaite. Je souhaite à tous les mecs qui ont backé Star Citizen de finalement jouer à leur jeu. 2016, c'est votre année, les gars.
Non, c'est 2017. Bon, on verra. Ike, de Comics Outcast.
Lisez des comics, n'achetez pas sur Amazon. Voilà, Amazon, c'est le diable, je le dis haut et fort, j'assume.
Même Amazon Prime?
Amazon, c'est la merde.
Donc c'est A à Z. Prime.
Bon, okay, d'accord. Joli.
Dommage, c'est bien, moi.
Mais non, sinon, joie, bonheur, paix, shalom. Voilà. Et compagnie.
Shalom et comics achetés dans des vraies librairies. Sylvain.
Ah, direct, comme ça?
Ouais.
On fait pas un truc collectif
Non. Okay. Non, parce bon, que tu vois, regarde. Daz, il s'en foutait. Daz, il a pas attendu.
C'est vrai que Daz, il s'en foutait. Moi, je vous souhaite... Moi, je pense que cette émission, elle a donné envie à plein de gens de... Pas que faire des podcasts, je pense faire des podcasts, mais aussi se lancer dans des projets cool et d'avoir une bonne bande de potes. Donc, je vous souhaite de faire ça et de vivre votre passion et de ne pas vous laisser faire par le salariat et le capitalisme.
Nos amis de la Gapar, Nico et Chloé, chacun un petit message, Nico en premier.
Plein de bonheur, évidemment pour 2016. Pour nous, surtout que ça continue le plus longtemps possible, parce que moi, je dois reconnaître que quand on a commencé il y a un an et demi, vraiment, le début du projet, je pensais pas que moi-même, j'aurais envie de le faire aussi longtemps.
Ouais.
Et du coup, je suis content de voir que ça tient, qu'il y a des gens qui écoutent, qui commentent, qui donnent des retours qui sont souvent très positifs. Et donc ça fait super plaisir. Donc on espère que ça leur plaira autant l'an prochain. On a plein de projets, plein d'idées. Je sais pas si je peux le dire parce que du coup je vais foutre la pression à tous mes collègues.
Ok, elle a déjà tous les projets.
Donc il a dit faut qu'on le fasse, mais ouais, c'est ça. Mais non, mais on a plein d'idées. Donc on espère que ça va se concrétiser et que ça va donner un truc encore meilleur.
Très bien. Chloé, t'es d'accord? T'as tout coordonné?
Ouais. Non, je suis d'accord et je vais même rajouter un truc, c'est que. Quand on a eu l'idée de faire la Gapar, on a fait ça avec trois bouts de ficelle, des idées, mais pas de connaissances particulières. Et que si les auditeurs, là, en ce moment, ont des idées et qu'ils ont peur de pas y arriver, faut pas que ce soit un frein, parce qu'on se foire les premières fois, puis on apprend, quoi.
Oui, on aura bien vu cette année que tout le monde s'est bien foiré et que ça sert, finalement. Bruno qui est en train de décéder.
Ouais, je me souhaite de rentrer dormir. Et je souhaite aux gens d'avoir une longue vie aussi longue que cette émission.
Ah bah dis donc, c'est-à-dire à peu près c'est 4 heures de durée de vie. Soyez des papillons.
Par les marchés, rentrer dormir.
Par les marchés, rentrer dormir. Caroline.
Je souhaite rentrer avec le même taxi.
Ah ça chope, d'accord, ok, bah, très bien Caroline.
C'est bien. Non. Ouais, bah,
qu'est-ce que tu souhaites pour 2016 alors?
De l'inspiration, de continuer à tenter des trucs et pas trop de cynisme.
D'accord. Et est-ce que le prochain podcast aura un nom aussi flamboyant que La Flasque et la Fume?
Ah ouais, ce sera certainement alcoolisé encore, mais ce sera plus in situ.
D'accord. J'ose pas imaginer. Merci beaucoup. Fibre.
Eh bien, Studio 404 a beaucoup d'ambition pour 2016.
Ce que j'aime, c'est qu'à chaque fois, quand Fibre veut parler de lui, il dit Studio 404.
rapporte.
Salut, salut. Moi, il dit, voilà, Studio 404 aimerait bien gagner de l'argent et faire fortune et vendre des hot d'air. En fait, non, il parle pour lui. Alors, Fibre.
On est d'accord qu'on a un projet, on a des projets ambitieux pour Studio 404. On peut dire qu'ils existent au moins.
J'ai l'impression que chaque mois, il est revenu pour dire, vous savez que 404 est très ambitieux, quand même.
Non, voilà. Et j'espère que ça se concrétisera d'ici juillet-août. Voilà. D'ici juillet-août, on aura peut-être une bonne nouvelle où on pourrait peut-être qu'on pleurera à l'antenne. Voilà.
On n'a pas de larmes, film. Ah.
Corentin, de ZQSD.
Je ne souhaite rien du tout à vos auditeurs, parce que je les connais très peu. Pas personnellement, parce que je connais pas ce qu'ils aiment, je sais pas ce qui les anime dans la vie, donc je sais pas, chacun fait ce qu'il vous plaît, tu vois.
Est-ce que tu te souhaites un peu de passion pour 2016? Bon, c'est quand même un peu ambitieux comme souhait.
Non, mais je me
de
souhaite.
De l'empathie, peut-être?
Je me souhaite une meilleure dédicace, en tout cas pour 2016. Oh putain, Yoda Story, putain, génial, Yoda Story 2, mais putain, j'espère, en plus, c'est toi qui pourras le scénariser. On peut faire un truc, je crois, ensemble.
Son jeu préféré est Yoda Story, qui est un Star Wars pour Windows.
C'est le seul bon jeu Star Wars, quand même, donc, voilà.
Pas
du tout. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire, j'espère que ça vous a régalé.
Mélissa, qu'est-ce que tu souhaites pour 2016? Oh là là.
Du game, toujours.
Ah, attends, t'es plus dans le game, t'es
jeux vidéo?
Non, bah non. Ah, bah oui. Le seul game dont on n'a pas parlé ce soir. C'est vrai que c'était pas du tout trop une émission de drague. Hein,
non, pas du tout. Alors, Mélissa, en fait, elle vient que pour ça. Hein.
Ouais. Mais en même temps, elle a épuisé tous les réseaux sociaux, donc là. Sur quoi tu vas pécho en 2016? Alors, ouais, on voit. Spotify, c'est fait.
Bah attends, je suis
Marmiton, c'est fait.
Je suis pas sur Snapchat.
Ouais,
je regarde pas
bien.
Les snaps de fibres, tu vois. Non, mais du donc, game, quoi.
C'est bien parce que Mélissa, elle est maquée, elle se souhaite de revenir dans le game pour 2016, ce qui est vrai quand même.
Tu vois, elle a encore plus d'ambition que moi, je trouve.
Non, c'est resté vrai. Et on finira par Ghislain qui n'a que
attendez,
trop peu
attendez,
sur la
part. Attends.
Alors, on va finir par Michel, mais d'abord Ghislain. Ghislain, notre réalisateur qui parle très peu, mais qui est au top. Ça va?
J'espère qu'on fera de encore plus de podcasts et qu'on pourra en donner plus à nos auditeurs. Voilà. J'espère que vous serez là, surtout. Que vous
ça, c'est Gisela qui demande deux fois par mois. Ouais. C'est ça, je dis ça, c'est bien. J'aime beaucoup ce petit souhait, Gisela. Henri, qu'est-ce que tu nous souhaites? C'est
moi,
toi qui termine l'émission.
Trois choses.
Dis donc,
puisque j'ai l'honneur de finir l'émission. La première, c'est que Franck Océan sorte son album en 2016. La deuxième, c'est que vous puissiez donner de la joie aux gens que vous aimez, que ce soit vos enfants, vos amoureux, vos amoureuses ou vos parents, enfin tout le monde, de donner de la joie. Et la troisième, je souhaite qu'on félicite l'âme pour l'animation de ces 3h24 et 10 secondes de live. Je ne sais pas ce qui restera au montage, mais c'était magistral. Et merci à tous pour m'avoir accueilli.
Merci beaucoup, Henri. T'es le seul avec moi qui est resté du début à la fin de l'émission sans bouger. Hein. Donc on a des petites fourmis dans les jambes, mais c'est pas grave.
Je veux juste savoir s'il reste dormir ou quoi, ou qu'est-ce qu'il peut.
On verra. Mais je crois que là, Henri, il bouge plus de toute façon.
Il dort avec nous. Ouais, il y a
je bouge plus.
Il est bien. En tout cas, merci, chers auditeurs. Je sais pas en combien de fois vous avez écouté cette émission. On espère que vous êtes restés avec nous jusqu'au bout. On espère que vous avez découvert des podcasts que vous ne connaissiez pas et que vous allez les tester. Donc c'était c'est cool. C'est quoi Comics Podcast? Je veux pas en oublier un. Marché parlé, évidemment. Il y aura des tentes. On ne parlera pas de la flasque et de la fumée, mais testez-le quand même. ZQSD, passe le stick. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des gens qui sont...
Je suis debout encore, ouais.
Le Romcast, Lagapar. On espère que vous les testerez cette année, en tout cas. Merci à tous. Ciao, chers invités. On se revoit bientôt. Bye bye.
Ciao.